Allez, salut Remka.
Salut Ludo.
Et c'est Yabai numéro 24.
24 déjà?
Et oui.
Ça passe quand
Et
même.
2 ans de Yabai, un peu
Ah.
plus même
Donc on
d'ailleurs.
pas les saisons, donc c'est que des épisodes, mais du coup.
Ouais. C'est à peu près 2-3 ans là.
Mais entre le 0 et le 1, il s'est passé genre un an.
Ouais.
Pratiquement.
Mais en fait, si on compte entre le 0 et le 1, c'est même 4 ans en fait.
Non, déjà?
Ouais, je pense.
Non, tu mens. Je
Bon, on
crois.
verra.
Faudra regarder les dates quoi.
En tout cas, est-ce que ça va?
Bah ouais, ça va. Je suis enfin en vacances.
Ah, Silver Week?
Ouais. Petit tour onsen la semaine prochaine. Avec
Tranquillement.
la famille, on va voir quoi.
Ah bah ça va être bien ça.
Et toi?
Bah moi ça va tranquillou, un peu en stress là, j'attends
La bonne
les
nouvelle.
vacances.
Ah ouais,
Bah
c'est bientôt aussi
ouais, et
toi.
surtout je dois faire plein de trucs avant pour être clean on va dire.
Être
Donc
clean.
ouais, par rapport au taf, par rapport aux gamins, pour regarder les papiers, les trucs comme ça. Enfin j'essaye de tout préparer un
Ah, je
max
pensais par
pour
rapport à
être.
la drogue ou.
Non ça j'ai pas arrêté.
D'accord.
Ouais, ou un ST moi je pensais aussi.
Oui, voilà. Et donc on est avec Fred, ça va Fred?
Salut, hein. Bon, salut à vous, salut aux écouteurs.
Bah, on est. Bah, tu connais le format, donc
Ouais, je connais.
tu présenteras tout ça en plus en détail après.
Ok.
Et donc ce soir, on est à Yogikuen, on reprend la tradition d'enregistrer dans les parcs.
Ouais, ça doit s'entendre parce qu'il y a tous les. Comment ils appellent
Les
ça?
semis?
Les semis, mais
Ouais,
c'est
les
comment en français?
cigales.
Cigales, ouais. Pendant le parc.
Et alors, on est sur une petite table magnifique. On est devant un petit distributeur de canettes de thé. Et il y a un peu des
Et il y a de
gens.
la meuf qui passe quand même. Hein.
Et il y a de la petite.
Ouais, ça
Et
passe de temps en
mec,
temps.
t'as vu le groupe qui est assis à côté là-bas, dans le
Je l'ai
bar?
pas vu, mais je les entends effectivement.
Enfin, il y a un énorme groupe derrière, là, je viens de voir ça. C'est assez hallucinant. Donc, il y a quand même du monde en fait qui sort là. Le couvre-feu a été arrêté là avant. Tous les izakayas, etc., c'était fermé à 10h, donc les gens sortaient un peu moins. Et là, c'est rouvert depuis cette semaine. Ah bon?
Ouais.
Ah, je savais
Ouais,
pas.
ça finissait le 15 en fait, quoi.
Bon, ben si on veut, après, on pourra
Bon, un
aller boire
verre.
un petit verre ou un truc comme ça. Enfin, ça dépend
Ouais,
de
ça
demain
dépend du
matin,
dernier train,
vous.
mais moi, faut que je me lève à 6h demain, mais ouais.
Ah
Ah
merde, ouais. Ok,
merde, ok,
d'accord.
d'accord. Parce
Parce
que je
que
bosse.
moi, pire taxi, hein, la dernière fois, de toute
Ouais, moi,
façon.
pareil.
Mais bon, enfin, c'est toi qui verras, Fred. Hein,
Ouais, je peux éviter le taxi, ce serait pas mal. Ouais.
c'est pas tout près, quoi.
Ouais, c'est pas tout près,
Donc.
ouais. Bon, alors, et toi, tu vas nous parler d'un truc aujourd'hui?
Ouais, bah, je vais vous parler, ça faisait longtemps que je voulais en parler. On avait déjà un peu évoqué le sujet de la religion au Japon. Je vais vous parler de la secte Aum et
Ah.
de ce qui s'est passé à l'époque. Donc pour les écouteurs les plus jeunes qui ont peut-être pas, qui savent peut-être pas ce que c'est, puis les plus anciens qui savent, mais peut-être pas en détail. Là, j'ai fait beaucoup de recherches, ça va
Là,
être assez
il y a
long.
beaucoup à dire, donc tu vas commencer tôt ou à partir des années 90 ou bien avant?
Ah, je fais toute l'historique
Ah,
même.
ok, d'accord, donc
Ah, d'accord.
ça risque d'être assez long. Et moi, je vais
Et
vous
toi, ton
parler. Bah
mot?
moi je vous parlais un peu de la nostalgie au Japon et du fait que ben cette année ça fait 35 ans qu'il y a Mario.
Donc, jeu vidéo
L'anniversaire
un
de
petit
Mario.
peu.
Ouais, c'est pas mal,
Ou,
ça c'est
ouais,
bien.
oui et non, on verra.
J'en dis pas plus.
Attention, Francis va râler hein, dès que tu parles de jeu vidéo. Tu sais qui queen. Hein.
Ah, je sais, je sais. Pourquoi jeu vidéo c'est un sujet tabou?
Non, mais lui,
Non.
ça l'énerve. Voilà, il se plaint à chaque fois. Mais il se plaint en général. C'est
Ouais, c'est important.
un art de vivre.
Bref. Sur ces bonnes paroles?
Allez, il fallait le
Comme vous êtes belle, Nami. Vous êtes vraiment le joyau secret de l'Orient.
Ma mission? C'est de stopper la violence.
Yamayo.
Yamayo?
Yamayo.
Nani sore?
Alors, vous avez le permis de conduire?
En
Oui,
France, ouais,
en
mais pas au
France.
Japon, je l'ai pas traduit, quoi.
Pareil. Donc, vous pouvez conduire ici?
Non. Non, bah, c'est pas compliqué, faut juste aller le faire traduire en fait, mais je l'ai jamais fait.
Il n'y a pas de test à repasser, de trucs comme
Si, en
ça.
fait, moi,
Ça
j'avais
dépend de ce que
entendu
tu veux
parler,
faire.
que voilà, première année où tu es là, tu peux faire traduire. Et au bout de l'année passée, en fait, tu es obligé de repasser le permis, en fait. Alors, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu parler.
C'est
plus
vrai
comme ça
qu'il y avait
maintenant,
un
apparemment.
truc
C'est
pour
plus comme
les,
ça? Ok.
il y avait un truc pour les touristes. C'était touriste, t'as juste besoin d'une traduction. Et par contre, après, c'était là sur le long terme, il faut peut-être repasser un petit
J'ai
peu.
entendu en parler un
Non,
truc comme ça, mais bon, de toute façon, je m'en fous. Enfin, les trains, c'est très bien ici. Moi, je
ouais.
suis bien à pied, en fait. Ouais.
À Tokyo, ouais, t'as pas vraiment
Ouais, à
besoin d'une
Tokyo.
bagnole. À part quand tu veux acheter des trucs, je sais que ma femme, elle conduit, du coup, on loue une bagnole de temps en temps quand on doit aller chercher des trucs.
Internet, mec. Costco. On se fait livrer chez nous.
Costco, ils ont un site.
Mercalli ou Dimouti, ils ne te cliquent pas forcément. Donc,
ouais,
okay. Non,
ouais,
c'est vrai. Pour te faire un petit week-end, genre à la campagne ou un truc comme ça. Avec aussi,
ouais. Bah, Lent-car après, mais ouais. Après, ma femme a conduit. Mais,
ouais, d'accord, voilà. Ouais.
Ah non, toi, c'est pareil. Pareil, en France, ta femme conduit ici, et quand t'es en France,
ouais,
tu conduis.
C'est moi qui conduis.
Ouais, pareil.
Non, moi, j'ai pas le permis, même pas en France.
Voilà. T'as le branlo, quoi.
Et donc, je vais vous parler de location de voiture, en fait, aujourd'hui, d'un mec donc, de 44 ans, Masafumi H, on va l'appeler comme ça, de Kyoto, et, qui s'est fait arrêter récemment. Et alors, à votre avis, donc ça concerne une location de voiture. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, ce bon vieux Masafumi?
Bon, alors si c'est le nom en H, quoi, il a fait un truc un peu cradingue dedans, non?
À cause de Echi?
Voilà, à cause de Echi.
Ouais, non. Enfin, peut-être, mais c'est pas les charges de son passage.
Il l'a sous-loué?
Non.
Il l'a embouti?
Non plus.
Il l'a volé?
Ah,
il l'a laissé pourrir?
Ah, pas exactement.
Je sais pas.
Il a gardé au-delà de la période de location.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que le 2 juillet, quand il devait rendre la voiture, il a appelé la boîte de location de voiture. Il a dit hey, je suis à Tokyo là pour le week-end, j'aimerais rallonger la voiture. Mm-hmm. Et il l'a gardé pendant un peu plus d'un an.
Ah oui.
Ah, c'était juillet l'année dernière. Ouais.
Et donc il l'a gardé et il s'en est servi comme sa voiture à la cool.
Tranquille
pendant un an, rien à foutre quoi.
Mais attends, t'as personne qui l'a.
Mais personne qui a pas eu de rappel. Le mec, ils l'ont laissé couler quoi.
Mais visiblement, c'est Kyoto. Donc tu sais, les agences de location voiture ici, c'est très local. Donc t'es obligé de retourner la voiture à l'agence. Donc je sais pas trop s'ils ont. Ils doivent pas être très centralisés, tu sais.
Non, pas forcément. Même... Tu peux. Enfin, si c'est la même boîte de location, tu peux. Par exemple, tu vas de Tokyo, tu peux rendre la voiture, ouais. Par exemple, à Fuji, quoi.
Je suis pas sûr.
Toutes les trucs de location, ouais, c'est un peu comme ça.
Ouais, carrément. Tu peux la rendre. Tu dis ouais, je vais là, et puis en fait. Tu peux la rendre à la boîte ou tu vois en fait.
T'es sûr de toi?
Ouais, ouais. Par exemple, tu peux louer une bagnole pour aller à l'aéroport et poser. En général, à l'aéroport, justement, c'est là où t'as les trucs de location de voiture et tu poses la bagnole à l'aéroport.
À l'aéroport, ça me semble logique, quoi. Mais d'accord, ok, très bien.
Mais un autre truc, surtout, c'est que les flics l'ont pas arrêté avant parce que le mec, les plaques d'immatriculation, si la voiture manque, les gars ont dû déclarer ça à la police.
En fait, ce qui m'interpelle, ok, le mec, il est passé au travers tout ça pendant un an, mais il a payé combien pour. Parce que bon, il a dû claquer quand même pour faire un an de location, quand même, non?
Ah ben, il a jamais payé.
Il l'a gardé, donc il l'a volé. Il l'a encore, en fait.
Bah, plus maintenant, parce qu'il s'est fait arrêter.
Ouais, ouais, mais donc il l'a volé.
Il faut qu'il paye, alors, du coup. Quoi.
Alors, oui, alors en fait, avec les frais, tu vois, de retard, etc., il en a pour 7,6 millions de yens, donc ça fait à peu près 70 000 euros. C'est qu'avec ça, il peut s'acheter même deux voitures d'occasion, quoi.
Même deux voitures neuves, mec. Hein. Une bagnole, ça doit être dans les 30 000 euros, je crois.
À vous, voir alors.
Ouais, le cube de Toyota, mais.
Oui, voilà, ça dépend. Quoi.
Parce que je crois qu'une Lambo, c'est 100 000 euros.
Ah ouais,
ouais.
Ah, j'en sais rien du tout.
Moi, je suis une bille en caisse.
Hein. Je te dis, j'ai pas le permis.
En fait, j'ai vu une Lamborghini devant chez moi l'autre jour et j'ai fait attends, c'est une Lamborghini ça. Donc,
100 000 euros, ça me semble un peu.
Pas, cher,
pas cher pour une Lamborghini. Ouais.
C'est peut-être un modèle réduit, tu sais. Ludo, il fait ça. Tu mets le Cali, il achète des consoles vintage et en fait, il se rend compte que c'est une petite maquette ou un 20e.
Non, non, c'est une bagnole. C'est une bagnole neuve suivant les modèles. Une Renault, par exemple, c'est entre 15 et 20 000 euros, je crois, un truc comme ça.
C'est pas cher, quoi, ça.
Mais une Lamborghini
à 100 000 euros, ça me paraît vraiment pas cher.
Il me semble que c'était 120 000 euros exactement. Bon, il y a 20 000 euros de différence avec ce que je vous ai annoncé. Mais il me semble vraiment que c'est pas si cher que ça.
Après,
en fait,
ce que j'avais compris, alors encore une fois, dit le mec qui n'a pas le permis, etc. C'était pas, en parlant avec Julien, il m'avait dit que les voitures d'occasion ici, vu le contrôle technique, est vraiment super strict.
Ça coûte que dalle.
Tu peux choper une voiture d'occasion, mais pour pratiquement rien. Par contre, ça va te coûter cher pour le contrôle technique. Quoi.
Ouais, pour avoir foutre de haut niveau. Quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, mais ouais, visiblement, pour pas tellement cher. Mais du coup, ouais, il aurait pu s'acheter beaucoup plus de voitures. Quoi. Donc voilà, c'était une petite news comme ça. Quand t'étais en train de faire quoi, Ludo? Tu cherches les prix de Lamborghini?
Ouais. Comment tu cherches les prix de Lamborghini? Comment il s'est fait pécho? Tout ça, tout comme avec un contrôle, ça n'a pas marqué dans ta vie?
J'ai pas. J'ai pas les news.
J'aimerais savoir quand même comment il s'est fait choper.
Mais c'est d'après Kyoto.
Non, oui, les flics sont tombés sur lui, visiblement un peu par hasard, quoi.
Ok. Et donc, on contrôle, contrôle et voilà.
Contrôle inopiné, voilà, de routine.
Toi, t'as pas de chance.
Il aurait pu la garder plus longtemps, ça se trouve.
J'ai pas trouvé Lamborghini, mais Maserati, c'est 99 000 $.
Ouais. La trottinette, quoi.
Non, les berlines.
Ouais, modèle réduit, quoi.
Assez classe.
D'accord.
Moi, je vais vous parler un peu de japonisation et de Pokémon.
Ah.
Et surtout d'une mère et son fils qui se sont fait attraper pour avoir vendu
attraper
des...
Attraper les toutes. pardon, ouais, c'est un peu moyen.
Ils avaient une opération de contrefaçon de Pokémon, qui est une sorte de réseau qu'ils avaient.
De Pokémon, comment ça?
De cartes de...
Ah, des cartes
de trading. Enfin, comment on appelle ça? C'est trading card, en français aussi.
Cartes à échanger.
Ouais, mais je crois que même en France, ils disent trading card.
Tradingue
card. Donc, il y a pas mal de gamins, justement, quand t'es entre, je crois, entre 4 et 8 ans, t'as les cartes Pokémon. D'ailleurs, David Lafarge est assez connu pour ça, en fait.
Et puis les cartes magiques, on en connaît d'autres, beaucoup plus âgées. Hein.
Ouais, mais même les cartes Pokémon, en France, t'as des gens qui, en termes d'âge, t'as des gens qui collectionnent les cartes Pokémon en France, même qui ont à peu près notre âge, ou la génération d'en dessous de nous, parce qu'eux ont grandi avec Pokémon, justement.
Mais j'ai pas vraiment connu, ouais. C'était vraiment les petits qui étaient un peu plus jeunes.
Moi, je me rappelle... les Pokémon, la première fois que c'était sorti, c'était... moi, je devais avoir un truc genre 14 ans. Mmh. Moi, j'étais plus là-dessus. Alors, ok, j'étais avec Dragon Ball, tout ça, mais j'étais plus là-dessus.
On était un peu âgés, peut-être, pour Dragon Ball.
Après, c'était la sortie de la Saturn, PlayStation, toutes ces conneries. Ouais. Moi, j'étais plus Nintendo depuis un petit moment, quoi.
Ouais, bah, moi, j'étais déjà Nintendo, mais le truc, c'est que, ouais, Pokémon sorti, je me rappelle, j'ai fait le Pokémon Game Boy, j'avais 15 ans, pareil.
J'ai jamais fait avec Pokémon. Le seul que j'ai fait, c'était sur DS, c'était Diamant, il me semble, mais je n'ai pas accroché.
J'ai jamais joué à Pokémon Go un petit peu à l'époque.
Et du coup, en fait, ça fait chaud au cœur de voir qu'à Kyoto, l'année dernière, il y a un adulte qui a commencé une nouvelle activité.
J'entends les rats là derrière qui passent dans les buissons et tu les vois passer. Excuse-moi, hein, Ludo, je t'interromps.
Ouais, vas-y.
J'entends les bruits des rats.
Ah, ils vont pas venir te manger ça.
Tu les vois là. Bon, bref. Mais comment? Alors, une mère et sa fille, c'est ça que je comprends pas.
Non, en fait, un homme adulte de Kyoto qui a pris cette nouvelle activité l'année dernière et qui a partagé cette expérience avec sa mère.
Quoi,
qui elle est assez âgée du coup, puisque en fait lui il est adulte, elle doit avoir genre 60-80 ans.
Et lui il a quel âge?
Ils disent un homme adulte, ils précisent pas, donc je pense qu'il a 23 ans. Non, il a 23 ans et la mère a 49.
23 ans, c'est pas adulte au Japon, c'est encore des gamins.
Et donc lui il faisait des fausses cartes à la base?
Non, en fait, ils ont...
Je sais pas, c'est laborieux, il faut le... Bon, tirer les verres du nez. Là, c'est parce qu'il traduit directement de l'anglais, voilà. Et qu'il l'a même pas lu avant.
Bravo. Bravo, ça c'est de la préparation.
Dévoilé devant tout le monde.
Je le connais, mec.
Ok, bon, allez. Alors.
Et en gros, l'histoire, c'est que le gars de 23 ans, la mère de 49 ans, ils étaient dans la préfecture de Hyogo, ils importaient des cartes de Chine, ils les payaient 700 yens le paquet.
De combien de cartes?
Je sais pas ce que c'est, ils disent un paquet, je crois un paquet, ça doit être 6-8 cartes, c'est comme les Magic, j'imagine.
C'est un rush quand même en Chine, quoi. 700 yens, un paquet.
Ah ouais,
un paquet de cartes,
combien ils revendent ça? Parce que
ils les revendent 3000 yens pièce.
Putain, 3000 yens les 8 cartes, c'est vrai? C'est le prix?
Je sais pas du tout, peut-être qu'il y en a 20, peut-être qu'il y en a 50 dedans, j'en sais rien. Là pour le coup, j'en sais rien, ils précisent pas.
Ça me ferait bien chier de payer autant pour des bouts de carton.
Ils se sont fait choper justement le 10 septembre. Et d'après les estimations, les gars seraient fait 2 millions de yens à peu près en bénéfice.
Ils vendaient ça au môme?
À peu près 20 000 euros.
Ouais, à peu près 20 000 euros, comme ça.
Ils revendaient, ouais, comment? Voilà, dans le parc, ça, tu veux. Hey, tu vas voir mes cartes.
Ouais, leur sortie d'école.
Les gamins, dans son impère.
Tu veux le Pikachu doré rare?
Non, sur Lucali, peut-être.
J'imagine que ça devait être sur un service comme ça, parce qu'ils ne précisent pas. Je sais que récemment, Mercari, en plus, ils ont eu des problèmes, parce que, tu sais, il y a des trucs de recensement qui ont été. Ah, t'as pas vu ça?
Non.
En gros. Chaque année, pas chaque année, mais assez régulièrement, le Japon envoie des papiers pour faire le recensement.
Ils sont passés hier chez moi.
Voilà, ils passent chez toi, mais ils t'envoient le papier d'abord.
Tu peux le faire sur internet aussi.
Ouais, voilà, mais ils t'envoient des papiers. Et en fait, sur Mercari, ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui vendaient les papiers à des vieux ou à des trucs comme ça via Mercari.
C'est-à-dire qu'ils vendaient. C'est-à-dire quoi acheter ça?
Non, c'est que les gars allaient chez eux. Ils disaient oui, on vient pour le recensement. Ils disaient ah, mais comment on fait? Et là, ils leur disaient ben, vous allez sur Mercari, vous achetez le papier sur ça. Et il y a plein d'annonces Mercari.
Ouais, des arnaques ou.
C'est un mec qui pense de grave quoi. Franchement, j'ai pas ces idées-là quoi. Des fois, je regrette un peu. Alors, ok, tu peux te faire pécho et tout, mais.
Mais il y avait le site en France là, ou c'était quoi? C'était les pages jaunes ou les urgences, où en gros, t'allais sur le site, tu payais un truc et ils appelaient pour toi. Mm. Et c'était pas considéré vraiment comme illégal parce qu'en fait, ils fournissent un service quoi, tu vois. Alors que c'est un numéro gratuit.
Ça m'a dit rien du tout ça. Putain, le mec qui a réfléchi grave.
Quoi. Et du coup, donc 2000, ouais, c'est pas énorme. 20 000
euros. Ouais, c'est en moins d'un an.
Ouais, voilà, ouais. Les mecs, ils devaient revendre quand même quoi. À 3 000 yens.
J'imagine que soit ils les vendaient sur Mercari, soit ils démarchaient directement les marchands pour les jouets, les trucs comme ça, en fait, tous les magasins. J'imagine.
Non, ils vendaient pas ça au truc officiel quand même.
Non,
mais je vois bien à sortie d'école avec leur impère et tout ça, ou même le...
J'ai une autre image d'un coup, mais...
Ça, c'est toi, ça.
Non, mais leur impère avait pour loger les cartes, quoi, je veux dire, les mecs... Alors, ils...
Je suis allé à Akiba avec la personne qu'on va pas nommer, qui est fan de cartes Magic. Il m'a traîné dans un... Il m'a traîné dans un shop où, justement, ils font du trading, mais aussi, ils jouent, quoi. Et t'as une pièce entière où t'as pas une meuf. Et alors, ça sent le vestiaire, mon pote, quoi. Et les mecs, ils parlent pas, ils sont super sérieux. C'était genre une vision de l'enfer, quoi. Et lui, il était tout excité. Il était là, attends, je regarde.
Ah, les geeks, quoi, sérieux, quoi.
Oh, mon Dieu, je pensais pas que ça existait, quoi.
Ah, oh, si, même en France, t'as ça, hein. Bref, les deux personnes ont admis les charges dès qu'ils se sont fait arrêter. Est-ce qu'ils se sont fait arrêter parce qu'il y a eu une interception d'un cargo de Chine avec leur truc dedans et du coup ils ont dû remonter leur adresse.
Ah ouais, ah, ils achetaient au détail en fait.
Ils achetaient en palette, mais le cargo s'est fait attraper avec des produits contrefaits, donc c'est interdit la contrefaçon. Hein.
Oui, mais alors les cartes Pokémon. Ouais, je suppose que ça peut rentrer dans la... Oui,
bah,
enfin,
bah, peu importe, que ce soit un sac Louis Vuitton ou des cartes, la contrefaçon est interdite.
Je sais pas, tu peux dire que c'est des cartes originales, tu vois, nouvelles.
On va dire ça à Nintendo, mec.
Ouais, voilà.
Ah, c'est pas Nintendo, Pokémon, c'est Pokémon Company, même si Nintendo est actionnaire.
En tout cas, s'ils ont vu l'adresse de la livraison, c'est clair qu'ils ont vu qu'il y avait un problème quand même.
Ils ont dû aller les voir quand même, tu vois, dans le doute.
Putain, ouais, mais il y a des gens quand même, ils sont astucieux, hein. Ils pensent à des business.
Ouais, c'est clair, moi, franchement, j'ai pas tous ces trucs. Je me dis, ah, quand je pourrais me faire des thunes, il y a rien qui sort. Quoi. Et les mecs,
Pokémon,
ils sont là,
quoi. Mec, business familial en plus. Ouais, tu vois, la mère, 49 ans, elle fait ça avec son fils de 23 ans.
Ta fille, tu peux la mettre dans le coup, comme ça, à l'école, elle peut...
J'ai essayé avec les, je sais pas, les trucs Magical Girl, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre de trucs, ouais.
Digimon, mec, enfin...
Et le fils a expliqué que sa motivation principale, je voulais faire de l'argent.
Ouais, bah,
sans déconner. Surprise. Ma motivation principale, non, c'est voir les rires des enfants.
Mais la motivation de la mère, c'est de voir son fils faire de l'argent.
Oui,
c'est sympa.
Bonne mère,
ouais,
la famille.
C'est gentil.
Donc voilà, ce sera tout pour moi.
Va vendre tes cartes, j'ai fait ton petit gorin, ma série.
Le bonheur, une bien jolie histoire, Ludo. Alors, on va parler de tatouage. Alors, Ludo, t'avais fait un dossier là-dessus il y a super longtemps. C'était un des premiers épisodes, je crois.
Je peux te le dire, je les ai.
Deux ou trois.
C'est le troisième, ouais. Ouais, t'avais pas parlé justement des tatouages traditionnels japonais avec l'aiguille, machin, ouais. Je sais pas quoi.
Ouais, j'avais entendu.
Et puis, il en avait gros sur la patate aussi.
Parce que
les onsen. Ouais. Et que même encore maintenant, hein, c'est compliqué. Il y a plein de trucs sur lesquels, avec les JO, ils ont essayé de lisser et de faire en sorte que ça marche mieux, mais ça dépend des régions.
Ouais, mais les onsen, faut aimer vraiment se baigner avec des tas de boules et de bites autour de toi. Enfin, moi, je suis pas fan. Ouais, quand c'est privé, c'est cool, mais se baigner avec la bite des autres autour, j'ai du mal, moi.
Ah, moi, je m'en bats
les couilles, moi, perso. Après, c'est mon problème, mais.
Ouais, moi, à la limite, avec des potes, un truc comme ça, ouais. Mais genre, si tu vas avec ta femme, toi, t'es tout seul, elle est toute seule, je vois pas trop l'intérêt non plus, quoi. Mais.
Je te dis, les onsen privées, moi, ça
ouais, me voilà, marche, privé, moi aussi. Hein.
Mais j'ai du mal à me baigner avec des inconnus, là, dans un bain, parce que, voilà.
Ouais, c'est pas si grand que ça quand même. Ah, tu trouves vite à 20.
Un petit hammam.
Tu trouves vite à 20 dans son scène.
Tu te retrouves vite avec une boule sur la tête.
Voilà, ouais.
Donc, ouais, un gland qui se frotte contre ta
cuisse. C'est pas trop fan.
T'as pas les hommes nus autour de toi.
C'est pas forcément de la pudeur, c'est plus de l'hygiène en fait. Alors, même si on se lave avant. Je sais pas, pour moi...
C'est ultra propre pour le coup.
Ouais, je sais, mais c'est vraiment... Après, c'est plus une... Pas une psychose, mais c'est un... Ouais, un... Je sais pas comment dire. Mais j'ai du mal avec ça. Même les piscines publiques, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai des efforts pour ma fille. Mais à la base, les piscines publiques, j'y vais pas. Moi, je trouve ça cradin, quoi. Tout le monde se baigne dans la même flotte et
bah, tout.
Tout le monde
pisse.
Même si c'est chloré. Enfin, voilà, j'ai vraiment du mal avec tout ça, quoi.
Et la mer?
Bah, la mer, c'est plus grand et ça bouge, donc j'ai moins de mal, justement.
Les poissons baissent dedans.
Mais ça, ça me dérange pas, le sperme de poisson, ça coule. C'est bon pour la peau, il paraît.
Sperme d'humain, par contre.
Sûrement, je me vois ici, c'est une... C'est une délicatie.
Ouais, j'en ai mangé la première fois, on m'a dit, ouais, t'inquiète, c'est plein de...
Grillé, ça, ouais.
Ouais, cru, je suis pas fan, mais bon.
Et donc, au Japon, les tatouages, c'est assez mal vu, hein, donc... Vu qu'historiquement c'est lié au yakuza, quoi, enfin à la mafia locale, même si ils sont de moins en moins tatoués parce que justement c'est beaucoup trop grillé. Mais il y a encore plein d'endroits où, Ludo, tu parlais des onsen, les salles de sport, les piscines.
La mer, on fait la plage, il y a des plages pour faire des tatouages, les barbecues.
Oui, c'est vrai, effectivement.
Les barbecues au bord de la rivière.
Oui, bah oui, justement.
Voilà.
On a fait ça. Et oui, ils nous ont rien dit, quoi. Mais c'est bref. Et du coup, bon, au Japon, voilà, ça a une assez mauvaise image. Et donc, dans un grand restaurant de sushi, on va parler cuisine aussi, Fred. Un grand restaurant, un restaurant très classe. Et donc, quand le manager a appris qu'un de ses employés, il avait un tatouage, il a pensé que ça allait
ternir la réputation du restaurant.
Exactement. Qu'il allait y avoir des plaintes des clients, ce qui est facile à concevoir au Japon. Hein.
Non, c'est vrai.
Et du coup.
Surtout, c'est un truc assez classe en plus. Hein. C'est pas le sushi du coin, c'est sûr. Que...
Non, c'est un truc assez classe. Bah, c'est le. Je vais même te dire le nom du truc, quoi. C'est le restaurant de l'hôtel New Otani, donc à Chiyoda, quoi. Donc, il y a un truc assez chicose, quoi, paraît-il, quoi. Et du coup, non, il s'est fait balancer, en fait. Enfin, il s'est fait balancer. Enfin, vous allez voir c'est l'histoire. Un de ses amis. Qui a dit, ami, je fais des gros guillemets okay, ouais. Avec les doigts.
Les écouteurs, ils ne voient pas, donc ouais.
Voilà.
Précise.
Et donc, un de ses amis est allé voir son manager et il a dit, ouais, appelons-le Tanaka. Ouais. Tanaka, il a un tatouage. Et voilà. Donc, le manager, deux jours après, hop, il a viré le mec.
Il a même pas, il l'a vérifié, genre, vas-y, fais voir.
Non, il a même pas vérifié. Et comme le mec était dans un foyer, en fait, a priori pour les employés, mm-hmm. Il s'est fait aussi virer de son foyer.
Le mec,
ouais, sans job et à la rue d'un coup.
Ouais, d'un coup, quoi.
Merci.
Et sans vérifier, hein, évidemment, qu'il y avait un tatouage ou pas, hein, d'ailleurs, mais bon, bref.
Est-ce qu'il en avait un?
On y arrive, on y arrive.
Vous allez voir. Et donc, l'employé qui s'est fait virer, donc, n'était pas content du tout, donc il a apporté l'affaire.
Au tribunal.
Ouais, ce qui est normal.
Et donc le manager, enfin le restaurant a été donc ils ont perdu. Ils ont été forcés de payer 5,8 millions d'yens. Ça fait quoi? Ça fait 50 000 euros quand même. Ouais, 55 000 euros.
Ouais, pas mal quoi.
C'est pas mal quoi.
Tu trouves un nouveau logement.
Voilà, tu peux voir venir un petit peu.
Pour trouver un nouveau job, ouais, c'est pratique quoi. Ça te laisse le temps.
Pas vraiment besoin de bosser tout de suite peut-être quoi.
Ouais, mais ça te laisse le temps de vraiment choisir quoi.
Après, ça dépend s'il gagnait vraiment bien.
Il était dans un foyer
en même temps. Bon,
après, pour économiser, va savoir.
Oui, non mais voilà, donc pas de loyer du coup. Mais bon,
ah bref. Oui, d'accord. Enfin bref.
Et où c'était peut-être pris sur ton salaire, enfin je ne sais pas. Et du coup, donc ouais, pour dommage et intérêt, quoi. Et en plus, le fait qu'il ait perdu son logement. Et donc, effectivement, hein, l'avocat a dit que la réglementation du travail dans son contrat, en fait, il n'y avait absolument rien marqué concernant les tatouages, quoi.
Mais est-ce qu'il en avait un tatouage?
Attends.
On arrive vers la fin.
Laisse-moi finir, justement. Et donc, effectivement, donc, ils disent que c'est complètement illégal. Donc le resto s'excuse, ils vont payer les dommages, etc. Alors le manager, on ne sait pas trop ce qu'il est arrivé. Et alors, ce qui est marrant, c'est que on ne sait toujours pas, parce que l'avocat a refusé de dire si son client avait un tatouage ou pas. Ouais, donc on ne sait toujours pas.
Bon, il en a un du coup, parce que s'il n'en avait pas il aurait écrit sur les toits. Quoi.
Non, pas forcément.
Je sais pas, c'est privé, quoi. Tu vois. Enfin.
Au Japon, ça m'étonnerait pas que justement ils le laissent languir et qu'ils disent non, moi, j'ai pas envie que ça se sache.
Ouais, pas faux. Ouais. Pour les emplois suivants, quoi, ça se peut. Ouais. Si y en a un,
mais du coup, c'était bien. Le côté allégé de lit. Il avait un tatouage, paraît-il. Mais on n'est pas sûr.
Non, mais en fait, c'est vraiment débile, quoi, parce que c'est vraiment. Enfin, bon, après, c'est. Enfin, je parlais beaucoup avec japonais, on en parlera tout à l'heure, mais ça fait 10 ans que je suis là, mais c'est vrai que c'est vraiment très japonais, tu vois, de faire ce genre de truc, quoi. Alors, le mec, j'imagine son ami, ça devait être son senpai, ou j'en sais rien, et qu'on l'a cru un peu sur parole. Et que le mec, il s'est fait un peu baiser par ça, quoi.
Le senpai, il doit pas être dans une très bonne position maintenant. Je pense qu'il s'est bien dégagé aussi, où il a aider à payer.
Le mec, maintenant que le restaurant est obligé de payer, je pense qu'il est mal barré.
Non, je pense que le manager qui a viré le gars. Ah putain, un rat.
Un rat.
Là, c'est un rat. C'est aucun chat, quoi. Ouais, ils sont vraiment. Là, on les entend.
Mais oui, mais ça va.
Il était énorme, mon pote.
Au pire, on se le chope, on se fait un barbecue.
Ouais, là, pour le coup, c'était la taille d'un chat.
Ouais, c'est un petit chaton. Ouais. C'était un petit chaton. Ouais. Oh,
mon Dieu, le rat, il est passé juste là, quoi. Bon, Mickey, voilà. Toi, Fred, qui bosse en cuisine, on en parlera un petit peu après. Il y a des gens qui ont des tatouages.
On n'est jamais vu, mais en général, même moi, maintenant.
On n'est pas nu en cuisine.
Nouvellement tout tatoué. En fait, normalement, je travaille manche courte.
Ouais.
Parce que j'étais plus à l'aise. Il fait chaud, en plus, en cuisine.
Oui, bah oui.
Je suis plus à l'aise pour travailler. Et depuis que j'ai mon tatouage, je travaille dans une boîte japonaise, j'évite de trop le montrer, je sais pas forcément parce que je risque de me faire virer ou tout ça. On va dire que c'est une forme de respect s'il le voit. Puis bon, pour protéger mon tatouage, j'ai pas envie de le brûler assis avec de l'huile dessus et le baiser.
Ouais,
mais, il y a ça aussi, ouais. Mais ouais, non, j'ai pas vu beaucoup de tatoués.
Toi, t'es en cuisine essentiellement, jamais en salle
Jamais en salle, ouais. D'accord. Mais même en salle, je pense, de toute façon, quand même si t'as un tatouage, faut que ça soit, à mon avis. Un endroit où ça se voit pas, genre voilà,
sur le gland,
sur ton torse, sur tes bras, enfin je veux
dire, non, épaules, sur le gland, hein, parce que les bras ils peuvent le voir.
mais sur les épaules ça se voit pas, en service t'as ta veste, t'as tout ça.
Tu vois souvent hein, les mecs qui ont des comment dire, des pas des gaines mais des machins, tu sais, comme quand tu t'es fait une juste
ouais,
la manche.
Ouais, je vois, c'est des nets, enfin les nets qu'on
ouais, voilà.
Ça,
genre, et ben ça. Les mecs, c'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est pas ouais, une blessure ouais. Du tout, hein, c'est qu'ils cachent leur tatouage. Bah,
j'imagine que ça arrive, mais après, voilà, les mecs qui travaillent dans. Enfin, voilà, ça dépend où tu bosses aussi. Les izakaya, je pense qu'ils portent peut-être moins importance dans un izakaya que par exemple dans un hôtel ou là où je travaille par exemple. Quoi.
C'est vrai qu'il y a le Machan à Roppongi, je sais pas si ça existe encore, à l'époque on y allait souvent. Et moi j'étais très pote avec le manager, et en fait tous les gens qui bossaient là-dedans c'était tous des zikos, ils étaient tous tatoués des pieds à la tête. Et bon, alors tout le monde, vu le, c'était pas hyper standing quoi, mais c'est marrant parce qu'il y a quand même une hypocrisie, parce que ils savent très bien, tu vois, ils te disent si t'as un tatouage, cache-le, les gens veulent pas savoir que t'en as un quoi, donc tu peux toujours prétendre qu'on sait pas, alors que c'est cousu de fil blanc quoi.
Ouais, après c'est une question de respect par rapport à ça aussi, j'imagine. Il y a des clients que ça doit pas plaire, trucs comme ça, donc ils préfèrent le cacher
et... même pour le staff, tu vois, par exemple moi voilà, j'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant je travaille en manche longue depuis j'ai mon tatouage, en grande partie par respect autour de moi. J'étais pas été là, ah t'as vu, je me suis fait tatouer machin, je dis à personne à mon taf, j'ai fait comme si de rien n'était. Bon voilà, je me change, j'arrive, je suis en t-shirt donc on le voit, mais voilà, après au taf, j'ai les manches longues, s'il le voit, et voilà, c'est bien. Enfin, je m'en fous après, hein, je veux dire, il me vire, c'est pas grave, mais
en tout cas, j'essaie de faire leur truc. Ouais, si tu vire,
vérifie ton contrat.
50 millions de yens.
Non, mon contrat, je pense que c'est pas marqué. Quoi. Non, mais en fait, ça aide beaucoup après parce que t'es gaijin quand même, et je pense que là, pour ce coup-là, je trouve que. T'as quand même des bons côtés à être gaijin quand t'es au Japon, c'est qu'ils sont un peu plus coulants sur certains trucs quand même.
Ouais, moi, je le ressens. Ils n'ont pas la même attente de toi que d'un japonais sur plein de points, c'est vrai.
Donc voilà, un gaijin tatoué et un japonais tatoué, je pense que quand même ça n'a pas la même image au Japon. Ils se disent à l'étranger c'est normal, et puis au Japon, c'est.
Je sais pas si je vous ai raconté, moi, je crois que c'était la première ou la deuxième fois que je suis venu au Japon. Et donc le dernier jour de mon séjour. Je vais à la gare, donc je vais vers Ueno, et là il me restait plus de sous, donc j'essaie de payer mon billet de train jusqu'à l'aéroport en carte de crédit, et la carte de crédit de France elle passe pas quoi.
Du coup la manche.
Non, du coup j'ai dû appeler un pote japonais, enfin en fait à l'époque t'avais genre la poste. Et puis Citibank, c'était les seuls endroits où en fait tu pouvais retirer avec une carte étrangère.
Je me rappelle de ça, j'ai galéré les premières fois que je suis venu au Japon aussi.
Et donc je galère, je réussis finalement à retirer de l'argent en trouvant une Citibank. Je prends le train, j'arrive et c'était la fin de l'embarquement. Donc je rate mon avion, là je suis putain, qu'est-ce que je vais faire, etc. je pleure, je vais les voir et tout. Ils me disent, bon, ok, pour, je sais plus combien c'était, genre 50 francs, c'est peut-être encore en francs à l'époque, ou genre 30
France,
euros.
Genre tout à l'heure 2000, quoi.
C'est 2002 l'euro. Hein.
C'est 2001, il me semble.
2002 le changement, ou 2001, ouais.
Ouais, 2001, on avait resté un an avec les deux monnaies, mais il me semble que c'était 2001. Mais...
C'était à cette époque-là, à peu près, ouais. Et donc ils me font, ouais, ok, bon, 30 euros, on va dire, mais le lendemain. Donc je suis, ah putain, bon, qu'est-ce que je fais? Donc est-ce que je passe la nuit à l'aéroport? Non, ça me fait chier. Donc, je retourne sur Tokyo, je vais voir un pote à Shinjuku, on va dans un izakaya, on boit des coups, Puis là, je lui dis, bon, il faut que je trouve un endroit pour dormir maintenant. Donc là, je regarde, et donc j'étais à Kabukicho, hein, qui est la zone un peu, comment dire, olé olé de Shinjuku. Et là, je vois Capsule Hotel, donc je me dis, bon, on va tester Capsule Hotel, tout ça. Donc, là, je vois un mec, tête de salaryman, je me dis, bon, ça a l'air à peu près clean, tout ça, j'y vais. Donc, j'y vais, donc déjà, j'oublie d'enlever mes pompes, enfin, voilà, vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et donc, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un Capsule Hotel.
Jamais, d'accord.
Mais c'est pas mixte. C'est que des hommes, quoi. Il y a les femmes ne peuvent pas y aller parce que les chambres, c'est pas des chambres, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est des capsules, quoi. Je vois ce que c'est, mais je suis allé.
T'en as des spéciaux pour femmes? Marie en avait fait un parce que justement, je voulais tester. Elle était dans un spécial pour femmes.
Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup.
Non, et c'est plus cher, en fait.
Ah ouais?
Et c'est un petit peu plus spacieux, apparemment, c'est ce qu'elle m'expliquait.
Bah, comment elle sait si elle a.
Parce qu'en fait, elle s'est plantée. Au début, elle voulait rentrer dans un capsule hôtel comme ça et elle voyait, tu vois, à peu près comment c'était foutu dedans.
Non, tu vois pas les capsules, mec.
Ah, elle a vu. Elle m'a
dit. Tu vois pas les capsules parce que entre la réception et les capsules, il y a le vestiaire. Et le vestiaire, donc en gros, t'as des vieux gars, la bite à l'air, ça te plairait, Fred.
Ça pour mon kiff, ça.
Et où t'as le mini plaidoir, mais bon, alors, tu vois le truc qui dépasse.
Bah, en fait, niveau japonais, peut-être pas. Mais...
Et donc, c'est bon, voilà, donc c'est pas mixte. Et donc, je change d'un vin, et là, je vois un petit vieux qui surgit de derrière. Alors à l'époque, je parlais japonais, mais très mal. Il fait « Ah, le gaijin, il a un tatouage !» Et donc, moi, j'ai des doutes maintenant, mais j'ai un tatouage sur la jambe, derrière, là, sur le mollet, quoi. Et là, genre,
il est pas gros, en plus. Hein. Il est vraiment pas gros. Quoi.
Il est pas énorme, ouais. Et là, il me sort un papier en anglais, et je l'ai gardé, ce papier, parce que « Nos tatouages, et nos tatous, allô, dana. » Et là, je lui dis « Ouais, mais moi, je suis pas de la mafia, regarde et tout, j'ai rien à voir. » Faut juste que je dorme demain, j'ai mon avion, c'est le dernier jour. Et il m'a dit, bon, ok, mais alors pas de sauna, pas de piscine, pas de massage, rien, tu files dans ta chambre et je veux pas te voir.
Non, ça ne m'est pas sûr.
Non, et puis surtout, alors d'un coup, t'as découvert que dans le capsule hôtel, il y avait tout ça, quoi. C'est quoi ce sort? Il y a un spa,
j'étais juste venu pour dormir, je dis, t'inquiète, pas de problème. Et alors, dans le capsule hôtel, dans ta capsule, il y a une mini télé, tu vois, c'est un truc moulé d'un seul bloc, un peu comme les salles de bain, là, tu vois.
Ouais.
Et donc, tu as ta mini télé, comme ça, en noir et blanc dans le coin, t'as avec des chaînes un peu d'un tout, et puis tu as un monnayeur pour les chaînes de boulard, quoi.
Ah.
Et donc, dans la capsule à côté, tu entends le mec qui s'astique et tout, donc. c'est particulier, c'était une expérience. Mais voilà, le premier truc avec les tatouages, moi, j'en avais vaguement entendu parler, mais je pensais pas que c'était à ce point. Bon, c'était il y a 20 ans, ouais, facile, ouais. Bref, désolé, j'ai une digression.
On en était où, du coup, là, l'histoire du tatouage?
On sait pas, c'est la fin de l'histoire.
Ah ouais, c'est ça, le mec, on sait pas s'il a un tatouage, et en tout cas, l'hôtel, il paye, quoi. C'est
ouais,
ça.
voilà.
Il a fait pour leur gueule, moi.
Exactement.
Bon, moi, je vais vous parler, justement, tu parlais d'un quartier qui s'appelle le Kabukicho. Moi, je vais vous parler du Kabukicho.
Quelle transition à la gala.
Ah yes, pour rester
vous
dans le...
Trop fort.
Et je vais vous parler d'une boîte qui s'appelle Soft On Demand. Vous connaissez?
Ouais, c'est du porno.
Ouais, bah c'est des producteurs et distributeurs de films porno.
Ouais, voilà. Ouais, c'est assez connu, ouais.
Donc, c'est une boîte, c'est la plus grosse boîte, je crois, au Japon qui fait ça. Et du coup, bah, jusqu'à présent, ils faisaient que ça.
Mais on connaît un qui était abonné à ça, justement, parce que lui, il voulait la qualité.
Ah, ok.
Je ne le nommerai pas.
Je ne savais pas. Ok.
Cette fois-ci.
Eh ben, c'est bon à savoir.
Pas du tatouage, par hasard.
Non.
Ce serait bien le genre.
Il travaille dans l'industrie vidéoludique. Voilà, c'est le seul indice que je donne.
Portugais.
Non.
Ok, bon bref, on a une personne. Okay.
Et du coup, ils ont investi et là, ils ont ouvert un complexe de 5 étages, Kabukicho, qu'ils définissent eux-mêmes comme un theme park pour un
parc d'attraction
pour adultes.
Ça m'intéresse. Vas-y.
Eh ben, je vais t'expliquer.
En fait, tu vas l'imaginer.
Me coupe pas dans sa news, toi. Ça m'intéresse, alors. Chut.
Il traduit en même temps.
Ah non, là, celle-là, je l'ai lue avec attention.
Il la connaît par cœur.
Non, il y a quelques années, cette boîte avait commencé à faire ça, parce qu'au début, comme je te disais, ils faisaient que de la vente et distribution de porno. Et ils ont loué une petite salle, un petit shop à Kiabala. Et ils ont commencé à en faire un petit bar où ils mettaient des actrices porno. Ils faisaient tourner un roster comme ça, tu vois, d'actrices porno pour le staff.
Mais genre, mais service, où tu faisais la bite pendant que tu buvais
non,
ta bière.
Non, c'est...
Prêt tout de suite.
Tout un an, elle
Non, les... Tu peux payer un petit ticket, et voilà, quoi, tu sais pas. Quoi.
Ça existe, hein.
Mais... Les meufs étaient habillées comme il faut, peut-être en cosplay, vu que c'est à Kiabala, c'est ouais. Peut-être un truc plus en mode made,
en mode café. Quoi, du coup, ouais.
Voilà. Mais par des actrices porno okay. de
ce après, c'est bon, il y a des fans, tu vois, des mecs qui sont ah, j'adore cette actrice, machin. Ah. Et le mec est trop content, hein, juste qu'elle te serve un café. J'avoue.
Et je les comprends.
Pareil. Hein.
On a
petite un petit selfie là, un petit sort tes boules pour le selfie.
Moi, mes références, c'est genre Zara White.
Moi, c'est Aoi Sola. Ma référence japonaise, c'est Aoi Sola.
En japonais, j'ai aucune idée.
C'était mon idole pendant des années, Aoi Sola.
Only Okita. Only Okita.
Ouais. Moi, je pense que c'est Aoi Sola. Pour moi, c'est elle est top one. Après,
il y a la métisse canadienne aussi là qui était.
Comment elle s'appelait? Putain, j'ai oublié son Matsuka. Non.
Et Katsumi?
Non, c'est une japonaise, mais c'est canadienne.
Elle n'était pas japonaise.
Katsumi, non, elle était vietnamienne.
Ouais.
Bref. Vas-y, continue ta news.
Discussion de spécialiste.
Spécial boulard. Et ce bar qu'ils ont commencé à faire à Kiabala, en fait, c'est devenu un putain de hit. Et ils ont commencé à en faire une deuxième location à un autre endroit. Et je ne savais même pas.
Deuxième lieu.
Non, ils ont loué un autre endroit, en fait. Devinez où?
Bah, Kabukicho, du coup.
Non, ça c'est pas le deuxième, c'est le troisième endroit et c'est un complexe. Là c'était juste un autre
Ginza,
bar.
Ginza alors.
Non, c'est pas très loin de chez moi.
Nakano. Ouais, Nakano. C'est quartier Otak aussi
ouais,
un petit
mais
peu.
Mais je savais pas. Si j'avais su, j'y serais
pourquoi
peut-être
pas. Pourquoi ça
fermé? Bah non, c'est apparemment ça existe encore. Bah parce
alors,
que
si pareil, j'avais su, t'habites à côté.
Tu peux toujours y aller.
Ouais, mais bon, là je vais avoir moins de temps avec le gamin. Mais voilà.
Oh, ça va. Au début, hein, c'est que la maman qui s'en occupe, hein, le papa, il est là c'est pour le décor. Quoi.
Les 3-4 premiers mois, tu vas pas faire grand chose.
Au mieux que t'ailles te relaxer justement à Nakano là justement.
Après, encore une fois, ça reste un bar où tu discutes avec les meufs. C'est même pas un cabaret. Hein.
Ouais,
c'est
mais
vraiment
c'est
un bar.
Après, moi, vas-y, continue les deux. Après, ça m'intéresse quand même un peu les prix parce que j'ai un peu de tacaille le truc. Enfin, bref, vas-y.
Donc,
Nakano.
Ils se sont dit, il était un peu plus grand celui à Nakano. Il marche tout aussi bien. Allez, on attaque le gros, on va à Kabukicho, on ouvre un complexe sur 5 étages.
Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, voilà. C'est des bars? Est-ce que c'est des toboggans avec des beats?
Non, à mon avis, il y a genre bar.
Chaque étage a un thème différent.
Ok, vas-y alors.
Ah, t'as la nurse, t'as le truc. Oh,
donc, le premier étage, c'est juste pour payer avec le cashier, avec te dire, voilà, tout te guider, te dire, bon, là, tel étage, il y a ça, enfin, plus informatif en gros. Mais il y a aussi un magasin avec des stickers, des pellicula, des gachas, tu vois, mais avec des trucs, des petites culottes, avec des trucs sex toys dedans.
Avec des culottes sales, putain, quoi qu'il serait content.
C'est vrai.
Petite référence.
Il avait sa culotte.
Et donc, au basement, donc au -1.
Dans le sous-sol, là. Je traduis pour les francophones.
Bah ouais, bon, c'est B1, c'est basement. Tu dis pas vraiment sous-sol, comment t'as dit ça en France?
Bah si, tu dis sous-sol, en fait.
Ah, sous-sol, moi, ça me fait penser à la cave de mon grand-père. Donc, bon,
bah, mais bon,
c'est
sous-sol.
c'est un peu plus glauque, en fait, dans l'histoire. Mais bref. Bon, là, il y a les...
Je sais pas ce qu'ils étaient de ton grand-père, mais bon.
Là, c'est l'étage pour
l'étage tournante.
Non, là, ça tourne dans tous les étages apparemment parce que mais le
mec qui font l'hélicobite. Pardon.
Cet étage là c'est pour les newcomers, donc c'est pour les meufs qui viennent juste d'arriver dans l'industrie et qui vont c'est les nouvelles têtes en gros. Si tu veux des têtes qui viennent d'arriver dans l'industrie,
si tu veux de la fraîcheur,
un ou deux films max pour le moment, c'est l'étage pour toi.
Et d'accord. Donc, du coup, c'est, à mon avis, ça doit être l'étage cheap, à mon avis. Hein,
mais non, encore une fois,
c'est un juste, bar, quoi.
Elles servent à bouffer, à boire, et c'est casual, en fait. C'est un bar, mais avec les serveuses et les barmaids, et je pense que tu peux discuter un peu.
Ouais, mais c'est pas un peu truc genre Hooters, ou un peu détenu sexy, enfin, genre
ouais,
mini-shop.
J'imagine que c'est un peu plus un Hooters. C'est pas un cabas, c'est plus un Hooters dans l'idée où, genre, ouais, les meufs sont habillées sexy, et tu peux discuter vite fait avec elle, mais ça s'arrête là, c'est pas un cabas où la meuf s'assoit. Et tu
c'est quand même sympa, moi j'aime bien Looters, moi des petites cutes, c'est un peu la bidoche qui dépasse du sort, et tout, j'aime bien.
Pareil,
j'aime bien.
Ouais, que je le fasse, un de ces quatre.
Ouais, c'est sympa, hein, franchement.
Au Japon, ça dépasse un peu aussi, parce que entre les photos et ce qu'il y a en vrai, je pense qu'il y a un peu du mensonge.
Mais en fait, je préfère même ce qu'il y a en vrai, alors oui, alors. Niveau corps, c'est sûr qu'en photo, c'est plus, on va dire, bombé, si tu veux. Mais les meufs sont quand même... Après, t'as des japes, quand même. Et c'est, moi, perso, après, j'ai la fièvre jaune. Et j'avoue que, ouais, les petites japes en tenue de hauteur, c'est bien sympa, quand même.
OK. Donc, au deuxième étage, c'est le Kakubutsu Salon. Donc, là où les...
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais pas.
Ok. Super.
Si. C'est du journalisme.
C'est de la Si je dois traduire, butsu, ça veut dire. Se faire tabasser, quoi.
Non, ouais, super. Bah, ça donne envie d'y aller.
C'est l'étage qui te fait tabasser.
Non, mais c'est. Ils l'ont appelé comme ça.
Tu ne le vends bien.
Non, mais bah, quelques bouts de ce salon, donc c'est là où les clients ils boivent des coups avec des femmes qui travaillent pour la Suzuki Industry.
Donc des putes.
Voilà. Donc là, c'est plus du hostess bar.
Ok.
Donc là, par contre,
avec des massages érotiques et tout plein de.
Mais au bar ?
Non, après, là, c'est le deuxième étage.
Ouais, mais c'est plus un bar là, c'est quoi ?
Ah, bah là, c'est un kakubutsu salon.
C'est un truc de prostitution.
Plus ou moins, oui.
En fait, ça doit être comme les pink salons, tu dois avoir genre un peu des cellules, mais tu dois un peu isolé, peut-être avec une meuf.
Bah là, t'as un truc plus, j'imagine que t'as. En fait, t'as un petit dessin, donc t'as une. Sur le deuxième étage, t'as un truc où ça ressemble vraiment plus à t'as une cabine où genre t'as l'impression que t'as un gars qui se branle. Ah non, ça c'est le. C'est pas le branlette.
Tu n'as pas de sinus, ça, ta news. Hein.
Non, là, ça ressemble plus à un cabas, en fait, le deuxième étage.
Ok.
Cabas, mais à côté, il y a aussi des érotiques massages, donc il doit avoir.
Enfin, il reste deux étages, mec. Hein.
Et à mon avis, et Japon, ça monte en fait.
Vas-y, je veux savoir le reste. Moi.
Et il y a pas mal de trucs de services qui sont proposés, apparemment, au-delà du.
Est-ce que tu peux décrire les services?
Il ne précise pas.
Franchement, moi je te dis qu'on
irait pour faire un.
Bah, t'aurais dû y aller avant de faire ta news, mec, pour vraiment
savoir. Cache l'investigation.
Bah ouais, t'arrives avec ta carte de presse, là, bim.
Bernard de la vie à dire.
Zone interdite.
Coke. C'est le quotidien de ces gens.
La colline du crack.
Ouais. Donc le troisième étage, c'est celui pour les actrices célèbres. Donc là, c'est à la demande, c'est un core business à la demande. Donc j'imagine que ça doit être super cher. Ouais, c'est que les meufs qui sont ultra connues. Donc,
dans cet étage-là, tu fais quoi? C'est juste pareil, c'est un bar ou c'est juste.
Non, celui-là, c'est vraiment que du. Là, c'est que
correct.
Du. Là, c'est que du cabas pour le coup. C'est cabas bar.
Ouais,
c'est-à-dire que t'as une meuf et deux ou trois clients par meuf.
Et après, si t'allonges la thune.
Ouais, un cabas, c'est normalement t'as
un garçon, une meuf. Voilà, ouais. Donc c'est pour ça que c'est bar cabas parce qu'en fait là la meuf est avec deux ou trois.
Ouais, c'est un snack en gros quoi. C'est snack plus un de snack. Luxe quoi.
Sauf que en fait c'est comme si t'avais plein de petits snacks sur un étage. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu bizarre, mais c'est le principe.
Le snack normalement elle est derrière le bar, elle est pas si sacrée de ça.
C'est vrai.
Mais là elle est derrière le bar.
T'as des meufs, enfin bref. T'as la maman, mais t'as des meufs après le snack.
On en parlera.
Voilà. Donc ça, par contre, ouais, ça, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut réserver à l'avance, etc. C'est pas.
Va avoir des ronds.
C'est cher, surtout. Ouais, je
pense. Ouais, voilà.
Alors le dernier étage.
Ben, on l'a déjà fait en fait.
Ah
on l'a déjà fait parce qu'on a fait les trois premiers étages, le basement et le rez-de-chaussée.
Ah, tu comptais.
Ah, d'accord. Ouais, comptais le rez-de-chaussée, le truc information. Ok.
Ah, moi j'aurais pensé, tu vois, au rez-de-chaussée, elle te sert des coups. À l'étage au-dessus, au pabou, tu vois.
Ouais.
Après, tac, là, et en haut, ah, c'est genre. Anything goes.
Ouais, j'aurais dû faire
un peu. Là, en fait, t'as les dessins, en fait, regarde. Tu vois, t'as le basement avec les newcomers, donc tu vois, où c'est un truc.
Ouais, truc de souvenir.
C'est pas très radiophonique, hein, tout ça.
Voilà. Ouais, j'avoue. Ouais.
Deuxième étage, premier étage,
c'est des petits dessins mignons. Alors, c'est radiophonique, il y a des petits dessins mignons avec au premier étage, t'as un dessin mignon qui dit que tu cachais des souvenirs. Le deuxième dessin, c'est quoi? C'est t'as deux meufs qui parlent avec un escalier, avec un mec qui monte son cul.
Non, c'est des bousses.
Ouais. Là, c'est les pellicula en fait.
Ah, les pellicula. Mais il y a un mec qui monte son cul quand même.
C'est un mec. Ouais, il montre.
Ah, ouais, mais c'est une meuf. Ah, ouais, c'est une meuf qui monte sa culotte peut-être.
Ouais, je sais pas. On dirait une des grosses moustaches.
Ça, c'est l'étage avec les massages, mais ils en parlent pas trop.
On dirait Doug Bardot avec une moustache.
Oui.
Là, c'est l'étage avec les massages, justement, mais tu vois, ils montent pas trop les massages. Ça, c'est le truc un peu cabacoula que je te disais, tu vois.
Il y a quand même un tatami.
Ah, tu vois, voilà, c'est ça. C'est que les meufs, elles sont derrière un mini bar, en fait. Et ouais, voilà. C'est comme un mini snack, ouais, en fait. Ça, je disais tout à l'heure, en fait. Quoi.
Ouais, mais il y a quand même la zone tatami où tu peux être assez bâtard.
Voilà, et après, je pense que si tu allonges la thune, après, tu te fais
ça,
un peu.
Ça, c'est vraiment en mode VIP, à mon avis, ça.
Et alors, tout en haut, j'ai.
Et ça, je sais pas trop. En fait, ça, c'est le truc compagnie privée, c'est ce qu'ils disent, en gros.
C'est une femme sous une vitrine.
Après, là, je pense que le truc, c'est genre, t'arrives avec tes potes et t'es tout seul avec la meuf. Quoi.
C'est du peep show, non, j'ai l'impression.
Ouais, ça, c'est plus un truc classique, peep show. Bon.
Théâtre porno.
Ouais, voilà.
Il y a ça chez
les gens. Après, dans ta news, t'as pas quand même les prix des services, quoi.
Non, ils ne prennent pas les prix, mais tu peux aller sur place.
Le truc le plus intéressant, il l'a pas, quoi.
Non. Bah, si, je vais te donner un prix quand même, ça peut commencer. En fait. Tu charges les clients pour la bouffe et les drinks, boissons, ouais. Les boissons. Tu as une admission fee de 500 yens donc, par 30 minutes.
Ça va.
Ça va,
franchement.
Et après, il faut payer les boissons sur place. À mon avis, ils se rattrapent bien sur les boissons.
Ouais, à mon avis, les boissons. Ouais.
Mais les types, c'est pas des cabas. À la base, ils font déjà plein de thunes, je pense, avec l'industrie du porno, même si ça a dû baisser.
Ouais, après, les meufs, elles font du baïto quand elles ont pas de film, elles font des baïto dans le bar. Quoi,
ouais. Voilà. Et c'est moins pire que le. Ouais, je sais pas, ça dépend de ce qu'elles aiment.
C'est quand même intéressant. Après, niveau prix, j'aimerais bien savoir. Et peut-être que.
Mais
à mon avis. On va dire entre guillemets abordable, j'aimerais bien faire un petit tour perso. Mais...
Bah, si c'est un bar, que ça reste marrant, tu vois, de se dire, hey, tiens, je l'ai vu se faire baiser. Bon.
Moi, le truc, c'est que les actrices porno japonaises, je les connais pas, quoi. Donc,
bah, j'ai pas trop suivi, quoi. Non, c'est... après, elles font du porno, elles doivent être mignonnes, quand même, tu vois. Parce comme je disais tout à l'heure, j'aimais bien les Hooters parce qu'elles sont un billet sexy, tu vois un peu la bidoche qui dépasse du short. C'est sympa, même si tu vas pas les baiser, tu vas pas. C'est quand même sympa de boire une petite bière, tu bois une ou deux bières, tu restes pas toute la soirée là-bas. C'est rush le Hooters. Mais c'est quand même sympa d'avoir une petite meuf qui te serve. Voilà. Pour les yeux, c'est cool.
Là, ça doit être la même chose.
Ouais, voilà, ouais.
Moi, j'ai une pote
enfin, les étage.
Qui faisait Kaba, qui me disait ouais, les meufs qui font du porno ou qui se prostituent, c'est les meufs qui savent pas parler, quoi. Parce que c'est normalement si tu sais parler ou si tu fais rire, tu sais faire rire les mecs, t'as pas besoin de montrer ton cul, quoi.
Au Japon, c'est pas faux. D'ailleurs, ma femme m'a déclaré récemment qu'elle avait fait du porno, du kaba.
Ouais, c'est pas hyper.
Elle a fait deux fois et en fait, elle a pas aimé. Elle a trouvé ça chiant. Elle était avec des vieux un peu chelou, donc elle a pas
kiffé. Le gros Gookie Bouli, là, Ludo.
Ah, les meilleurs. Oh, il est pas très gros, lui, encore.
Non, ça va, c'est un bébé, ça.
C'est un bébé.
Non, mais franchement. Moi, je serais une meuf au Japon, je ferais du kaba, quoi. Mec, tu parles quoi? Tu parles pendant 3 heures à des putains de salariés.
Ouais, mais encore une fois, il faut savoir parler. Ah si,
Il faut connaître plein de sujets, plein de trucs qui les intéressent.
Faut pouvoir rigoler avec le mec.
Franchement,
ce qui
intéresse les Japonais, on en a parlé tout à l'heure, t'as les Pokémon, t'as le baseball et t'as les courses de chevaux.
Ouais,
c'est bon, t'as pas beaucoup de sujets à potasser.
Tu généralises. Et puis même kaba, c'est jusqu'à 25 ans, quoi. Après 25 ans, t'es un truc.
Il y a des kabas vieilles.
Ouais, mais après, c'est snack ou des trucs comme ça et c'est les mêmes prix du tout, quoi.
Ou alors, t'es devenu une star et donc même tu peux pousser un peu plus loin parce que justement,
t'es la star du kaba, quoi.
Voilà, t'es dans les numéro 1.
Ou alors, tu finis à Golden Guy comme notre ami la dernière fois qui m'a filé sa carte.
Pochi.
Ouais,
le nom d'un chien d'ailleurs. Si tu connais en fait le comment il s'appelle, Ken.
Le survivant.
Non, celui qui est mort là du corona récemment, le japonais.
Un acteur.
Ah oui, j'ai vu, oui.
Ouais, okay. Et du coup, lui, le nom de son chien c'était Pochi, donc c'est pour ça. En fait.
C'est le nom de chien le plus générique du Japon, quoi.
Ouais. Après, t'as Talo aussi.
Ouais, mais Talo, ça peut être un mec, quoi. Alors que Pochi.
J'ai connu beaucoup de chiens qui s'appelaient Talo.
J'ai connu beaucoup de chiens. J'ai un bon ami chien.
Plus que Pochi.
Pochi, ouais,
on se buvait des bières avec les Talo et tout. Moi, j'ai connu plus de chiens qui s'appelaient Talo que Pochi, j'ai jamais entendu.
Talo, c'est un prénom d'homme japonais d'un certain
âge. Talo, les chiens Talo, il y en a à chier, quoi.
Très bien, alors je vais vous parler de publicité et de discrimination. Et donc, vous vous souvenez de Yahoo, qui était
Yahoo,
ce portail qui existait dans les années 90.
Ah, mais tout le monde au Japon utilisait encore Yahoo.
Eh bien, oui, mais les écouteurs ne le savent pas nécessairement que, en fait, Yahoo Monde et Yahoo Japon, c'est pas du tout la même compagnie. Yahoo Amérique s'était sont fait racheter par AOL.
Par AOL, il me semble que ouais, ce qui me semblait aussi. Ouais.
Et puis ils avaient engagé Marissa Mayer un moment, et puis elle s'est barrée, je sais pas où. Bref. Et mais en fait, Yahoo ici, ça appartient à SoftBank, je crois, donc Monsieur Son, qui est un petit peu le Bouygues Télécom des mobiles au Japon, donc un peu cheapos, mais qui est aussi l'opérateur de téléphonie qui avait l'exclusivité sur l'iPhone quand il est sorti en premier au Japon.
Pendant des années, ouais.
Pendant quelques années, si tu voulais un iPhone au Japon, tu étais obligé d'aller chez SoftBank. Et du coup, comme Yahoo leur appartenait, le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone, c'était Yahoo. Et donc au Japon, Yahoo est encore... En fait, c'est pas le même management et ils font encore des sous, quoi. Ça existe encore.
Je sais que ma femme, par exemple, quand elle regarde la météo, elle va sur Yahoo.
Ouais. Ils ont une application pour la météo, mec, ouais, qui est géniale. Où tu vois les trucs en temps réel avec un overlap. C'est ultra bien fait.
Tous les trucs de météo, parce que j'utilise celui de l'iPhone, mais au Japon, je sais pas en France, mais en tout cas au Japon, leur météo, elle est pas fiable du tout. À chaque fois, ils me disent. La semaine dernière, pour exemple, l'invité nous dit ouais, on va à Yogi, mais apparemment, il pleut. Je fais, ouais, ça fait une semaine en avance, on verra sur place. Et en effet, il ne pleut pas du tout, il fait 32 degrés.
Ouais, je suis en train de suivre comme un porc, c'est clair.
Ce que j'aime bien, c'est qu'ils te disent, c'est un pourcentage.
Ouais.
Donc, c'est jamais, il pleut, c'est 90%. Donc, comme ça, il se couvre un petit peu. Quoi.
20%.
20%, 40%. S'il flotte, c'est pas notre faute.
90%, en général, il pleut. Hein.
Ouais, mais quand c'est 40% qui flotte, ils se disent...
Ben, le week-end dernier, par contre, ils ont annoncé de la pluie. Et genre, on a attendu la pluie tout le week-end. Il y a eu un grand soleil, etc. à Nakano.
Avec impatience, d'ailleurs, j'ai envie de dire.
On voulait faire notre machine.
Oh, les papas.
Alors, les voisins, là, de la table à côté, ils ont trouvé un cafard, je pense. Et donc, c'est deux jeunes hommes qui poussent des cris.
T'appelles ça des hommes, toi? Ok.
Non,
ouais. Ben, on a une définition de l'homme, hein, mais bon.
Ils ont très peur des insectes. Voilà. Donc, je vais vous parler de Yahoo Japon. Hein,
Yahoo Japon, ok.
Le fameux portail, hein, parce qu'il y a encore le portail ici, ça existe encore. Hein, ça sent bon le Internet 1.0 des années 90. Ta clope est à l'envers, frère.
Merci.
On a frôlé le drame. Et donc ils vendent de la pub, hein. Ils font des banners, etc. C'est comme ça qu'ils vivent. Hein.
Ouais.
Et depuis pas très longtemps, enfin quand vous aurez cet épisode, ça sera depuis un petit moment déjà, dépendant de la vitesse de montage de Ludo, ils ont changé leur pub. Ils ont des nouvelles, des nouvelles guidelines en français, des nouvelles...
Lignes directrices,
merci. pour ne pas encourager la discrimination. Mais alors, pas n'importe quelle discrimination et pas n'importe comment. Alors maintenant, les pubs qui sont interdites sur Yahoo, si tu veux faire de la pub, tu veux mettre des bannières sur Yahoo, trois types de pubs qui sont interdites.
National !
Non, ça, c'est encouragé. Non, pas du tout, c'est pas encouragé, mais ça, c'est pas un problème.
Il y a un nouveau type là, ça y est.
À le Premier ministre ?
Ouais. 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 Ouais.
Bon,
ça, c'est un autre sujet.
On va pas commencer. Ouais, j'ai pas assez bu. je vous donne des exemples. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup de poils sur le corps, je n'étais pas du tout populaire vis-à-vis du sexe opposé. Mais depuis que j'ai trouvé cette solution miracle qui enlève les poils, maintenant, je me tape plein de meufs ou plein d'hommes.
Ils sont cons parce qu'en plus, c'est des japonaises. Elles aiment bien ça, les poils. Hein.
Ça dépend, tu peux être une meuf aussi qui est très poilée.
Mais ça, c'est des pubs interdites ou qui sont autorisées?
Interdites. C'est des exemples de trucs qui sont interdits.
Parce que genre, t'as pas le droit de dire que de tracer les poils. Enfin,
tu vas voir. Attends, j'ai précisé. Mais deuxième type, parce que j'étais gros ou grosse, les gens ne voulaient pas marcher avec moi dans la rue.
Mais tu rigoles, mais sur YouTube il y a plein de pubs comme ça. Enfin, il y a un gars qui s'appelle Tokyo Nojo qui est un japonais qui vit en France et qui regarde les pubs YouTube en fait qui passent, qui sont cités au Japon, qui passent sur ces vidéos.
Toi aussi pour regarder ce genre de vidéos.
Bah, ça dure 5 minutes, mais tu verras et c'est hallucinant en fait. C'est genre les pubs, ouais, c'est des trucs genre t'as l'impression que c'est un truc de hentai. En fait, non, c'est pour un truc pour mincir, pour des pilules pour mincir, etc. quoi.
Alors, depuis que j'utilise ces produits de d'amaigrissement. Les gens veulent bien marcher avec moi à nouveau dans la rue. La vie est belle. Le troisième, je perdais mes vœux. J'étais un peu chauve et ça me faisait beaucoup de soucis parce que les autres personnes. Enfin, je pensais tout le temps au regard des autres.
Non, je disais bonjour aux meufs là.
Elle nous regardait. Coucou à quelqu'un.
Et ouais, bah, elle nous regardait, c'était Mimi, je leur dis bonjour.
Elle me regardait, je les regardais, elle me regardait, je regardais.
Ouais, c'est un peu ça.
Vraiment, mais t'es vraiment un lâche-rien, toi.
Jusqu'au bout.
Et donc, je me souciais beaucoup du regard des autres et ça m'a fait perdre ma confiance en moi. Mais grâce à ces produits de capillaires miracles, eh bien maintenant, j'ai récupéré toute ma confiance.
Et tous ses cheveux, du coup.
Et non, sa confiance.
Ah, seulement sa confiance.
C'est le plus important.
Okay. Okay, le produit ne garantit pas les cheveux.
Alors, justement, pour clarifier un petit peu, ce que Yahoo interdit...
C'est les pubs mensongères.
Non, justement, les pubs mensongères sont autorisées.
Okay.
Tu peux
okay.
Tu peux avoir des grosses arnaques qui peuvent promettre des résultats pas du tout réalistes, avec des frais de cacher, tu vois,
donc en gros, c'est pointer du doigt la discrimination.
Qui posent des gros problèmes de vie privée, c'est pas un problème. L'efficacité des produits, la transparence, le prix, on en a rien à foutre. Le seul problème, c'est ce qui, présente l'aspect physique, l'apparence, et qui comme une source de complexe. Et promouvoit la discrimination. Et donc ils disent que ça c'est imparable. Oui et non. Tu vois, l'idée, l'idée sur le coup, pourquoi pas, tu vois, c'est vrai. Je veux dire, bon, après moi j'adore me moquer des chauves par exemple. C'est une sorte de hobby personnel. Non, c'est faux. Mais au Japon, c'est vrai que tu vas être très très agressif. Hein. Si tu dis à quelqu'un espèce de chauve, c'est une insulte vraiment vénère quoi. D'un côté, tu vois, le truc de régime, etc. Mais est-ce que être gros, c'est mal? Est-ce que avoir des poils, c'est mal?
Être gros, c'est mal, en fait. C'est quand même un peu...
Obésité morbide, c'est mal, oui. C'est une maladie. C'est une maladie, c'est pas très bien. Ouais.
C'est pas une maladie.
Bah, l'obésité morbide,
si. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont une hygiène de vie pas terrible. Alors, oui, effectivement, c'est peut-être pas bon pour la santé, mais après, il y a des gens, ils y peuvent rien. Et puis, c'est pas parce que t'es gros que. Enfin, j'ai jamais pensé que c'est un problème. C'est peut-être un problème indi- pour toi.
Non, ce qui est dangereux.
Les gens, ils parlent pas aux gros au Japon, alors qu'ils ont le sumo comme sport national.
Ouais, ça, c'est différent.
Bah ouais, mais ça reste des gros, quoi.
Ouais, ça reste des gros, mais c'est différent. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est différent.
C'est un gros, mais c'est pas pareil.
Mais non, mais c'est carrément. Mais, sauf que. Ah non, c'est pas. Enfin, là, c'est moi qui le dis, mais c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que les Japonais, c'est comme ça. C'est-à-dire que, ouais, ils vont vénérer des sumos, mais toi, voilà, toi à côté qui est gros. Ils vont y gymer et compagnie, quoi.
Ils vont pas marcher à côté de toi dans la rue parce que t'es gros, quoi.
Bah, donc après, les Japonais, ils bâchent pas, mais ouais.
Après, t'as une émission de télé comme ça où c'est des gros, justement, ils te montrent, ils font des sortes de reconstitutions. Personne avec des gros en surpoids. Comme des porcs.
On va dire la chose. Petitement.
Ouais, non, mais là, c'est plus qu'en surpoids dans cette émission-là parce que c'est des gars qui font. Ils te montrent des photos témoins et en fait, ils ont des acteurs qui sont bien fat, qui font, qui montrent en fait reconstitution, en gros, qu'est-ce qu'ils bouffaient, ce qu'ils faisaient, le choc qu'il a eu et comment, et après, il a maigri. Et du coup, après, ils vont taper à sa porte, ils voient le type, comment il est maintenant. Mais à côté de ça aussi, dans les pubs dont je parlais, t'as un animé où genre c'est un gros. Il reçoit une de ses meufs de sa classe, tu vois, il est lycéen, et genre ouais, c'est la meilleure. Elle demande, ouais, j'ai loupé mon train, est-ce que je peux dormir chez toi? Le gars, il pense que c'est une avance, il commence à aller sur la meuf, elle fait, tu fais quoi et tout, elle se barre. Le gars maigrit, grâce aux pilules magiques, et là d'un coup la meuf fait, ah, tu as maigri, mais oui.
Alors ce n'est pas la réalité, Ludovic.
Oui, je sais.
Tu sais ça.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi de l'advertisement, tu vois ce que je veux dire, oui. C'est des trucs qui sont faits pour que des gens justement qui sont en surpoids achètent ça, même si ça n'a pas de résultat.
Ouais, c'est du guilt tripping, je veux dire, bon, ok, ouais, fais du sport si tu peux, après t'as des problèmes hormonaux aussi, tu vois, voilà, bon, peut-être que tu peux faire quelque chose. Les poils, bon, bah vas-y, rase-toi, tu vas pas nous chier une pendule,
t'as
quoi.
T'as l'épilation laser au pire, quoi.
Chauve. Mec, là, le nombre de vieux manos de 50 ans avec 3 poils sur le caillou dans le train.
Le mode 4 barres, là.
Je sais pas. Alors qu'ici, c'est marrant parce que tu vois, en France, t'es chauve. Bon, nous, aucun de nous trois n'a ce problème. Tu te rases la tête.
Moi, je commence à l'avoir, moi, ouais. Hein, le problème.
Ouais. Mais bon, alors, quand ça sera vraiment un problème, tu te fais un Bruce Willis. Ouais, voilà. Ouais. Et alors qu'ici, ils sont dans un trip camouflage. Ouais, alors que c'est grillé, quoi.
C'est ce qu'on disait,
Et donc, tu vois avoir des mecs, ils ont des cheveux hyper longs d'un côté, tu vois. Genre ultra longs du côté gauche, du côté droit. Ils rabattent ce dessus du crâne. Et vu de dessus, en fait, ça fait comme un code barre. Donc, en japonais, tu dis « bakodo ». Et donc, effectivement, mais alors que c'est grillé, quoi, tu vois très bien. Donc,
Le truc qui est marrant, par exemple, c'est que mon beau-père, bon, il est bien, mais pour ceux qui connaissent GTO, le manga, tu vois le vice-président, le principal, ouais. Franchement, il a la même coupe et il a un peu la même tête, justement, donc c'est assez marrant. En gros, c'est, il a une chaussée au moine, quoi. C'est, il laisse le côté, tu vois, il coupe le côté et genre dessus, bon, bah c'est.
Je vais dire aux gens, assumez comme vous êtes. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau,
faites quelque chose en fait.
Quoi, si vous pouvez. Mais il n'y a pas. Enfin, c'est des standards de beauté que ça, universel, machin, c'est de la merde, quoi. Des gens qui aiment les poils, des gens qui aiment les gens un peu enveloppés. En fait, des gens qui aiment les maigres, tu vois, voilà.
Ça, ça parle d'un sujet, en fait, moi, ce qui me gonfle un peu en ce moment, quoi, surtout venant de la France, en fait, c'est ce féminisme 2.0 où elles disent toutes, ouais, il faut être un modèle, machin. Mais les mecs aussi, on est obligés, on a cette pression tous les jours où les mecs, ils ont tous des abdos, machin, quand tu regardes des pubs de parfum, quand tu regardes des pubs de fringues. On est pareil, sauf qu'on fait pas chier, quoi, au bout d'un moment, quoi.
On a quand même moins de pression.
Mais on a moins de pression,
quoi,
à ce niveau-là, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, les meufs sont beaucoup moins regardantes que les mecs sur notre physique, par exemple.
Enfin, ça dépend quel mec, mais bon, ma personne.
C'est Ludo, parce qu'il dit ça, s'il est beau comme un dieu. Donc, forcément, lui.
Ma femme n'est pas très regardante sur mon physique, donc bon, je suis un peu déçu.
Surtout qu'avec ses cheveux longs, il fait vachement Romano, je trouve, mais bon, ses cheveux longs et sa barbe.
Bec Bédère.
Ouais, il ressemble pas mal à Bec Bédère,
Il y a un truc.
Mais bon, voilà, est-ce que. Ah, ça dépend, regarde. Gainsbourg avec Brigitte Bardot, est-ce que l'inverse aurait été possible? Je sais pas, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais.
J'ai vraiment pas de problème avec les femmes rondes du moment quand. Enfin, voilà, enfin. C'est plus une question de... Si la femme ronde, elle est là, tu sais, elle se cache un peu et machin, c'est vrai que c'est freinant. Voilà, c'est un peu ça. C'est plus du comportement plus que du physique. Ça ne me dérange pas. J'ai été avec une femme ronde et même encore ronde, je suis gentil. Hein. non, vraiment, je dis ça pour... on ne sait jamais où ça part, le podcast, et je n'ai pas trop envie d'avoir des problèmes, mais ouais, j'étais...
il va aller dans une...
Ah, on donnera ton adresse à la fin du podcast.
Non, j'étais avec une meuf...
Si vous voulez vous expliquer avec Fred à la fin.
Elle était super belle, elle était un peu fat, quoi, mais j'ai kiffé être avec elle, quoi. Parce qu'elle s'assumait, parce que, voilà, après, c'est... Moi, je pense que la beauté, c'est pas forcément le physique, c'est plus comment toi, tu fais ressortir ton physique, en fait.
Ouais, et bon, au-delà du physique,
si la meuf, elle est complexée, c'est sûr que c'est pas attirant. Si la meuf, elle s'assume, je pense qu'il y a moyen.
Disons, moi, mon message, ce serait aimez-vous, si
et
vous
les
pouvez,
autres vous aimeront.
Et puis, ouais, idéalement, quoi. Enfin, voilà, essayez, quoi.
Non, mais dans tous les cas, ouais, c'est le premier pas pour être aimé par les autres, c'est de s'aimer soi-même.
On en parlait tout à l'heure avec Ludo, justement, quand la batterie s'éteignait, en fait. Il y a eu une vidéo d'Arun Quest avec le joueur du grenier qui expliquait lui comment il a fait son régime et comment il percevait son obésité. Et je pense que voilà, c'est un peu quand même assez général ce qu'il expliquait, que le mec, le joueur grenier, c'est un mec lambda quand même. Bon, ok, il a fait des vidéos YouTube maintenant, mais le mec, c'est juste un gros à l'école. Et je pense que surtout à notre génération, à nous en plus, quoi. Ouais. Donc maintenant, comment ça se passe, j'en sais rien. Mais le joueur du grenier, c'est notre génération qui a une quarantaine d'années. Et il expliquait comment ça se passe, quoi, tu vois, les bouffis, les machins, qu'il en a bouffé toute sa life. Et même si tu t'assumes en tant que gros, ouais, non, mais je suis content comme gros, au fond de toi, t'es pas heureux. Si toi, t'es pas heureux, te convainc pas que tu sois heureux comme ça. Juste fais quelque chose pour être heureux, en fait.
Enfin, si tu peux.
Oui, si tu peux, bien sûr.
Les gens qui ont des problèmes hormonaux, des trucs comme ça, bon, ben voilà, tu peux pas nécessairement.
Je suis bien. Ouais,
le truc de culpabilisation, tu vois, c'est pas.
C'est pas la. Non, mais au bout d'un moment, quand tu es pas.
Toujours, quoi.
Je suis vraiment d'accord avec toi. Après, si t'es pas heureux, ben c'est à toi de faire. En fait, c'est pas à toi de faire plier les gens dans ton sens. C'est à toi, au bout d'un moment, de faire des efforts. Si t'es pas heureux toi-même, quoi. Tu veux pas demander aux gens d'accepter tel que tu es si tu t'acceptes pas toi-même, quoi.
Ouais. Et après, au-delà de s'accepter, ce que le joueur grenier disait, il disait en étant ancien gros, justement, il disait moi, les gens qui me disent ouais, je suis trop bien comme je suis, je resterai comme ça. Il y a tous, tu leur dis demain, t'as le choix, c'est t'appuies sur ce bouton et tu peux devenir maigre. Il y en a aucun qui appuie pas sur le bouton.
Il y a le problème inverse, hein. On a ce pote, on va l'appeler O, qui est extrêmement maigrichon et squelettique. Et lui, il aimerait bien être baraque. Et il n'y arrive pas. Enfin bon, il n'a pas été très assidu à la salle non plus.
Bien sûr, mais voilà, c'est ça toute ma vie. Non, mais j'ai eu ce problème.
Ouais, mais bon,
ma vie
il bouffe, il prend pas, quoi. Métabolisme hyper rapide, quoi.
Ouais, c'est ça, moi j'ai le même problème. Regarde, t'as vu, je suis cuss, mais je bouffe. Voilà.
Bois de la bière, mec.
Ouais, tu peux être un skinny aussi, fat. T'es maigre, mais avec juste la bedaine à bière. Ça, c'est le pire.
Je sais que Duncan.
Moi, je suis pas maigre, mais j'ai la bedaine à bière. En fait, mon corps est normal, mais j'ai la bedaine à bière. En fait.
Et puis, la quarantaine, ça n'arrange pas les choses.
Du coup, c'est pour ça que je suis au vin d'ailleurs.
Par contre, toi, le sport, c'est vrai que peu importe ce qu'on fait, si y a un minimum acide, t'as quand même des résultats. Pas énorme, suivant les métabolismes, encore une fois, mais t'as quand même des résultats.
Ah, je pense, du moins que t'es assez dur en tout cas.
Oui.
Enfin voilà, ouais, faire du sport, c'est toujours bien. Ouais.
Bon, moi je vais clôturer ces news avec une histoire de voleur de slip.
Elles sont longues ces news, elles sont longues.
Ouais, mais plus c'est long, plus c'est bon.
Attends, t'as dit quoi, une histoire de voleur de slip?
Oui.
Ah, le fameux. Voilà. On n'avait pas des news de voleur de slip à l'époque?
Si, on a déjà eu.
T'avais pas, il y avait une news d'un mec qui coupait les jupes des filles.
Ah ouais, on a eu ça.
Les cheveux. Il y a eu le coupeur de cheveux aussi.
Le gars qui coupait le slip, qui volait des gens et qui leur a coupé le slip pendant qu'ils
dormaient. Ah oui, le coupeur de slip.
Un peu chelou, là.
Et il y avait le coupeur d'uniforme aussi, je crois.
Ah, c'est ça, c'est celui-là que je parlais tout à l'heure.
Putain, ouais, non, mais il y en a eu tellement. C'est vrai qu'on commence à en avoir pas mal, des trucs un peu creepy. Ouais,
pas trop de news compresseur dans le jeu récemment, par contre.
Non, là, ils ont arrêté. Je crois qu'ils ont compris, en fait. Là, cette année, ils ont fait non, pas de compresseur. Le comment on dit, Cancho, là? Non,
Cancho,
ouais. Ils ont un peu arrêté, là. Plus trop la mode. Donc, le 10 septembre, encore une fois, décidément, mes news se passent tous le 10 septembre, et puis il y a plein de petits. Je vois son petit regard malicieux, Fred, qui fait des petits coucous aux meufs.
Super mimi, quoi. Franchement, avec sa petite robe longue, là, et tout, quoi. Elle est charmante. Elle a un joli sourire.
Non,
je sais pas, c'est le même mec.
Ouais, il est en train de brancher, voilà, quoi.
Mais franchement, elle nous regardait bien, enfin, en tout cas, moi, pour le coup, parce que, un petit sourire, enfin, bref, on s'en fout, vas-y.
Donc, le 10 septembre, comme je le disais encore une fois, dans la préfecture de Ehime, à Matsuyama, sur l'île de Shikoku, il y a un homme qui a été arrêté pour vol de slip.
Vol de culotte ou vol de slip, ça le truc.
Et ben c'est ça justement qui est à définir.
Donc, j'ai une anecdote là-dessus.
Donc, malheureusement, le vol de slip n'est pas très commun et assez commun justement au Japon. Et c'est un truc.
Le vol de culotte.
C'est dans de petites culottes. Ben regarde, 20 mains demi, des trucs comme ça. Le grand
père. C'est culturel le vol de slip.
C'est
voilà.
Le slip c'est plus masculin, c'est ça que je veux dire. La culotte c'est plus féminin. On est d'accord quoi. C'est plus les filles qui portent des culottes.
Voilà. Terme générique.
Mais là.
Vol de sous-vêtements. Voilà.
Ok. Parce que moi, slip, c'est vachement mec. Hein, mais bon.
En gros, là, c'est un string qui l'a volé.
Ah, voilà. C'est
un string de mec aussi.
C'est
hein.
pas un slip, un string.
T-back. Donc, ce voleur, d'après la police, le vol est arrivé vers 3h50 de l'après-midi, le 25 août. Et le suspect a volé ce qu'ils appellent en anglais des G-string, T-back en japonais ou des strings en français.
String ficelle.
Voilà. Du balcon sur le rez-de-chaussée.
À la canne à pêche?
Non, au rez-de-chaussée, tu sais. Il a pris des trucs. Ouais. C'est comme moi, t'as vu, je suis au rez-de-chaussée.
Ah oui, du balcon. Je pensais du balcon du dessus, tu sais. Genre, j'imaginais le mec avec sa canne à pêche.
Non, bah, tu sais, depuis le balcon, au rez-de-chaussée, comme chez moi, t'as vu, t'as le truc pour le linge et puis ben, tu peux voler direct de là, quoi.
Ah, c'est là où je vole d'ailleurs tous mes slips. Hein.
Ah, c'est pour ça que je les trouve plus, les derniers. Non, putain, je le disais. Donc. Là où c'était accroché. Et le propriétaire de ce string, qui était un homme de 38 ans,
okay.
qui vivait dans cette maison.
Tu vois, Fred, comme quoi
Qui est un tout LDK, donc c'est un. Comment on dit en français?
Un T2.
F2, je sais pas comment on dit, ouais, bref. Et où il vit avec sa femme et ses deux enfants.
Ouais. Voilà. Donc c'était le string du gosse.
Non, c'était le string du mec. C'est le string du papa.
Je précise là pour les écouteurs qu'il est père d'une fille qui a quel âge?
8 ans.
Voilà. Et donc on a compris quel genre de sous-vêtements porte ta fille.
Elle porte des culottes normales, elle est toute mignonne.
Et des strings. Que tu lui achètes.
Pas encore.
Non, pardon, je suis sûr.
Donc le coupable est. La police dit justement que la fille aînée a entendu des bruits suspicieux sur le balcon et a vu le type, donc elle a appelé sa mère. Et le gars il est parti, ils ont appelé les flics parce que le père à qui appartenait le string n'était pas à la maison.
Donc le string, on est sûr, il était au pair, quoi. Très bien.
On va y venir.
D'accord.
C'est là que c'est intéressant. C'est que le coupable a été identifié un peu plus tard par des caméras de sécurité.
Ah oui.
C'est un homme de 19 ans qui est un apprenti peintre. Qui a admis
un artiste
qui a admis le vol des sous-vêtements. La police.
Il y en avait plusieurs alors.
Ouais. Et la police a demandé au voleur s'il avait volé les strings du mec. Et le gars a été un peu confus à ce moment-là. Il dit.
Quel gars?
Le voleur en fait. D'accord. Ah, le voleur.
Parce qu'il s'était pas rendu compte que c'était le string d'un mec en fait. Il pensait que c'était un string pour femme. Et en ligne, les gens ont bien sûr commenté ça avec ferveur. Et ils se sont dit, bon, mais non, le gars, il voulait vraiment un slip de mec, c'est pas possible, tu vois, tu le vois que c'est un string pour homme. Enfin, la poche devant, c'est différent, quoi. Il y a la place pour les Quintama et tout, donc c'est pas pareil.
Ah ouais, c'est vrai, mais j'ai pas de string.
J'ai pas pensé à ça, bon.
Et la police est allée chez le gars et a trouvé plusieurs strings et de petites culottes de femmes, mais a aussi trouvé le string
de
notre père de famille. Qui le demandait depuis un moment. Et ça a choqué le mec qui a volé les strings. Parce
qu'il avait déjà reniflé de ouf, j'imagine.
Non, le gars.
Bon dedans,
non, mais potentiellement, mais le gars, quand ils lui ont dit, apparemment, il était en non, c'est pas possible, c'est pas vrai, j'ai pas volé les strings d'un homme. C'est pas ma kink, tu vois. J'ai pas fait ça.
J'ai perdu la main, quoi.
Le père est retourné au poste de police.
T'imagines, il a identifié son string au poste.
Bah, c'est bien le mien.
Oui, alors, effectivement.
Voilà, sont là les meufs en kimono. Là.
C'est ce qu'il a.
Ah, bah, elle a mis en robe, hein, putain. Ouais. C'est qu'elle a branlé.
continue.
Et donc, tu rigolais en disant que le mec était allé chercher le string par lui-même, mais oui. Et apparemment fier de porter des strings et aucun problème avec ça.
Pourquoi ça serait un problème?
Non, mais tu vois, c'est quelque chose, ça aurait pu être un kink, un truc dont il avait honte, et pas du tout. Le gars assume à 200%.
Ouais, bon, chacun.
J'apprécie.
Toi, t'es quoi? T'es plutôt quoi? Toi, t'es plutôt slip kangourou
Non, bah récemment, je suis retourné sur du boxer. J'étais.
Ouais, boxer, c'est vrai. J'aime bien le boxer, moi. J'ai toujours été boxer. Hein.
En fait, quand je suis rentré en France il y a 2-3 ans, en fait, ils ont pas mes bagages, donc j'ai dû acheter des trucs. Pour en France, je suis allé au Leclerc, ils avaient des boxers DIM, tu vois, des trucs que j'ai acheté quand j'étais plus jeune.
Toute l'histoire de Ludo et ses boxers.
Et bref, et du coup, maintenant, j'en ai acheté. La dernière fois que je suis rentré, j'en ai acheté une masse parce que je me suis dit, ça c'est super confortable, donc maintenant je suis boxer DIM. Voilà.
Moi, je suis plutôt étui peignant, tu vois.
Étui peignant,
ouais, c'est un étui pour le pénis, comme les.
Comme les tribus Zoulou, non?
Voilà, comme les tribus.
Pas d'accord, c'est quoi?
En Amazonie. Non, en Panama. Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Indonésie, oui, effectivement.
Amazonie, non?
Oui, pardon, Amazonie, oui, effectivement, okay. Non, t'as raison. Donc en bambou, quoi, tu vois.
Ouais. Sympa.
Un bambou, je mets ma tub, deux ficelles sur les côtés, et puis voilà, comme ça, je suis bien.
Ok. Et ben.
Alors, petite anecdote.
Ah, bah vas-y, continue.
Pour continuer.
J'allais dire sur ces bonnes paroles, mais.
Ah, merde!
Putain.
Ah, je suis désolé.
Moi qui étais prêt à torcher.
Après les écouteurs, on fait un bingo. Sur ces bonnes paroles, donc à 10 fois que Ludo le dit, vous prenez un shot. Mais là pour l'instant il n'y en a qu'un, donc bref. Donc voilà, pour repartir sur cette bonne vieille histoire de voleur de slip, j'avais un pote, il habitait dans un appart, c'est apparto, tu vois, donc le truc un peu pas hyper cher où tu as la machine à laver qui est sur le palier devant l'entrée.
Ouais, j'avais ça en sac là aussi.
J'avais ça aussi dans mes premiers apparts ici. Et donc, bah, t'as ta lessive, quoi, tu vois. Donc, en général, les gens, bah, ils te laissent ta lessive, hein, ils vont pas te voler ta lessive. Sauf des fois où effectivement, il y a les voleurs de slip du quartier, quoi. Et donc, lui, il a été marié, je crois qu'il avait, peut-être un gamin déjà. Et il s'est fait tout voler. Mais le mec a tout pris. Il a pris les slips de sa femme, enfin, les culottes de sa femme, tous ses caleçons à lui, ses chaussettes, il a tout volé. Et donc il est allé voir les flics et les flics lui ont dit oui effectivement il y a un voleur de slip qui opère dans le quartier. Nous sommes sur l'affaire. Ne vous inquiétez pas. Il y a un avis de recherche. Quoi, mais,
on a l'habitude.
C'est hallucinant. Voilà, la police municipale Japon, voilà, c'est voleur de slip, ce genre de truc.
Et en plus, je suis presque sûr qu'ils ont des procès-verbaux déjà prêts.
préfet, c'est juste pour les voleurs. C'est...
Ah, il y a juste le nom en bire, en fait.
Mettez votre nom là.
Le A621, ça, c'est pour les slips.
Nous devons obtenir le laissez-passer A38.
Immatriculer une galère. Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port.
Hein? Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère. Nous voulons le laissez-passer A38.
Le port, vous le trouverez au bas de la ville. C'est au bord de la mer. Vous pouvez pas vous tromper.
Mais nous ne voulons pas le port, nous voulons le laisser passer à 38. Le laisser passer à 38. Le laisser passer à 38.
Une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches pourries de pesos. Ce type-là est un professionnel.
Alors, donc, comme je disais dans l'intro, on avait parlé un tout petit peu de religion, de liberté religieuse au Japon, quand je parlais du fameux temple du soutien-gorge, qui est un temple désaffecté, maudit, que je suis allé visiter quand j'ai fait un peu d'urbex avec un pote à moi.
Ça fait penser à la petite Shindo Kanachan, là, qui s'est...
Je sais pas de quoi il parle.
Shindo Kanachan, c'est la meuf qui s'était présentée au municipal japonais.
Mais oui.
Avec son abbé masque bras, et elle était bien mignonne, cette petite meuf.
Ouais, et en gros, elle disait, si jamais je gagne,
j'enlève le...
Bah, en fait, c'était des masques de abbé, en fait, qui faisaient le bras.
C'est l'abbé, en fait, bon, pour ceux qui habitent en France, du coup, quoi, l'abbé, il avait, voilà, le premier ministre, en fait, l'ancien premier ministre, du coup, maintenant, c'est vrai, a distribué, à l'époque où tout le monde recevait de la thune en France pour le confinement du coronavirus, nous, on a eu le droit au Japon à des masques.
Et 100 000 yens, quand même, on a quand
mais ça, c'était après.
1 000 euros chacun. Hein,
ça, c'était après. À l'époque, ça, c'était après. Hein. Ouais. L'époque, à l'époque, on a reçu juste deux masques de la...
Moi, je les ai jamais
reçus. De la préfecture.
Moi, je les ai reçus.
Et en fait, cette meuf-là, s'est présentée au municipal avec une affiche municipale avec les abémasques, ce qu'on appelle les abémasques, les masques d'abé, abénomasques, donc avec les masques d'abé.
Un jeu de mots sur abénomics, qui était les réformes économiques que Abe voulait implémenter dans le pays, et donc il n'a pas vraiment fait grand-chose avec ça. Vas-y.
Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas très calé en politique, mais en tout cas, merci de la précision. Mais en tout cas, voilà, elle a pris sa photo d'affiche de campagne. En fait, c'est elle à poil, en gros, juste avec voilà, une belle paire de boobs, avec juste les masques d'abbé en mode soutien-gorge. En fait, elle a noué les masques d'abbé en soutien-gorge. Et elle a fait un soutien-gorge avec les masques d'abbé. Et voilà, c'était ça.
Et elle n'a pas gagné.
Malheureusement, c'est Koike qui a gagné.
Il faudrait qu'on fasse un top des meilleurs candidats pour les élections municipales. Parce qu'ils sont magiques chaque année. Genre le gars en Dracula aussi cette année. Putain,
Mais lui, son programme était vraiment horrible, quoi.
Ouais.
Il était pour le transhumanisme, pour le clonage.
Ah ouais, j'avais vu ça.
Pour tuer tous les bébés handicapés. En fait, c'était une espèce de mini Hitler.
Ouais.
Il était horrible. Il y avait celui qui voulait tout pour les chiens.
Le chien, ouais.
Le fan des chiens.
Mais le mieux, c'était le petit vieux qui avait l'air tout sympa et qui avait un programme, mais top en fait.
Ouais.
Porté vers les jeunes, vers l'avenir et
tout.
Ouais,
malheureusement.
Et c'est toujours.
Eh bien, tu fais une très bonne transition parce que cette personne était un avocat. Oui, il existe toujours. Hein, il a un certain âge.
Il est pas mort.
Hein. Il a fait ses armes. En fait, il a commencé à être connu pendant les procès de la secte Aum, qui est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui.
Parfait. Parlons-en. Allez, let's go.
Et donc, alors pour ceux qui n'étaient pas nés dans les années 90, enfin 95, ou ceux qui sont beaucoup trop vieux, qui ne se souviennent plus, je vais vous raconter un petit peu.
Ou qu'on voulait oublier, parce que c'était pas cool.
Ou qu'on voulait oublier, effectivement. Pas cool, et je crois que... Le secte Aum, c'est pas cool. Tu n'avais pas travaillé dans la pub, toi? Et donc, voilà. Tokyo, donc, hein, le 20 mars 1995, heure de pointe, le matin. Un jour comme les autres, hein, pour des millions de gens, hein, qui soit ils dorment un peu dans le train ou ils se précipitent pour attraper leur correspondance. Mmh. Et donc, tu as plein de salariés partout. Donc on parlait de chauves. Hein. Ils étaient là en présent.
Les codes barres, les modes codes barres.
Les codes barres, les barres chrono.
Ça n'a pas changé.
Mais en plus d'eux, il y a aussi 5 sacs qui sont un peu couverts par des papiers, des journaux, et qui sont remplis d'un agent neurotoxique liquide. Ouais. Et donc les sacs fuient, parce que les mecs les ont.
Percés avec des parapluies.
Exactement. Tu connais bien l'histoire.
J'ai lu un livre dessus.
Et donc, pratiquement immédiatement, hein, les passagers, ils sentent les vapeurs leur piquer les yeux. Mmh. Donc, en quelques secondes, la toxine agit. Hein. T'en as qui étouffent, t'en as qui vomissent, t'en as qui sont aveugles, t'en as qui sont paralysés. Il y a une femme, en fait, elle a eu ses lentilles de contact qui ont fusionné avec ses yeux. Ils ont dû lui enlever les yeux chirurgicalement après, quoi.
Tu as précisé quel gaz c'est.
Quel quoi?
Le gaz en question.
Laisse-moi faire mon sujet.
Okay. Non, savoir si tu allais dire le nom du
fameux gaz. Ça va être assez long aujourd'hui.
Okay.
Donc au total, hein, donc 13 morts, 5800 victimes.
Déclarées.
Grosso modo, voilà, déclarées, effectivement. Tu as raison de préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rien dit. Donc 5 attaques. Hein, sur 3 lignes de train différentes, donc 2 sur une même, quoi, donc Chiyoda, Marunouchi, Shibuya. Et donc les 5 trains, ils convergeaient tous sur Kasumigaseki. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo, Kasumigaseki, c'est un peu le centre du pouvoir administratif au Japon, là où tu as toutes les administrations centrales, les politiques, etc. Donc effectivement, je parlais de la femme, enfin la personne avec ses lentilles de contact, mais t'as des gens qui sont toujours dans le coma depuis, quoi.
Ah ouais, ça se fait, quoi.
Enfin peut-être plus maintenant, peut-être qu'ils nous ont quittés. Mais
ils sont morts.
Ouais. Et donc l'agent neurotoxique en question, Ludo, tu posais la question, hein, c'est le sarin. C'est le plus volatile des neurotoxiques. Ouais. Ça veut dire que ça s'évapore ultra vite. Et ça se répand dans l'environnement. Mais par contre, ça reste pas très très longtemps, quoi. Mais par contre, en 5 minutes, c'est bon, quoi.
Inodore, incolore aussi. Donc, tu peux pas le détecter.
Par contre, ça picote.
Ouais. Bah, tu le sens. Au bout d'un moment, tu commences à être bizarre, mais tu sais pas pourquoi. C'est ça, le problème.
Alors, qui a développé cette saloperie? Surprise, surprise. Les nazis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale.
En même temps que le Zyklon B, tu vois, ils ont réfléchi à d'autres trucs, quoi.
Ouais, après, bon, il y a. Enfin, moi, Zyklon B, je suis pas sûr que c'était.
Zyklon B, c'était le Zyklon A dans la Première Guerre qui a sauvé beaucoup de gens d'ailleurs, parce que c'était un produit agricole et qui a été transformé en Zyklon B. Il y a une très bonne vidéo d'un youtubeur là-dessus, mais bref.
Très bien. Donc, ça a été l'attaque terroriste la plus grave sur le sol japonais. J'avais parlé de l'armée rouge japonaise à l'époque. Hein. C'était beaucoup plus grave que ça, quoi. Mm-hmm. Alors, les coupables, c'est qui? Alors, c'est un groupe qui s'appelle Omu Shinrikyo. Donc, je vous expliquerai ce que ça veut dire. À l'époque, c'était un groupe religieux, obscur. Eux, ils pensaient que la fin du monde était proche et ils se sont décidés de lui donner un petit coup de main, quoi.
C'est sympa.
Donc, après plein d'années dans le couloir de la mort, le leader qui s'appelait Asahara Shoko, Il a finalement été exécuté.
Donc, c'était l'année dernière, non?
Non, c'était il y a 2 ans.
Ah, putain, ça passe vite. Ah, non, je me rappelle encore.
Je crois. Avec un certain nombre des autres membres, les chefs, ouais. Et puis ceux qui ont fait l'attentat, quoi. Alors, comment on est arrivé là? Donc, effectivement, je parlais un peu en intro de la grande liberté religieuse au Japon et donc des dérives possibles. Donc effectivement épisode 11, hein, le temple du soutien-gorge, si vous ne l'avez pas écouté, mais le mieux c'est que vous y alliez vous-même pour voir, enfin si ça existe encore, je ne sais pas, c'est vraiment hyper creepy. Donc en gros c'est une secte, hein, enfin en fait dans le bouddhisme il n'y a pas vraiment d'organisation centrale comme dans le catholicisme par exemple, ouais. Et donc tu as des groupes, quand tu bosses sur les religions au Japon, tu appelles ça des sectes. C'est pas des sectes au sens secte en France. Mmh.
C'est des groupes religieux.
C'est des écoles, voilà, c'est des écoles bouddhistes.
Ouais.
Et donc, tu en as plein. Et donc, la séparation de la religion et de l'État s'est faite après la guerre. Et les Américains, c'est un des trucs qu'ils ont fait, quoi. Et donc la liberté religieuse ici, c'est vraiment un vrai truc, quoi. Mais du coup, voilà, t'as des gens qui font un peu n'importe quoi.
Ultra libéré. Ben, un exemple, c'est à Shinjuku, t'as comment ça s'appelle la Scientologie. C'est la Scientologie,
ouais, c'est Shinjuku, la Scientologie. Ouais, c'est ça. Oui, ah, il y a même pas. Enfin, moi,
dans les chez
moi, il y a la Bachi, donc justement, la Rudiane, là, il y a une putain d'église, je sais pas ce que c'est. Hein.
Ah oui, oui,
ouais, ça grésille.
Ça grésille grave, t'as une croix, en fait, ça fait super.
Ça fait comme dans les films d'horreur.
Exactement.
C'est avec le grésillement.
J'allais venir, en fait, t'as une genre de croix, alors pour les, rouge, pour les écouteurs, ouais, t'as une croix un peu rose, enfin, violette rouge, un peu en néon, comme dans les films un peu de cyberpunk ou des trucs comme ça.
Et avec un grésillement dégueulasse.
Un grésillement dégueulasse, ça fait vraiment justement les films futurs, ouais, un peu post-apocalyptique et tout. Quand tu passes à côté, t'as une grosse croix en néon qui grésille tout le temps et ça fait super glauque en fait, quoi.
Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux églises en Corée, en fait, où ils ont un truc, des méga church. Mais où tu vas avoir des gros trucs de Jésus en néon, tu vois, sur les trucs des immeubles, et c'est bien cyberpunk pour le coup aussi, quoi. Et bref,
bon, liberté de la religion, grave.
On s'égare un petit peu. Donc je vais vous faire tout l'historique, quoi. Voilà. Vous voulez tout savoir sur la secte Aum.
Vas-y vite quand même.
Donc back in time.
Ah, c'est parti.
Moi, je préférais le sujet de Kabukicho avec les meufs à poil tout à l'heure, quand même.
Ah, on va y venir, il y aura du sexe aussi.
Il n'y aura pas du tout de sexe.
Ah, il y aura de la danse. Parce que
il y aura de la danse.
Il y a de la danse. Moi,
il y aura des chansons. D'ailleurs,
j'aurai une anecdote là-dessus par rapport à ma femme.
Je l'ai là, mais bref, bon, il faudra mettre ça dans le montage.
Vas-y, envoie-moi ça. Ouais.
Donc, on va commencer par l'histoire du mec, là, Asahara Shoko. Hein. Donc, le gars, il ressemble un peu... Il ressemble au mari... voilà. Il ressemble un peu au mari d'une pote à nous.
Le même que le mien ?
Non. Un autre.
Un japonais.
Japonais, ouais.
Bon, vous chercherez, hein, si vous voulez voir la tête qu'il avait. Pardon. Et donc, à la base, hein, il s'appelait Matsumoto Chizuo. Et donc, il est né en 55 dans une famille nombreuse, hein, ultra pauvre. Il faisait des tatamis à Kumamoto, hein, dans Kyushu, donc au sud, quoi.
Le pays de One Piece.
Belle ville.
Pays de One Piece et de Kumamon.
Et Kumamon. Oh, pour moi. Et de la pastèque et du shochu.
Moi, Osef. Hein. Pour moi, Kumamoto, c'est Oda-sama, c'est One Piece.
Très bien.
Alors, reste, on s'en fout.
Très bien. Alors, mais je vais quand même continuer, si ça ne te dérange pas.
Vas-y.
Et donc, à la base de naissance, il a un glaucome congénital. Donc en fait, il a perdu son œil gauche pratiquement à sa naissance. Et l'œil droit, il voit vraiment pas grand chose, quoi.
Donc il a un œil de verre, vous voyez.
petit bisou.
Et l'autre œil, il dit merde au premier. Donc.
Petit bisou à l'apéro du capitaine, si vous nous écoutez. Du coup, c'est pareil, il inscrit dans une école pour les aveugles. Et alors, dès cette époque, c'est une petite merde. C'est vraiment une saloperie, quoi. Il martyrise les autres gamins, il leur raquette de l'argent, il leur pique leur sandwich, tu vois.
Le mec, il n'est pas complexé, quoi. Le mec, il est au
royaume,
quoi.
Au royaume des aveugles.
Les bandits rois.
Voilà. Donc, okay. Il finit son école en 77. Il essaie d'aller à Todai, donc la grosse fac ici.
Ouais, quand même.
Bonsoir, excusez-nous.
Non, on n'a pas le temps.
Attends. Vas-y. Mets-tu en pause.
Vas-y. Ouais.
Merde, excusez-moi.
A little longer than a few minutes later.
Donc, je disais, donc, il finit son école en 77. Il tente d'aller à Todai, donc la grosse fac de l'élite japonaise. Il se fait refouler. Mm-hmm. Et donc, il décide d'étudier la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture. Donc, c'était un petit peu avec le massage. Le choix un petit peu par défaut des aveugles, des non-voyants, mais c'est la même chose. Vous avez vu Zatoichi, enfin le remake peut-être, ou les films originaux, hein. Donc un peu le truc, voilà, quand tu étais aveugle au Japon, traditionnellement, tu n'avais pas 1000 options de taf, et donc c'était ce que tu faisais. Donc,
samouraï.
En 78, il se marie, alors il a fait des tripotés de gamins, je ne sais pas combien il y a eu de femmes, mais il a eu... Il a eu une dizaine d'enfants au moins.
Gourou d'une mort, c'est enculé. Gourou d'une secte. Hein.
C'est pas très cool.
Ah, Raël, c'est le champion, quoi. Quand même.
Ah ouais.
Raël, mec, il a des morceaux, je t'en dirais.
Ouais. C'est ce que j'ai dit.
Il vit au Japon, d'ailleurs. Hein. Enfin, dans
Okinawa, je crois.
Dans les îles japonaises, à Okinawa.
Alors, paraît-il qu'à l'époque, il serait parti en Chine, au Tibet, en Inde, pour étudier le bouddhisme.
La légende dit.
Mais on ne peut pas vraiment confirmer, parce qu'il n'y a pas vraiment de traces.
Okay.
Il a un peu bossé comme acupuncteur, il ouvre une pharmacie à la fin des années 70, Et puis en 80-82, il est condamné pour pratiquer la pharmacie sans permis et vendre de médicaments à l'arrache, quoi. Donc il se prend une amende, 200 000 yens, donc c'est quoi, c'est
2 000 euros, mais à l'époque j'imagine que ça devait valoir beaucoup plus que maintenant.
Non, c'est à peu près 2 000 euros avec l'inflation, effectivement. Donc il est pas.
C'est tout ?
Ouais.
En 20 ans, il n'y a pas eu tant d'actions que ça au Japon, du coup.
Bah, ce serait un peu plus, non, mais. Bref. Donc il n'est pas incarcéré, mais par contre il perd son business, quoi. Et donc à l'époque, donc il commence à s'intéresser au yoga, à la religion. Donc pendant son temps libre, il étudie plein de concepts religieux différents, donc l'astrologie chinoise, le taoïsme. Après, il découvre l'ésotérisme occidental.
Ah bah oui.
Je vais expliquer ce que ça veut dire. La méditation, le bouddhisme, tous les trucs ésotériques. Donc qu'est-ce que c'est ésotérique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça se transmet uniquement aux adeptes qualifiés. Ésotérique, ça veut dire quelque chose qui est obscur, quelque chose qui est incompréhensible. Si tu fais pas partie du petit groupe des initiés, donc c'est le côté secret des religions, quoi. Et du coup, ouais, il kiffe de ouf, quoi.
Ouais.
C'est son truc, quoi. Et donc la partie après, j'ai appelé ça le yoga, c'est sympa.
Est-ce que c'est pas sympa le yoga?
Le yoga, en vrai, sympa. Mais le yoga, d'après Asarala, c'est un petit peu plus vénère, quoi. C'est un peu plus Henry Rollins, tu vois, qui fait.
Ah,
des...
ok, d'accord. Ben, montre-nous, enfin, parle-en nous.
Et donc, 84, il crée sa compagnie. Ouais. Donc, c'est une école de yoga et de méditation, mais aussi une boîte d'édition dans son appart. À l'époque, il a une chambre à Shibuya.
Ah, mais à Shibuya déjà.
Ouais.
Le mec se met bien. Mais par contre, 84, une chambre, attends, édition et quoi d'autre déjà?
École de yoga.
École de yoga, et il y avait un troisième truc.
Non, c'est tout.
Ok.
Et puis plein d'enfants, et donc bref, bon. Donc,
ah, il avait déjà des enfants plein les placards.
Et on avait il y avait peut-être un peu moins déjà, mais il avait déjà quelques-uns. Moins 3 ou 4.
Un bon baiser.
Voilà. En tout cas, il a repeuplé le Japon, c'est déjà pas mal, quoi. C'est une bonne action.
Oui, enfin, ça
on peut
peut-être.
Ça comme
c'est sa seule bonne action.
Il l'a dépeuplé un peu aussi, donc bon.
Ouais, enfin, en tout cas, à ce moment-là. Il était dans le mode repeuplage.
Disons qu'il est débiteur, on va dire. Voilà. Donc au début, ça n'a pas le même nom. Hein. Ça s'appelle Omu Shinsen no Kai. Donc ça veut dire, alors le nom, tu traduis ça dans la frette, fais coucou à toutes les meufs qui passent. Ouais. Et donc c'est, je traduis en français, c'est l'association des sorciers de montagne immortels. Et donc tu te dis, mais non, mais Donjons et Dragons, de ouf quoi. Mais en fait, c'est une référence au taoïsme. Hein. Donc le personnage, hein, donc le Shinsen, hein, c'est une espèce de chaman magicien reclus dans la montagne, mm-hmm, qui a des super pouvoirs. Donc il est immortel, il est insensible à la chaleur, au froid, il peut voler. Donc il ne fait pas vraiment partie de ce monde, quoi.
C'est une sorte de Superman, mais
en mode taoïste et chinois. Ouais. Et donc il développe son biz, hein. 86-87, donc il change de nom, maintenant il s'appelle Asara Shoko, et il change de nom son groupe pour Omu Shinrikyo, donc ça veut dire Omu, donc Om c'est le truc indien là, tu sais, Om,
ouais,
et donc la Shinrikyo, la vérité suprême, donc Om hein, du sanskrit.
J'ai juste une question, est-ce que tu sais pourquoi il a changé son nom? Aucune raison, juste si vous voulez changer d'identité, peut-être. J'en sais rien, est-ce que tu as trouvé des traces de ça?
Je
ou quoi
pense que c'est pour marquer le coup, quoi. Que maintenant,
transition.
Genre rebranding, quoi, tu vois.
Ok.
Je dirais ça, maintenant. 89, donc énorme lobby, ultra agressif des politiciens locaux. Il fait le forcing à mort en les harcelant, quoi. Il récupère le statut d'organisation entreprise religieuse. Mmh. Dont on a parlé donc dans l'épisode 11, donc ça veut dire quoi?
C'est un bon statut, hein, mine de rien.
Parce que ça veut dire pas d'impôts à payer, du tout.
Énormément pas d'impôts.
Et puis opacité totale, parce que l'État n'a pas le droit de se mêler du fonctionnement interne des entreprises religieuses.
Et l'État peut te donner de l'argent par exemple, enfin il y a des groupes politiques peuvent te subventionner, ça arrive aussi.
Ouais, mais c'est invisible.
C'est opaque,
voilà.
C'est opaque, donc.
Ils peuvent pas, et parce que c'est liberté religieuse. Ils ne peuvent pas regarder comment, même si tu fais de l'argent, même si tu as un gros chiffre d'affaires, l'État, enfin à l'époque en tout cas, c'est peut-être un petit peu différent maintenant, mais ils n'avaient pas le droit de regarder, de mettre le nez dans tes comptes ou quoi que ce soit.
Je ne crois pas que ça ait changé. Hein.
ça a peut-être un peu changé depuis à cause de ça, quoi. Mais pas tant. Enfin,
ouais. Enfin, même la liberté n'a pas changé tant que ça, donc je pense pas que ça s'est changé trop.
C'était les années 80, il y a eu quand même pas mal de scandales, donc j'ose espérer qu'ils ont, ils ont fait quelques changements. Donc maintenant, c'est une religion reconnue, hein. Et du coup, ils changent complètement leur activité maintenant et leur caractère. Ils passent de 430 millions de yens de revenus en 89 à plus de 100 milliards de yens au moment des attentats à Tokyo, quoi.
Putain. 100 milliards de yens,
c'est ouais.
Mais c'est qui leur donne de l'argent?
Tu vas voir. Alors, ils recrutent, mais en mode ultra agressif, quoi. Donc, ils étaient une dizaine de membres donc à cette époque-là. En 92, ils sont 10 000. Et après, au Japon, et 50 000 dans le monde en 95 avec 30 branches.
Ouais, c'est quand même international, quoi.
Ouais.
Dans 50 000 dans le monde, moi je pensais que c'était vraiment que au Japon. En fait.
Ah non, ils avaient, tu vas voir, mais en Russie, en Australie, en Corée, en Europe aussi.
D'accord, ok. Parce qu'en Europe, c'est pas un truc qu'on a vraiment connu, nous. Moi j'ai entendu les news quand j'étais gamin à la télé. Mais
t'étais pas dans une secte dans les années 80, Ludo.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, j'aurais pu en entendre parler, comme la Scientologie, par exemple, j'y suis pas dedans, mais j'en ai entendu parler.
Tout le monde a entendu parler de 89, la Scientologie, tu sais,
ouais, mais bon, bah non, moi je parle par exemple à un gamin qui est né dans ces années, dans les années maintenant, il sait ce que c'est la Scientologie, forcément, parce que t'en as entendu parler, tu vois ce que je veux dire.
Maintenant, oui, mais c'était avant Internet aussi, tu vois.
C'est vrai.
Donc, ils ont un service de relations publiques, mais ultra vénère, quoi. Ils publient des mangas, des animés. Et avec des thèmes mais ultra nerdy, quoi. Donc, c'est les missions spatiales, les armes genre laser, tu vois, la télékinésie, conspiration mondiale.
Jedi Mind Trick.
ouais, quête de vérité absolue, tu vois. En 87, ils créent Home Press. Et donc, ils ont plein de magazines. Hein. Ils ont un truc qui s'appelle Vajrayana Saka. Et aussi Enjoy Happiness.
plus facile
Enjoy Happiness.
Et donc, ils ont plein de titres. Et donc avec ça, ils font du prosélytisme de ouf, quoi. Donc les membres de la secte, ils mettent des annonces et ils expliquent qu'ils ont gagné des super pouvoirs.
Ouais.
Télépathie, voyage astral,
MCU, mec.
Téléportation, tu vois.
Non, c'est des X-Men, quoi, carrément.
Ah, c'est le MCU, quoi.
Et dans les magazines de SF, quoi. Donc en fait, ils tapent à fond dans les otaks, tu vois. Et donc, c'est le début des otaku, justement, au Japon, en 80, etc.
C'est du terme, peut-être, en lui-même, d'ailleurs. Parce qu'avant, ça n'existait pas, ce terme-là.
Peut-être, je ne sais pas.
Avant les années 80, le terme otaku n'existait pas vraiment, mais c'était différent.
Donc, ah oui, Vajrayana, donc c'est le bouddhisme tantrique.
Vajraya?
Oui, peut-être.
On se parle de vagin, là, c'est bon, ça commence à me parler.
Allez, Fred, sur les mecs. Donc, ils font du biz, mais genre de ouf. Ils vendent des chapeaux à électrodes, des téléporteurs astro, de l'ADN magique. Et alors, tu me demandes, effectivement, comment ils font autant d'argent? Mais, parce qu'ils arrivent à attirer un grand nombre des étudiants des très grandes universités, quoi.
Donc, ils vont faire du
ils vont
du
aux facs,
à Todai,
ils vont voir les facs et ils vont voir les otaks fans de SF. Qui dit otak fan de SF dit des fois scientifique, un peu paumé.
Et du coup, ils sont devant Keo et Todai.
Ils sont dedans. Des physiciens, des chimistes, des ingénieurs, des médecins. À l'époque, hein, son groupe, c'est une région, entre guillemets, hein, pour les élites. Donc, c'est les enfants high-tech du Japon post-industriel, hein, qui cherchent un peu de spiritualité dans un monde un peu...
Donc, c'est pas des gens idiots.
Ah non.
Des gens qui sont ultra... enfin, pas ultra intelligents, mais ultra, ou en tout cas, cultivés.
Non, très intelligents, très charmants, mais très paumés.
Très cultivés, je pense aussi.
Cultivés, ouais. Je sais pas, mais...
Bah, si t'as fait des grandes écoles, forcément, t'as un minimum de culture.
Pas
nécessairement. Pas forcément. Je suis pas d'accord, mais bon, enfin bref, on va pas parler là-dessus, mais c'est un autre sujet, mais je suis pas d'accord avec ça.
Bon, je vous donne des petits exemples. Endo Seichi, donc 28 ans, ingénierie génétique à l'université de Kyoto. Kyodai, deuxième meilleure fac du Japon. Tsuchiyama Sami, université de Tsukuba, donc super université d'ingénieurs aussi, chimie organique. Joyu Fumihiro, Waseda, télécom.
Il a, bossé, pas un teubé quand même,
il a bossé 15 jours à l'agence spatiale japonaise. Il a dit... ouais, il a dit, niquez vos mères, votre boulot n'est pas compatible avec ma passion pour le yoga.
Putain, il est con, putain, pour envoyer des mecs sur Mars, quoi, le yoga, il n'y a pas mieux, quoi.
Grâce au téléporteur astral. Et Mula Hideo, alors lui ça va devenir un des patrons, c'était un astrophysicien, donc il faisait du R&D, de recherche et développement à Kobe Steel, donc c'est le gros truc d'acier, tu vois, au Japon, où il apprend la fission, des trucs comme ça, et ça deviendra le chef de la recherche de Aum. On va en reparler de lui, tu
imagine
vois.
Imagine Neil deGrasse Tyson.
Donc ils ont aussi des hauts fonctionnaires, des gens du ministère de l'éducation, télécom, de la justice, de la construction, de transport, des percepteurs, des juges. Il y aurait un juge qui aurait donné 1 million d'yens au culte, comme ça, tu vois, par gentillesse. Il y avait aussi des reporters, des éditeurs, un chef des programmes de la NHK, donc c'est la télévision, c'est comme
France Télévision nationale. Les gens doivent payer, enfin c'est différent le système d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle un jour de la façon dont ils essayent de racketter les gens pour la télé, mais bref. C'est un autre sujet.
Moi, c'est la France Télévision. Enfin,
c'est l'équivalent de la France. Voilà. Mais pas que. Ils ont aussi des gens dans l'armée. Donc, à l'époque, ils avaient 40 membres actifs des forces d'autodéfense.
National.
Une soixantaine de vétérans, mais aussi dans la police. Alors, ils sont à fond. Au début, ils essaient de faire un peu de la recherche chez eux, mais ils se disent, ouais, un peu comme les Russes à l'époque. Ça ne sert à rien de faire de la recherche si on n'est pas sûr du résultat. Autant aller espionner directement. Donc, ils espionnent de ouf, quoi. En 91, ils se font griller par NTT. Mais bon, c'est pas grave, ils continuent.
Par NTT ?
Ouais, bah, télécommunications. Ouais, ils ont des gens, bien. Ils ont des entrées, tout va bien. Mais déjà, à l'époque, hein, ils sont perçus comme polémiques. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de plaintes des parents, des histoires de kidnapping, des agressions physiques...
Là, t'es dans quelle année à peu près ?
90 par là, 91, 89, 90 par là. Okay. Donc, t'as des rumeurs d'extorsion. Hein. Alors, ils ont un bon business. Tiens, Fred, toi qui cherchais un business,
vas-y.
Mais il faut un petit peu d'infrastructure. Il faut avoir un hôpital.
C'est con, hein, mais.
Tu transfères.
Ça sous le coude.
Je vais essayer. Quand
tu
même.
Transfères des malades dans ton hôpital. Ouais. Et tu leur fais payer des frais, mais de malade mental, en leur disant que sinon, ils seront pas sauvés, quoi. Donc, gros racket,
ça,
tu vois.
Ça, ça marcherait pas en France. Mais non. Au Japon, ouais. C'est aux États-Unis.
Alors, j'ai une photo du gourou en train de léviter. Et vous voyez.
C'est pas très radiophonique non plus, mais bon.
Et alors, on dirait pas du tout qu'il est sur un petit trampoline.
Non, mais bon. Surtout, tu sens qu'il force pour pouvoir léviter. Non,
je pense qu'il force pour rentrer son bide, surtout.
On dirait qu'il fait caca, en fait. Oui, si tu regardes son expression faciale, c'est vraiment quand je fais caca et que c'est très dur.
Probablement pas manger mexicain.
Il évite pas du tout, mais enfin, bref.
Alors, manger beaucoup trop de riz.
Ok.
Alors donc, à peu près à cette époque-là, un mec qui s'appelle Sakamoto Tsutsumi, donc c'est un avocat.
Sakamoto Tsutsumi ?
Oui. Donc c'est, qui représente les groupes des victimes, enfin les familles des gens qui ont disparu. Il disparaît avec sa femme, son fils de 1 an. À l'époque, on se dit, bon, il a disparu, c'est pas grave.
Puis au Japon, les gens ont tendance à disparaître et sans vraiment laisser de traces, ça arrive assez régulièrement. Donc...
Avec son fils de 1 an et sa femme bon.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des trucs comme ça où c'est les vrai, gens ne veulent pas payer leurs impôts.
Il y a
un mot d'ailleurs pour ça. D'ailleurs.
Joratsu.
Voilà, exactement.
C'est l'évaporation.
C'est l'évaporation, c'est même pas la disparition, c'est l'évaporation. Ouais.
Donc un mois avant, il avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat. Bah de Aum, mais tout le monde s'en fout. En fait, c'est des années après les attentats, qu'ils ont compris que. Attends, il est toujours là, le nudiste.
Mais mec, franchement, il est dingue.
Par contre, il a attrapé une meuf qui est pas japonaise.
Ouais, mais elle est bonne quand même.
Ah, elle est pas mal. Hein.
Elle est bonne.
Bon, ça suffit là, les dragueurs de rue. Donc, après.
Donc... T'es un beau cul.
Putain. Quel racaille celui-là. Et alors le truc qui est rigolo, donc j'ai regardé les dates, enfin rigolo non, c'est pas rigolo, mais ouais. Après, à peine 3 mois après avoir été reconnu comme religion officielle, il massacre une famille quoi.
Ouais, c'est sympa.
Mais bon, comme je disais avant, l'État n'a pas le droit de se mêler du fonctionnement interne des entreprises religieuses.
Là, ça y est, on est une religion, faut qu'on fasse les choses bien, donc faisons des sacrifices.
Ouais, c'est stratégique. Hein. C'est un avocat qui les faisait chier. Tu vas voir, ils en ont tué plein d'autres.
Ah, c'était vraiment genre, vous êtes en train de regarder dans vos affaires, on va vous éliminer.
Ouais. Oui. Okay. Ou pour des histoires d'immobilier, ou pour plein de trucs. Tous les gens qui le dérangeaient, hop, il les tuait. Donc, c'est aussi à cette période que Asahara, il commence à être obsédé par les prophéties de la Bible. Donc, en gros, hein, qu'est-ce qu'il pense que dans la. Voilà. Je pense que dans la Bible, tu as des descriptions de la politique globale actuelle, les désastres naturels, le retour de Jésus, la destinée de l'humanité, des trucs comme ça, tu vois. Donc l'Apocalypse, par exemple.
Ouais, l'Apocalypse.
Mais ouais. Alors, en fait, il mélange mais des trucs mais incroyables, quoi. Donc le bouddhisme tibétain, ok. L'hindouisme, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, Nouveau Testament, donc Apocalypse, hein, Saint Jean, tout ça, vous connaissez pas.
Ancien Testament qui est limite païen, en fait.
Hein. Ouais, c'est non. Ça, un peu, ouais, je pense.
Ouais, ouais. Qui est un peu plus vénère que le Nouveau, on va dire. Mais bon, dans le Nouveau, t'as quand même l'Apocalypse, mec. Hein. Genre, Mono ouais, Légion, tout ça.
L'Ancien, c'est pas...
Métal, Fred, voilà.
Me force pas à pousser ma voix.
mais aussi Nostradamus. Gros fan de Nostradamus. Et alors, un peu plus surprenant, si vous avez lu, si vous connaissez un peu la SF, Asimov, la Asimov, Fondation.
Asimov, Fondation.
Ah, énorme ouais. Fan. Mais alors, c'est ultra inspiré par Fondation d'Asimov. Parce que dans Fondation d'Asimov, en gros, tu as un mec, donc je me souviens plus le nom, qui est un scientifique et qui se dit, ouais, le système planétaire, enfin c'est plus juste la planète Terre, c'est
ouais, c'est un système,
c'est enfin, un système, c'est, ouais. Qui, il est foutu. Et donc lui, en tant que scientifique, il faut qu'il forme une classe de scientifiques d'élite qui va pouvoir régénérer la civilisation après la chute de la civilisation. Et leur truc est calqué, mais genre mais vraiment là-dessus quoi. Et c'est un truc de ouf quoi.
Asimov, pensais... la Bible.
Non, non, mais Asimov, je pensais qu'il avait fait que des trucs sur la robotique et la loi de la robotique, justement, la loi du robot, etc.
C'est la fondation, ouais, non, c'est connu, plus, la fondation, c'est plus sur l'expansion de l'humanité dans l'univers, mais
et
la chute, oui. Enfin, bon,
et
on va
gros...
pas spoiler pour les écouteurs, mais en tout cas, c'est l'expansion.
Ça donne envie de lire.
Les années 60.
Ouais,
ça donne envie de lire.
Mais en gros, dans Fondation, donc le mec crée son groupe de scientifiques ultra ready. Il meurt et des années après chute de la civilisation et ces gens-là qui ont été très entraînés tu vois de génération en génération ça devient un petit peu les nouveaux mystiques parce que personne comprend la science et pour eux c'est comme de la magie tu vois. Donc, mais c'est vraiment mais enfin
c'est la base quoi,
le truc est incroyable. Il aussi les super pouvoirs hein, normal quoi, voilà,
la télékinésie,
les boules de feu, tout ce que tu veux. Donc côté SF, hein, alors on parlait un peu de la Scianto tout à l'heure, je me demande si Asahara, il connaissait l'histoire de la Scianto parce que c'est les sectes du 20e siècle qui sont inspirées par la SF, la Scianto, ils sont assez...
Ça a commencé dans les années 80 aussi.
Ah non, bien avant, dans les années 60.
C'est vrai que ça a commencé à vraiment se démocratiser avec Hollywood et les années 80 avec Tom Cruise.
Mais le mec, avant de créer une secte, et ben c'est un écrivain de SF un peu pourri. Quoi.
Ouais, de très pourri d'ailleurs. South Park est un très bon épisode là-dessus d'ailleurs.
Alors, un autre
truc. Merde, je rentre à maison.
Un autre truc qui les intéresse, hein, comme nous tous, les expériences sur le cerveau. Hein. Donc, ils bricolent les cerveaux.
Un peu comme Elon récemment
Ouais, c'est un petit peu plus vénère. Plus un peu comme les nazis. Donc en mode je t'implante des électrodes dans le crâne pour étudier tes ondes cérébrales, je te balance des chocs électriques pour effacer la mémoire. Donc
plus en Men in Black en fait.
clairement. Ouais.
Donc il y a des enregistrements qu'ils ont retrouvés. Hein. Donc à partir de 7 chocs de 100 volts sur le crâne, ça t'efface la mémoire à long terme, pas de problème. Donc ils testent ça sur le chauffeur du gourou qui était. Il pensait que c'était un traître. Hein. Et l'homme se souvient même pas d'avoir conduit la voiture une seule fois. Quoi. Donc, mais ça
marche en tout cas.
Ouais, c'est, franchement, efficacité est présente.
On en parlait. Ça sert à quoi de faire les expériences si t'as pas des résultats?
Ah, c'est sûr.
Mais ça sert aussi de punition.
Ah.
Alors, t'essayes de fuir, on se choque.
Tu te rappelles pas
pourquoi tu te rappelles pas pourquoi tu ne barres pas.
T'as eu des relations sexuelles? 19 chocs.
Ah donc ça pue par contre. Sexuel pas du tout.
Non, ils sont pas cuits du tout.
Ah ça pue par contre.
Attends, faut faire abstinence en fait quand t'es.
Faut être vénère. C'est la secte hardcore apocalyptique.
C'est vraiment que le cerveau, pas le cul. Hein.
Non, l'esprit, mon pote, l'esprit, tu vois.
L'esprit est dans la queue pour les hommes.
Pour certains hommes.
Ah, je suis féministe, moi, 2.0.
Bon, pendant une période de 3 mois, donc le docteur Hayashi, hein, le docteur Mengele de la secte Aum,
bien Hayashi d'ailleurs,
il a balancé plus de 600 chocs électriques sur 130 adeptes. Donc il y en a, ils ont même oublié le culte dans lequel ils étaient, le nom du gourou ou même leur propre nom.
Ça c'est un peu débile par contre. Genre t'es Qu'est-ce que je fous là, quoi?
Attends, pourquoi je suis là? Bon, je me casse.
Ah non,
il se casse, il se retrouve le choc.
Contre-choc. Et les gars, on les choque, et du coup, ils ne savent même plus. Non, mais, l'horreur.
Non, mais si le mec a vu des trucs, tu vois, tu veux le faire oublier. Ah, choc.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon. Attends, il y a toujours le nudiste qui est là.
Ouais, mais il a la
attendez, attendez, j'ai, et mon dossier est pas fini, donc...
Ok, vas-y, on y va.
Le nudiste, ce sera après.
Parlons du nudiste après.
Je parle surtout de sa meuf, moi, perso.
Bon, alors évidemment, à ça, là, c'est le boss. Hein. Ouais. C'est sa sainteté, l'esprit de la vérité.
Il a comme... des capots.
Ouais. Il a, en fait, il a un ministère, enfin, il a monté une organisation parallèle avec le ministère de l'Environnement, de la police, de, enfin de l'Intérieur. Enfin, c'est
donc, il a vraiment fait un gouvernement, en gros.
Il a un shadow government, parce qu'il pense qu'il va renverser l'État, quoi. Tu vas voir. J'ai pas fini.
Le mec, il a folie des grandeurs, quand
même. Il a
pas tant que ça, je pense.
Toutes ses stats, il est au-delà de 9000 pour tout. Il est dans le nirvana tout le temps. Il a des super pouvoirs de ouf, quoi. Donc, clairvoyance, téléportation, on a déjà dit. Il voit à travers les murs. Lévitation. Donc, je vous ai montré la photo, tu le vois léviter.
Ouais.
Tu
ah
vois
bah, pas c'est le mec, du tout. En fait. Ouais. Ah ouais.
Tu okay. Le vois pas du tout qu'il est sur un trampoline et que la photo est prise comme ça, mais bon, bref, whatever.
Photoshop n'existait pas encore.
Trampoline, frère.
On fait comme on peut.
Donc, 89, ils sont entreprises religieuses. 90, il se dit, allez, c'est parti, là, I'm on the roll. Genre, il a tellement la confiance. il se dit, allez, on se lance dans la politique, quoi. Donc en fait au Japon, hein, c'est en France il y a vraiment la séparation religion-État, au Japon aussi, mais c'est plus flou.
Bah, on a bien vu tout à l'heure ce qu'on parlait tout à l'heure avec la Shindo Kana, avec.
Ouais.
Enfin je veux dire, la meuf elle est youtubeuse à la base et.
Oui mais je parle de religion là, je parle pas de,
ouais,
de clown.
Enfin c'est un peu navrant.
Enfin, clown aussi mais clown.
Ouais, non, peu dangereux. Clown et religion c'est un
même
peu.
Au-delà de ça c'est que nous on a une loi qui a été faite en quoi 1907 c'est ça un
truc comme 105 ça. Je crois.
1905 ou 7 à chaque fois j'oublie. Bref. Mais au Japon, c'est les États-Unis qui ont plus ou moins c'est un peu différent en fait.
Donc, en fait, au Japon, hein, c'est assez courant. Hein. Par exemple, dans la majorité du gouvernement actuel, tu as un parti politique qui s'appelle le Kometo. En fait, c'est le bras politique de la Soka Gakkai, qui est considéré en France comme une secte. Hein. C'est un petit peu comme la Scianto, quoi. C'est un petit peu comme si la Scianto était dans le gouvernement de Macron, tu vois. Ils avaient leur petit parti.
Ouais, ils avaient leur voix un peu.
En France, c'est juste interdit en fait.
Ouais, carrément.
Au Japon, ça va.
Mais t'as aussi des sectes plus funky hein, au Japon, quoi. T'as par exemple Happy Science. Donc eux, ils ont des candidats aux élections aussi. Hein.
Ouais, ils sont pas si Happy Science que ça en fait.
Alors ils ont des temples incroyables, des colonnes ouais, et tout.
Non, c'est pignon sur rue.
Il y en a un côté Chewa, c'est assez funky, quoi. Ouais. On dirait un mini temple grec.
Ouais, c'est ça. Sympa. C'est tout en blanc, en grand, mais.
Avec des.
Tu regardes
des
leur. Pieds,
comment on appelle ça les.
Des
colonnes. Des colonnes grecques et tout ça machin.
Plutôt romain d'ailleurs.
Grec. Mais les Grecs ont copié aux Romains, si vous avez maquillé Kaamelott, vous comprenez la référence.
Mais... Non mais par contre, si tu regardes derrière la Happy Science, ça fait flipper. Hein. On en avait parlé je crois d'ailleurs, mais c'est pas.
Moi ouais, j'avais croisé un mec tout en blanc à Shibuya qui est monté dans une Rolls Royce blanche. Et effectivement, il y avait marqué Happy Science sur la Rolls Royce. Bon, bref. Et alors, le truc qui est rigolo, c'est que. Enfin, rigolo, non. Enfin, si. Enfin, un peu. C'est que, à l'époque, la secte Aum, eux, ils veulent pas de rivaux, quoi. Donc, le leader de la Soka Gakkai, le leader de Happy Science, les deux, ils étaient sur leur hit list, quoi. Les deux, ils étaient censés être assassinés, quoi. Ils les ont pas assassinés, mais c'était prévu, quoi.
C'était dans les cartons.
Du coup, pourquoi pas Aum, hein. Février 90, à Sarala, donc, et 24 de ses fidèles, ils se présentent comme candidats, mais alors pas au local, hein, au Parlement, quoi, carrément, sur leur propre étiquette, le Shinrito, le parti de la vérité suprême. Il a la grosse confiance, il est sûr qu'il va gagner, des sièges de malades et ça.
T'as dit que c'était en quelle année, 90 ?
90, ouais. Et donc, il faut une campagne, mais extrêmement flippante. Je t'enverrai la vidéo et je voudrais que tu mettes les bouts de chansons.
Ma femme m'en a parlé de cette partie-là parce que Akichi Joji, elle se rappelle, c'est un de ses tout premiers souvenirs quand elle est gamine. C'est les gens qui font les danses dans les rues et qui font les trucs comme ça par rapport à cette campagne-là.
Alors, ils chantent, et en mode un petit peu Hare Krishna, tu vois.
Matsuri, truc comme ça.
Ils dansent, Mais aussi, ils ont des masques du gourou,
voilà,
en papier mâché qui font full face, tu vois. Et les meufs.
Bon, on parlait tout à l'heure de Massacre à la contre-sonneuse.
Non, mais non, est-ce que t'as maté 20 Century Boys?
Ouais, carrément,
le manga.
Tomodachi, ouais.
Voilà,
ouais, bah, c'est inspiré de ça.
C'est inspiré de ça. Okay, c'est exactement ça, en fait, avec le masque et tout, c'est ça.
Mais aussi des petites meufs en mini-jupe, ça t'aurait plu.
Ah, ça, ouais.
Avec des petits chapeaux en forme de canard, je n'ai jamais compris pourquoi. On est en 90.
Bah, c'est plus de la mini-jupe qui me botte que le canard, hein, qu'on soit d'accord.
Ouais, tu prends, c'est un package, quoi.
Voilà. Mais dis-toi que ouais, ma femme, c'est un de ses premiers souvenirs quand elle était gamine, parce qu'en fait, apparemment, à Kitschologie, ils passaient régulièrement faire des sortes de défilés comme ça.
Alors bon, les élections au Japon, hein, c'est toujours un peu le cirque.
Ouais. Ah, pour le coup, ouais. Non, mais vraiment, faut vivre ici pour comprendre.
Mais en même temps, je veux dire, bon, vous avez écouté les 10 de Raël. C'est quoi le truc des sectes avec les performances musicales? Enfin, je sais pas, j'ai mal compris.
Non, et pourri aussi, hein, parce qu'elles sont pas non plus extraordinaires, moi, cette time.
Bon, en fait, ça passe pas du tout. Hein. Sur 500 000 votes, il en a à peu près 1700. C'est moins que le nombre des adeptes. Donc ça veut dire que même dans sa secte, tout le monde n'a pas voté pour lui. Il est dégoûté. Là, c'est l'humiliation, quoi. Bon, avant, ils avaient déjà commis des petits crimes, enfin non, des vrais crimes, quoi. Ils avaient tué des gens avant, quoi.
C'est pas
mais non, c'était un peu discret. Après la défaite aux élections, ils deviennent complètement, vraiment antisociaux, en mode vénère, quoi. Tu perds ton sang-froid, repense à tous ces services, etc. C'est un... Bref. Allez.
Bon, on en parlera après.
Check. Tu vois donc ils se referment, ils se replient de plus en plus sur eux-mêmes comme une huître, hein, comme une huître toxique.
T'as les huîtres.
C'est le début de la paranoïa et la prochaine partie de mon dossier que j'ai appelé Armageddon. Oh. Alors, je parle pas du film avec Bruce Willis. Je parle de la fascination de Asahala pour la déesse hindoue Shiva, qui est le dieu de la destruction.
Et qui est d'autres cultures qui ont pas trop fini comme il faut.
Bah, c'est dans l'hindouisme, quoi. Et donc Armageddon, hein, donc la fin du monde. Oh, il y a des jeunes là qui passent.
Ouais, ça. Avec une petite bonasse et tout.
Donc okay, Armageddon, hein, donc la fin du monde, l'apocalypse, tout ça, c'est un concept familier en Occident, notamment grâce à Bruce Willis. Mais pas dans le bouddhisme ou les religions nazies, il n'y a pas ça.
Non, absolument donc, pas.
Il a importé, Ludo qui est un grand spécialiste des religions d'Asie, confirme.
Oui. Non, et surtout dans le bouddhisme, en fait, c'est que c'est pas, tu peux pas le considérer comme une religion comme nous on a en
Occident. Ouais, c'est plus de la spiritualité. Quoi.
Exactement, c'est vraiment différent, en fait. C'est pas le même bail. Donc, c'est sûr que l'Armageddon et trucs comme ça, ça en passe complètement au-dessus. Quoi.
Ouais. J'ai un petit insecte.
Enfin, j'ai vu, et tu me l'as
envoyé direct sur mon t-shirt. Quoi.
C'est la gentillesse. Ouais. Sharing is caring, tu vois.
Ouais, je vois ça. Hein.
Alors, dans son truc, évidemment, hein, comme beaucoup de sectes, fin du monde, oui, mais si t'es un fidèle de la religion, tu seras sauvé. Alors, eux, leur délire, c'est guerre atomique, mais si t'es dans leur secte, les radiations, ça te fait rien. Les bombes, ça te fait rien.
Godzilla, ça
la chaleur, ça te fait rien. Et ils font des trainings de ouf, tu vois. Ils te mettent dans l'eau pendant 5 minutes, tu vois. Si tu te noies, tant pis. Si tu surgis de l'eau, comme ça, ça te fait rien. C'est bon, tu vas survivre. Donc, ils font des trainings comme ça.
Ah, t'es un bonhomme.
Même si tu meurs, tu seras sauvé quand même, pareil. Pas grave.
Et donc, c'est pas une bonne technique en termes de religion. Tuer tes adeptes, bon, ça en fait moins.
Ah non, c'est du training, mec. C'est du yoga. Pardon, c'est du yoga.
C'est du yoga ou c'est du yoga vénère, quoi.
Je te dis, c'est du yoga Henri Rollins.
5 minutes sous la flotte, mec.
Donc, ouais, en fait, déjà, 89, hein, il a déjà publié un bouquin qui s'appelait Armageddon ou la destruction du monde. Alors, je l'ai pas lu. Mais en gros, il semblerait que c'est assez fidèle au titre. Hein. Donc en gros, t'as la fin du monde, c'est une guerre entre le Japon et les États-Unis qui commencerait à peu près en 97. Donc voilà, Nostradamus, l'apocalypse, il est vraiment métal, hein, on est d'accord. Ouais. Quoi.
Nostradamus, 97, c'était censé être la fin du monde d'ailleurs.
Tu vois ? 93, nouvel épisode. À partir maintenant jusqu'en 2000, une série de phénomènes violents et effrayants, entre parenthèses, qui sont impossibles à décrire. Là, t'es mort de rire parce que...
Ouais.
Bah attends, il va pas se griller tout seul non plus, quoi. Il va ravager le Japon, ça deviendra un désert radioactif. Les grandes villes, 90% de la population va mourir. Ça sera Mad Max, tu vois. Mais sauf nous ça va.
Nous, ça va, tranquille. Donc, on est sur une île, on est bien.
Ah non, au Japon.
Ah merde.
La réponse, c'est les gadgets.
Mais nous, on est dans un bunker, on est bien. Enfin,
bon. Non, nous, on a des super pouvoirs, donc hop.
Ah ouais, tu parles de la religion.
Ah, encore mieux.
Téléportation, tac tac, on vole au-dessus des gens, que ça.
Genre Mad Max, justement, après, on devient des dieux pour eux.
Mad Max avec Super Saiyan et puis des mélanges, tu vois.
Ah, il y a Dragon Ball qui commence à percer à ce moment-là.
Ouais, troisième guerre mondiale, pour lui, c'est sûr, c'est en 97. Donc, tu vois, encore une fois, il aime bien Nostradamus. Et alors, ça va durer des années, ça va réduire la population mondiale, mais encore une fois, les gens de Haoum. Alors, je suis allé regarder en 97, qu'est-ce qui s'est passé?
Libération de Hong Kong, pas libération de Hong Kong, mais Hong Kong.
99, non, plutôt.
97. 97, Hong Kong qui devient.
Oui, mais en termes de vraie tragédie.
97.
La sortie de Titanic, déjà.
Ouais, voilà. Ça, c'est une tragédie.
C'est une tragédie.
Le premier livre de Harry Potter.
Okay. Aussi, ouais.
La mort de Lady Di.
Ah, c'était en 97, le 31 août.
C'est vrai qu'il est un fan.
Mais c'était 97, t'es sûr? C'est pas 99?
97, mec.
Il semblait que c'était 99, mais bon. Okay. Non,
en tout cas, d'après Wikipédia. Alors,
mais c'était un 31 août, ça, c'est sûr.
Très bien, Ludo. Le retour de Steve Jobs chez Apple, effectivement, Number of the Beast, c'était un petit peu l'antéchrist, finalement, Steve Jobs.
Ouais, c'est juste avant qu'ils sortent les beaux iMac.
Le divorce devient légal en Irlande. Pour les traditionnalistes, début de l'apocalypse aussi. Comme je les encule, ça. Alors, ouais, par contre, effectivement, à l'époque, le truc qui se rapproche le plus de la fin du monde, c'est la situation en Algérie, où t'as, genre, toutes les semaines, pratiquement tous les 2-3 jours, t'as des centaines de personnes qui sont massacrées.
Guerre en Irak, c'était trop tôt. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses guerres à ce moment-là, en fait.
Au Japon, qu'est-ce qui se passe? Les Pokémon spécial épilepsie. L'épisode des Pokémon qui envoie des centaines de gamins à l'hôpital parce qu'à cause des images stroboscopiques qui flashent.
Sérieux?
Ouais. Quoi, sur Game Boy?
Non, la télé. Épisode de télé, quoi. Parce que, ils ont fait une
vous n'avez pas entendu parler de ça?
Ouais, non, j'ai jamais entendu parler de ça.
Et ben maintenant, tu es obligé d'avoir une certaine fréquence d'images sur la télé au Japon, etc. à cause de ça. Et Juzo Itami, donc, qui est un réalisateur que moi j'aime beaucoup, qui est entre guillemets suicidé. Si vous avez vu Tampopo, c'est le mec qui a réalisé ça, il joue dedans aussi. D'accord. Et en fait, il est tombé, entre guillemets, d'un toit. Alors que, ouais, il a fait un truc vraiment anti-mafia avant, et ouais, il y a des gros soupçons que c'est. Il a été suicidé, quoi, à la Marseillaise, on va dire.
Ouais, ça fait penser à Daniel Lavoine ou à Coluche, quoi.
Il s'est suicidé avec un bloc de béton sur les pieds et retrouvé dans
il
la
est tombé
marina.
D'un toit, bon, il a.
Il a glissé sa moto sur un camion.
Du coup, Haoum, là, il se décide, il se prépare vraiment sérieusement pour la fin du monde. Et là, ils se disent, ouais, on a même anticipé un petit peu. Donc, 93, en juillet, ils se disent, allez, un premier test, on va répondre à l'anthrax. Donc, en français, anthrax, c'est bacille du charbon.
Et ben, on revient sur ce sujet de tout à l'heure. Anthrax, ils ont repris antisocial.
Ah ouais,
ils ont fait une reprise.
Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. Ouais. Pour le coup. Mais donc, du coup, ouais, ils vont sur le toit de leur QG et il y a une tour de refroidissement. Et là, ils vaporisent de l'eau mélangée à de l'anthrax, quoi. Et ils se chient dessus complètement, quoi. La seule conséquence, c'est qu'il y a eu plein de plaintes de gens qui pensaient qu'il y avait des mauvaises odeurs dans le quartier. Voilà, donc pour le coup, c'est un échec. Fin 93, fabrication du sarin.
Mais ils l'ont fabriqué eux-mêmes parce qu'ils ont quand même beaucoup d'ingénieurs. Hein.
Tu vas voir.
Ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Enfin, ce qu'ils disaient tout à l'heure.
Loin d'être des idiots.
Et un peu plus tard, le gaz, alors je sais pas comment on prononce, moi je lis XV, donc c'est une version 10 fois plus mortelle du sarin, mais qui est aussi soluble dans l'eau. Pareil, un truc de nazi. Hein. Ils sont un petit challenge, fabriquer 1000 fusils d'assaut automatiques. Alors ils galèrent un petit peu, hein. Ils arrivent à en fabriquer qu'un seul. Alors en fait, après le procès, je lisais ça. Enfin,
la RND quoi.
Non, il voulait être autonome en AK-74. Donc AK-74, c'est comme l'AK-47, hein, c'est une version un peu plus moderne. Et donc ils en ont ramené une de Russie pour l'étudier, parce qu'ils avaient déjà des petits bureaux en Russie.
C'est les Russes qui produisent ça à la base quoi.
C'est le fusil d'assaut de l'armée russe, peut-être encore maintenant.
Et puis c'était pas cher à l'époque. Les
copies chinoises valaient pas grand-chose. Ouais.
Non, et puis les trucs russes même.
Un petit peu plus,
cher.
Mais. Et donc, Moulay, donc le mec dont je vous parlais au début, il explique que le canon à plasma, c'est un vrai truc. Et ça a déjà été utilisé pour, par les États-Unis pendant la guerre du Golfe.
Attends, juste une seconde. Localement, canon à plasma comme dans Doom.
Ouais.
Mais oui. Mais oui.
Au Japon, ils avaient déjà les rayons de l'État avec Cobra.
Pour lui, il dit, en gros, les Irakiens disent il y a eu 100 000 morts. On a retrouvé que 8 000 corps. Canon à plasma, ça fait fondre les corps.
Forcément.
C'est sûr, c'est ça.
Il nous faut un fusil à plasma.
Mais il nous faut un fusil à plasma, de ouf. Clairement. Et donc, ils font de la recherche là-dessus.
Le gars a regardé Doom, il s'est dit, mais oui. Doom était sorti clairement, quoi, à ce moment-là.
Ah, c'est 92, je suis pas sûr. Hein.
C'est peut-être l'année d'après, Doom. Hein. C'est Doom, peut-être 94.
C'est pas 92, quoi, sur PC.
Sur PC, moi, je me rappelle, c'était en 6e.
Vas-y, donc, continue ton truc, là, je check Doom.
Bon, donc, à l'époque, ils sont déjà bien implantés à l'international. Ils ont des terrains un peu partout, en dehors du Japon. Notamment dans l'ouest de l'Australie.
93, Doom.
Ah donc, ouais, peut-être. Alors, c'est possible.
Il a vu Doom, mec. Il a regardé Doom, il a fait, mais oui.
Ouais, mais il était branché dans d'autres trucs, tu vois, Tesla, etc. Tu vois, attends. Tesla, donc, putain. Ouest de l'Australie, donc ils ont un grand ranch. Station, comme ils appellent ça en Australie. Donc, c'est un énorme ranch, quoi. Et là-bas, ils font des tests sur le sarin et le gaz avec les moutons. Ils ont tué une petite trentaine. Mm-hmm. 94. Donc là, à ce moment-là, ils sont un peu en stress. Il y a des juges du département de Nagano qui les font chier. Il y a une dispute qui concerne les propriétés des terrains dans la ville de Matsumoto. La nuit du 27 juin 1994, ils remplissent un camion réfrigéré de sarin et ils le laissent se vider à côté de la maison des juges. Alors, je ne sais pas si les juges habitaient ensemble, ça me semble un peu bizarre. Mais peut-être qu'ils avaient comment dire, on un foyer jamais. De juges ou un truc, un nid de juges.
Un nid de juges. Le nid de juges, j'aime bien, moi. J'aime bien le nid de juges.
Un couple de juges, c'était genre un couple de juges.
Peut-être qu'ils étaient, hébergés par l'administration, tu vois. Ils avaient un logement de fonction, voilà.
Ouais, logement de fonction, donc dans le même appart ou dans le même immeuble.
Dans le même bâtiment.
Ouais, voilà, je pense, j'imagine un truc comme ça.
Ok.
Il y a quand même 8 morts et 500 blessés. Alors, à l'époque, les flics, ils se doutent de rien. Et comme les flics, ils sont toujours les plus malins. Et évidemment, ils vont accuser un des survivants parce que le sarin venait de sa propriété. Alors évidemment, le mec, sa femme était dans le coma, elle n'est jamais sortie du coma. Lui, c'était une victime aussi. Donc là, il y a une fuite, entre guillemets, dans les médias. Donc les flics ont ouvert leur gueule, comme d'habitude. Un article débile dans la Sei Shimbun, pour le coup. Le mec reçoit des menaces de mort. Enfin voilà. Il est innocenté qu'en 95. Mais la police s'excuse juste en 2002, tu vois, après que sa femme est restée en coma toujours. Les flics ici. 94. Alors, qu'est-ce qu'il faut en 94? Ils réussissent à rentrer dans les bureaux de Mitsubishi Heavy Industries à Hiroshima. Alors, pour vous expliquer, Mitsubishi, il y a des gens qui pensent que c'est juste des acides, ou du MD, c'est vrai. Mais aussi, c'est une énorme boîte au Japon, c'est des banques. C'est
mon beau-frère bosse pour Mitsubishi, mais pour les clims,
c'est des banques, c'est des clims, c'est des voitures, c'est des papiers films aussi.
Pour vous donner un peu plus de contexte, en fait, Mitsubishi c'était un énorme, c'est un conglomérat, donc c'était un Zaibatsu. Donc avant la guerre, ils faisaient les avions, les chasseurs japonais, les Zero. Ils font l'armement, la défense, les assurances, tout. Ils ont été splittés après-guerre par les Américains, mais Heavy Industries. Ils continuent à fournir l'armement pour les forces d'autodéfense japonaises. Donc, ils rentrent dans les bureaux, aucun problème, ils sont passés pour du personnel. Ils volent des centaines de documents top secrets, donc visée laser, enrichissement de l'uranium, puisqu'ils ont essayé aussi de faire une bombe atomique, bien sûr. Armes chimiques.
Oui, bien sûr, mais.
Ça se passe sans problème. Ils y retournent plein de fois, en fait. Ils y retournent.
Salut, c'est Michel.
Genre, c'est la famille, quoi.
Ils passent, ils font un petit check.
Tranquille, quoi. Non, mais c'est la famille, quoi, vraiment.
Donc, ils font des copies de documents, tout ce qu'ils peuvent, ça, les trucs qu'ils n'arrivent pas à copier, ils arrachent le truc, ils les prennent direct, rien à foutre, aucun problème. Et donc, le laser, alors, on revient sur le laser, parce que...
Est-ce que c'est le laser de contrat, quoi?
Non, c'est le laser de Star Wars, mon pote, c'est l'étoile de la mort, quoi.
Lester.
Et vu que c'est des gros, énormes geekos, quoi, ils sont fascinés par ça, quoi. Et ils se disent, il nous faut un laser, quoi. Il nous faut un laser pour tuer, quoi. Obligé, tu vois.
Mais attends, c'est les années 90, parce que années 80, années 70-80, laser, j'aurais fait, oui, carrément.
Non, mais t'es au Japon, mec.
Années 90, mec, c'est autre chose, tu vois.
C'est au Japon.
Plus.
Non, mais les le laser, bref, bon. Il y a eu pas mal d'expériences, mais tu peux tuer avec un... Enfin, tu peux aveugler, en tout cas. Et alors...
Tu peux brûler avec un laser.
Il y a une expérience un petit peu rigolote, si je puis dire, hein. Parce qu'à l'époque, ils étaient beaucoup à Yamanashi. Ils avaient une grosse base, donc c'est un département dans la montagne à côté du mont Fuji. Et donc, les gens du coin, ils s'en souviennent un petit peu. Il y a eu une nuit, pendant 2 heures, il y a eu un énorme faisceau rouge lumineux qui a relié 2 bases de la secte. Donc...
Le mec, il avait des putains de thunes, quand même.
Ouais, 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 d'ouf. Ouais.
Ah, ils étaient au top, hein.
Donc, à l'époque, ils ont dit, on fait des expériences, c'est rien. Mais en vrai, hein, bon, ils ont déjà des coupeurs laser pour découper de l'acier. Okay. Donc, pas juste pour aveugler, tu vois. Ou brûler.
Ah, l'acier, ça coupe pas mal. Donc, un corps, je pense, ça se coupe pas mal aussi. Avec.
Je pense, il y a moyen, quoi. Et donc, en bon gros geek, hein, il veut vraiment son étoile de la mort, quoi. 95, ils arrivent à synthétiser 100, 200 grammes de VX. Donc, c'est le truc qui est 100 fois plus mortel que le sarin. Ils testent ça sur des gens. Comme ça, tu vois, enfin des traîtres, entre guillemets, pour eux c'est des traîtres. Donc 2 blessés, 1 mort. Donc c'est la première victime qu'il y a eu de ce gaz en fait. Hein. Donc ils pensaient que c'était un espion, hein, voilà. Donc,
ah donc c'était pas vraiment du sarin, c'était une version surboostée du sarin.
Une version beaucoup plus vénère du sarin, ouais.
D'accord. Ça c'est bon, tu vois, ça je savais pas du tout.
17 janvier, qu'est-ce qui se passe? Tremblement de terre de Kobe.
Ouais.
Et là, ils se disent la fin du monde, c'est sûr.
C'est le début,
là, c'est leur signe.
Le début de la fin.
C'est le début de la fin, c'est sûr. Ouais.
C'est le petit.
Et donc, le bon vieux Moulay, dont je parlais au début, hein, qui faisait l'astrophysique, qui est devenu un peu le boss de la science, hein, de la secte à Aum, lui se dit c'est les Américains. C'est basé sur des recherches de Nikola Tesla. Si vous avez vu The Prestige. Quand il allume des lampes là, un peu partout, c'est un vrai truc qui s'est passé ça. Ouais. Et il utilise en fait les courants électromagnétiques de la Terre pour faire ça. Mais Tesla, il pensait que tu pouvais créer une arme vraiment de destruction massive.
Non, Tesla en fait, il voulait distribuer l'électricité gratos pour tout le monde et ouais, comme tu disais en fait pour.
Ouais, il était vraiment. En tout cas, Tesla c'est connu pour l'électromagnétisme, etc. Non, enfin, on ne sait pas trop.
Il a fait non, pour l'électricité, bon, Edison, ouais.
Edison, on parle bien de.
Mais aussi, encore maintenant, les papiers de recherche de Tesla sont toujours classifiés par l'armée américaine.
Ouais, carrément. Là, on peut en parler. Tesla, je peux en parler. Il n'y a pas de problème. Je peux parler de Tesla, il n'y a pas de problème.
On ne sait pas trop justement, ça, c'est ma cam, jusqu'où il est.
Février 95, là vous allez voir, ça s'accélère un petit peu. Hein. Donc il kidnappe Kali Akiyoshi, donc c'est le frère d'une ancienne adepte, elle s'est enfuie. Et alors il le ramène dans leur base, donc toujours autour du mont Fuji. Donc c'est un village, ça n'existe plus. Il le tue, il brûle son corps dans un incinérateur à micro-ondes. Je ne savais même pas que ça existait. Et il disperse ses restes dans le lac de Kawaguchi, tu vois, Kawaguchiko.
D'accord.
Et mais avant de disparaître, il a reçu. Trop de menaces qu'en fait, pas au téléphone quoi. Elle est où ta soeur? On va te tuer! Et donc il laisse un papier, si je disparais, c'est la secte à Aum. Enfin, les flics commencent à se réveiller quoi. Ils disent, ah, il y a peut-être un truc louche avec
parce
eux.
Parce que c'était pas la première fois que quelqu'un disparaissait, entre guillemets.
Ah, mec, ouais, ah, il y en avait eu trop! Ils ont tué trop de gens déjà quoi.
Les flics étaient en mode. Oh, c'est peut-être le voisin.
C'est chelou. Ouais.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais donc, encore une fois, entreprise religieuse, on laisse tranquille. Voilà. Et puis surtout, enfin, on va en parler après. Mais bon, donc les flics se réveillent un petit peu. Et là, ils se disent, on va faire un raid, quoi. Et là, Asahara, visiblement, vu qu'il avait des contacts dans la police, Ça va, Ludo?
Ouais, ça va, t'inquiète.
Il y a eu une petite fuite, un truc comme ça. Il entend parler, il se dit, il faut accélérer la fin du monde, quoi. Et là, c'est la chute, quoi. 95, ils font les attentats pour faire diversion, entre guillemets. Ça fait pas trop diversion, en fait. Au contraire, les flics, ils font des énormes rafles sur toutes les bases Aum du pays, quoi. Alors, dans la semaine qui suit, le public et la presse, hein, ils réalisent un petit peu... des activités dans leur base, donc ça s'appelait Kamikuishiki, donc c'est autour du mont Fuji, donc ça, encore une fois ça n'existe plus. Ils découvrent des armes chimiques, des explosifs, un hélicoptère militaire russe Mi-17, tranquillou, assez de produits chimiques pour faire du sarin pour tuer 4 millions de personnes, ouais. Des labos pour faire du LSD, des amphètes, du sérum de vérité, un coffre avec des millions de dollars en cash, en or, et aussi, détail croustillant, des cellules avec des prisonniers dedans. Et ouais. Alors, les gens d'Aoum, ils disent, oh non, les produits chimiques, c'est juste de l'engrais. C'est juste, voilà, c'est pour nos cultures, quoi.
L'or, c'est, bon, on sait jamais. Il y a un crash économique,
exactement,
on est à l'abri.
Un petit peu d'argent de côté, ça va, il n'y a pas de mal,
ça
quoi.
Ça tue personne, hein. Les prisonniers, bon, c'est des potes.
C'est dedans, il faut du yoga. Du yoga un petit peu vénère.
C'est du yoga, t'inquiète.
Et donc, bon, ils arrêtent...
On les forme.
Exactement, ou on les déforme. Ils arrêtent pour à peu près 150 personnes. Donc à l'époque, enfin, ils sont 50 000 hein, à l'échelle mondiale. Ah, donc, 150 personnes, c'est pas grand-chose. Et pendant des mois, les journalistes, ils campent devant les bureaux de la secte à Aoyama, c'est à Komazawa Dori en fait. Le 30 mars, le chef de la police de Tokyo, il se fait tirer dessus 4 fois. Il est blessé sérieusement. Tout le monde suspecte Aoum. Personne ne peut rien prouver, comme d'hab. Mais c'est pas fini. Le 23 avril, donc, Murai, dont je parlais tout à l'heure, il se fait poignarder à mort devant une foule de journalistes par un membre du Yamaguchi-gumi, donc c'est le plus grand groupe de Yakuza au Japon.
Plus maintenant, mais ouais, parce qu'ils ont eu des splits, ils ont eu des petits problèmes internes, on va dire.
Je croyais encore maintenant. Bon, je sais pas, je suis pas
un spécialiste. Ils ont eu des problèmes internes, donc ils ont dû splitter, donc c'est un peu compliqué en ce moment, mais bref.
Ludo nous parlera de la mafia dans son prochain
sujet. Un jour, peut-être, sujet. Si je dois parler peut-être du Yakuza en tant que mot, ouais, peut-être.
Le mec, donc, il est arrêté, il est condamné, on n'a jamais su pourquoi, en fait. Mais bon, pourquoi pas. 5 mai, ils trouvent un sac en papier enflammé dans les toilettes à Shinjuku. Donc, ils inspectent le sac. Dedans, tu as du cyanure d'hydrogène. Donc, c'est un produit ultra, ultra, méga toxique. Donc, si ça n'avait pas été chopé à temps, ça serait parti dans le système d'aération. Ça aurait pu tuer à peu près 10 000 personnes.
Putain, j'ai eu peur qu'il y ait du caca. Tu tapes dessus et forcément, tu as du caca sur ton...
C'est pas trop la secte Aoum, quoi. Ouais,
c'est pas le délire.
Ils sont en efficacité, quoi. 4 juillet, ils trouvent d'autres sacs avec le même produit à différents endroits dans le métro. Bon, heureusement, le truc
est pas... Ah, donc il y a eu des récidives.
Ah ouais, mais pour l'instant, le gourou n'est pas arrêté. Et il est encore en liberté.
Il est encore en liberté. Okay,
il est en cavale, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une cavale à un moment donné. Ouais,
et donc, ils ont arrêté d'autres mecs, mais tous les leaders principaux, personne ne s'est fait arrêter pour l'instant. Ils ont que des sous-fifres. Deux mois après, 16 mai, ils finissent par trouver Asahara. En fait, il était caché dans un compartiment secret dans la base qu'ils avaient raidé en premier, quoi. C'est-à-dire que le mec est resté deux mois dans son compartiment, quoi, à manger des cup noodles.
Il était en confinement à l'avance, le mec. Quoi.
Exactement.
Il avait 100
ans. Voilà, deux mois, ça fait un peu plus, quoi.
Mais je parle à l'avance, on est en 2020.
Temps,
ouais, voilà, en avoir sur son temps, quoi.
Il devait faire du yoga, il devait kiffer, quoi.
Bah, si c'est le yoga qu'il faisait d'habitude, je suis pas sûr, hein, parce que le yoga vénère, là.
Le même jour, le gouverneur de Tokyo, il reçoit un colis piégé qui explose. Son ou sa secrétaire, ça lui arrache deux doigts. Voilà, c'est que t'as
tranquille, un doigt ou deux au moins, boah, ça va, quoi.
Alors, au final, Asahara, il est jugé, il est reconnu coupable, 23 meurtres, 16 autres crimes, y compris être le commanditaire des attentats du métro Tokyo 95, et il est condamné à mort, donc il est resté très longtemps dans le couloir de la mort. Alors, ses motivations...
Très longtemps, ouais.
Ah, bah, ouais.
20 ans, quoi.
Presque 20 ans, ouais.
Plus de 20 ans, même, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. 22 ans.
22 ans, ouais. Un truc comme ça, c'est long.
Le Japon. Ses motivations, hein, et celles des autres cas de la secte, c'est toujours pas clair. Hein. En gros, lui, enfin, ses avocats disaient, il est aveugle, il fait que du yoga, laissez-le tranquille, il sait rien, il n'a rien.
Il n'a pas de super pouvoir, par contre. D'après ses avocats.
Ah bah, c'est déjà un super pouvoir. Après son arrestation, donc, il démissionne, hein, il est plus gourou.
Ah merde, il a quand même démissionné, genre en mode bon, je peux plus le faire, désolé les gars.
Et il parle plus. Il parle plus à personne.
Alors, il est aveugle et en plus il est muet, quoi.
T'as vu? J'espère... Ah non, il peut même pas lire, le pauvre, il devait se faire chier. Donc il veut plus parler à personne, plus à sa famille, plus à ses avocats, et c'est comme ça. Et tac, jusqu'à sa mort, il a plus parlé. Alors par contre, il y a encore des suites.
Attends, ça veut dire qu'il a jamais communiqué avec personne après avoir été arrêté? C'est-à-dire que personne n'a une transcription à dire quoi que ce soit.
C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont dit que de l'exécuter, justice, entre guillemets, enfin moi je suis contre la peine de mort, mais
Surtout 22 ans après, il n'y a plus aucun sens. Mais bon,
non, mais surtout, on ne saura pas. On n'aura pas les explications. Tu vois, le mec s'est pas confié ou quoi que ce soit. Enfin,
les victimes... C'est pas un Ted Bundy non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le type qui a envie de parler non plus, j'ai l'impression.
Non, mais je veux dire, t'as pas de... Comment dire... De closure, comment tu dirais en français.
Ouais, t'as pas de finalité au truc, tu sais pas pourquoi ça a été fait pour comme ça.
Et donc, pour les familles des victimes, bon, voilà, c'est. Enfin, je pense. Enfin, j'en sais rien encore une fois.
Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire.
Alors, octobre 95, tac, ils leur enlèvent leur statut d'entreprise religieuse.
Bizarrement.
Mais, au nom de la garantie constitutionnelle de liberté de culte, ils continuent à opérer. Ça existe toujours en fait.
Ah ouais?
Ouais. Début 96, bon, ils font faillite en tant qu'entreprise.
C'est même pas mal des soutiens-gorge quand même.
Janvier 97, alors la loi, au nom de la loi de prévention des activités subversives de 1952, ils essayent de bannir le groupe. Ça passe pas, c'est rejeté par la commission d'examination de la sécurité publique, si vous voulez vraiment les détails. Février 2000, rebranding à nouveau. Ils deviennent Aleph. Donc, comme la lettre en hébreu ou en anglais, je sais plus.
Hébreu.
En hébreu. Merci. Merci Ludovic. Donc, ils changent de doctrine maintenant. Ils disent qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais par contre, ils enlèvent tout ce qui est bouddhisme tantrique. Ils enlèvent la Bible aussi dans leur texte. Ils s'excusent pour les attentats. Ils créent un fonds de compensation pour les victimes.
Attends, ça veut dire que Aoum existe encore ?
Ouais, ça s'appelle Aleph. Et je vais même tu vas être surpris à la fin.
Je ne sais pas du tout d'ailleurs.
Alors, 2002, un politicien japonais qui avait créé un groupe parlementaire anti-Aoum, Ishikoki, il est assassiné. Donc tu vois, 2000, maintenant on épice, etc. Il y a quand même des petits assassinats derrière. Hein. Alors, pendant 15 ans, tu n'as plus que 3 fugitifs. Le dernier, le chauffeur des attentats.
Il y en a un qui s'est rendu récemment.
Ils l'ont chopé en 2012. C'était le dernier. Et donc 2018. Non, toujours pas. Ah non, c'est long, je suis à la fin là. Donc, bisous mec, on te contacte bientôt, prends soin de toi. 2018, donc exécution à Sahara, 12 responsables d'attentat. Alors de nos jours, et là on arrive à la fin, je vous rassure.
Enfin.
Ouais. Ah. Désolé, c'est un peu long.
Mais en même temps, c'était super intéressant, donc voilà, continue.
Merci pour la ref. D'après un rapport à la police nationale, hein, en 2005, Aleph, donc c'est le nouveau nom de la secte, ils avaient encore 1600 membres, dont 650, ils vivaient dans des communautés, des campagnes, quoi, des bunkers blindés. Donc la plupart du temps, tu avais des manifestants chez eux. 2011, à peu près encore 1000 membres. Et donc ils recrutaient encore de ouf, quoi, sur les facs, etc., médias sociaux. 2013... donc là, l'agence gouvernementale japonaise qui s'occupe de la sécurité, donc c'est un mélange entre la DGSE et la DGSI, ouais. Ils arrivent à rentrer dans une des bases de la secte, et là ils voient encore des posters de Asahara partout, des documents, des photos des juges avec un poignard sur la tête.
Flippé, hein, mort.
2016 en Russie, donc voilà, Poutine déjà, les Russes ils sont un petit peu moins, un peu moins, tu vois, démocratique peut-être. Le FSB leur a mis un énorme coup de pied au cul, et donc ils ont fait plein de raids, ils ont tout pris, et puis ils les ont bannis du pays, ils ont déclaré organisation terroriste, comme ça c'est réglé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, tu avais une antenne de radio basée en Russie, tu vois, en Sibérie, qui émettait en langue japonaise. Les sermons de la secte Aoum et les proverbes et les chansons de Asahara en direction du Japon. Donc en fait, ils étaient basés en Russie. Et...
D'accord, du coup, ouais.
Ouais, ils faisaient chier, mais jusqu'au bout. 2017, raid de la police encore après des plaintes d'une femme. Donc, en gros, elle aurait payé des dizaines de milliers d'yens pour de l'étude. Donc ils continuent à carotter, quoi. Alors, nouvel an 2019, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a un fou qui a roulé dans la foule à Takeshita Dori, juste à côté de chez nous. Et lui, il se revendiquait sympathisant de la secte. Mais surtout, aussi, d'après lui, il voulait protester contre la peine de mort. Alors, je ne pense pas que ce soit très efficace.
Non, c'est sûr, en tuant des gens, c'est sûr.
Il n'a pas tué de gens, mais il a blessé quand même 9 personnes.
Enfin bon, à mon avis, son intention, ce n'était pas de blesser, à mon avis. Hein, bon.
Alors, et alors, donc, je suis allé voir, ils ont un site web alors, qui n'est pas très actif parce que la dernière mise à jour est en 2015 et je suis allé chercher leurs antennes locales. Et le, donc, en fait, ils avaient pas ça, enfin, ils appellent ça dojo, hein, comme quand on fait ça.
Comme des dojos. Ouais.
Et il est à peu près 20 minutes à pied de chez Ludo.
Ah ben voilà.
Et donc, bah,
je me disais, si qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quand mon gosse va naître. Bah, surtout que voilà, t'as du temps à perdre, hein, même après quand le gosse sera né.
Tu
hein,
peux aller au bar porno et après. Voilà,
et perdre dans la foulée, faire une petite
promenade, quoi.
Promenade vers là-bas, quoi.
Un petit coup de yoga vite fait.
Peut-être dans l'inverse, que faire le yoga là-bas un peu vénère, à me faire fouetter et après aller là dans le bar porno.
Alors, moi j'ai une question à moi-même, mais c'est comment ça se fait que les flics, ils ont laissé faire pendant aussi longtemps, quoi. Parce que tout le monde le savait, personne n'a rien dit, comme d'hab. Et ben, il y a plusieurs raisons. Donc, je l'ai dit 25 000 fois, mais la loi sur les entreprises religieuses au Japon. Donc déjà, voilà, les flics ne se mêlent pas de ça, etc. Mais surtout...
Ouais, mais c'est gros quand même, là. Quand même.
Mais surtout, le haut profil des adeptes. Ils avaient complètement noyauté l'administration. Ils avaient que des fils de bonne famille et des filles aussi. Des gens de l'élite, quoi, des grands bourgeois, quoi.
Et ça pouvait pas devenir public. Ça, c'est un des gros trucs. En fait, moi, le livre que j'ai lu à la base sur ça, c'est quand je suis venu au Japon, j'ai lu un livre. Enfin, un ami à moi m'a offert un livre. Et tu vas au Japon, tiens, voilà ce livre. Et c'est le livre de Murasaki.
Murakami
Murakami, ouais.
Lequel?
Fatigué. Underground.
Non, il y en a deux, il y a Murakami Haruki, il y a Murakami Ryu.
Et... Bah, c'est Murakami Haruki. Okay. Et c'est le nom du livre s'appelle Underground. Et en gros, c'est sur. En gros, le gars a interviewé des gens qui ont été. En fait, la première partie du bouquin, c'est. Les gens qui ont bien voulu, c'est pour ça aussi que j'insistais sur le fait que ben, les gens qui ont, quand tu disais, ouais, il y a 5000 brouettes, gens qui ont été 5800 personnes qui ont dit, ouais,
tu as été victime,
ouais, victime, etc.
Ouais.
Lui a voulu faire des interviews des gens. Il a réussi à récupérer, je crois, 4 ou 5 interviews seulement, mm-hmm. parce que énormément de gens disaient, non je ne veux pas témoigner, je ne veux pas parler, etc.
Pourquoi tu penses?
Bah, peur, quoi. Parce qu'ils avaient peur.
Genre des représailles, quoi.
C'est vraiment, ils avaient peur, apparemment.
C'était quand le bouquin est écrit, quand?
Je sais pas quand est-ce qu'il a écrit, il faudrait que je regarde parce que je l'ai à la maison encore. C'est moi, mais bref. Et la deuxième partie.
Parce qu'il y a 3-4 ans, les mecs menaçaient encore des gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai truc, quoi.
Non, les gars étaient assez menaçants.
C'est vraiment une saloperie, quoi.
Vraiment menaçant. Et la deuxième partie, c'est lui qui est allé voir les gens de Aoum dans les prisons. Et a fait des interviews d'eux. Donc,
franchement,
ce livre, en gros, c'est juste des interviews, en gros, que tu lis, etc.
Quand moi, je connais, je vais être honnête, quoi, je connaissais pas du tout l'histoire. Donc, bien sûr, je connaissais les attentats de 95, mais mis à part ça, je connaissais pas du tout l'histoire de la secte, quoi. Donc, c'est bien que je sois à l'histoire. Mais quand je vois ça, que les mecs, ils courent encore toujours et qu'on te casse les couilles pour un bédo, en fait, quoi. En fait, genre, bédo, c'est vraiment, voilà, ça parle à tout le monde, quoi, mais... On te casse les couilles pour pas grand chose dans ce pays, finalement, quoi. Voilà, même t'es dans un parc, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, avec les mecs qui sont là parce que t'as pas les fils d'un tel ou un tel qui sont. Ouais, je sais pas, c'est vraiment la justesse à la vitesse, ce qu'on reproche beaucoup en France, elle est quand même plus appuyée ici, j'ai l'impression.
Ah oui, clairement, bah ouais. Je pense qu'ici, si ça a de l'argent et des connexions, hein, tu
ouais,
peux.
C'est clair. Ouais, je vais vous parler de Mario, parce que ce mois-ci, on commence à fêter les 35 ans de Mario. Je sais pas si vous avez remarqué.
De quel Mario tu parles?
Vous en avez entendu parler peut-être un peu, ce Mario-là, qui fête ses 35 ans, non?
Ouais, j'ai surtout entendu parler du pseudo-remake, enfin, en fait, la trilogie qu'ils ont fait sur Switch.
Que j'ai reçu aujourd'hui, d'ailleurs, qui est une honte, d'ailleurs.
On parle de
jeux vidéo.
On parle de jeux vidéo.
Et pour le coup, là, non, c'était le. Bah, justement, en fait, c'était le remake de Mario 3D. Et
c'est pas vraiment un remake, c'est un portage, on appelle ça. Hein.
Ah là, pour le coup, ouais, c'est un portage. Autant le premier All-Star, c'était de la bombe. C'était vraiment.
Contexte, quoi. Tout le monde n'est pas gamer. Contexte.
Ok, Mario à l'époque. Mario est sorti sur Nintendo. En Europe, en tout cas, c'était 87, je crois. Ouais, c'était 87, il me semble, en Europe, sur NES.
Et on a eu en 80, dans les années 90, on a eu un Mario All-Star sur Super NES qui reprenait Mario 1, 2, 3. Plus et le Lost Level, qu'on appelle le Lost Level, qui est le Mario 2 en fait. Et au Japon, le Mario USA au Japon d'ailleurs, qui est le Mario qui est repris dans notre jeu.
Mario du tout.
Qui est repris dans notre jeu pour une exhibition qui est connue.
Une exposition.
Ouais, exhibition. Non, mais expo, bref. Vous m'avez compris. Bref, et là, le nouveau Mario 3D, ils sont un peu foutus de la gueule du monde.
C'est, il paraît, ouais.
J'ai déjà fait 12 étoiles.
Attends. Quelle console?
Alors, sur Switch, il y a Mario 64, il y a Mario Sunshine qui était sorti sur GameCube à l'époque, donc dans les années 2000. Hein, et il y a le Mario Galaxy, le très bon Mario Galaxy qui était sorti sur
mais
Wii.
Mais pas le Mario Galaxy 2.
Oui, le 1. Mais le 1 était déjà très bon. Mais,
le 2 est encore meilleur avec le 2. Yoshi.
Le 2 était sur Wii U.
Sur Wii,
à la fin de la fin de la Wii, quoi, qui était sorti à la fin de vie de la Wii, quoi, le Mario Galaxy 2, qui a été omis dans le All-Star, quoi, et donc du coup, en fait...
Grosse polémique.
En fait, là, par contre, c'est plus mon sujet que, tu vois, la sec, machin. Le remake qu'ils ont... Enfin, pas un remake, c'est vraiment des portages, en fait, c'est-à-dire que... Le 3D All-Star qu'ils ont sorti, c'est vraiment des versions d'origine sur ta Switch, quoi. C'est-à-dire que voilà, par exemple, ton Mario 64, ce sera le Mario 64 d'origine. Alors, à l'époque, tu n'avais pas le 16/9, c'était du 4 tiers sur la Nintendo 64, donc ils l'auront foutu en 16/9. Le Sunshine.
Non, ils ne l'ont pas mis en 16/9, c'est une des polémiques d'ailleurs, c'est qu'ils l'ont remis en 4 tiers.
Ah, sérieux?
Bah, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai fait déjà 12 étoiles sur le Mario 64, j'avoue.
Ah, mais il n'est même pas en 16/9, quoi.
Non, et c'est un des gros problèmes.
Je croyais qu'il avait quand même upscalé en 16/9 quand même.
Non, ils ne l'ont pas upscalé. Alors qu'il y a des fans qui l'ont upscalé, et du coup, c'est une grosse polémique là-dessus.
Et le Sunshine, il est upscalé. Parce que vous savez, le Sunshine, c'est sur GameCube, c'était pas du tout 16/9 à l'époque.
Oui, mais. J'ai pas encore fait le Sunshine.
Est-ce qu'on peut dire que Nintendo aime l'argent?
Oui.
Nintendo fait du cash grab un petit peu opportuniste.
Oui.
Savoir que là, dans les.
Fin du sujet.
Non, moi je suis carrément d'accord. Hein.
Moi je suis un gros fan de Nintendo. Bon, ça vous l'avez déjà su.
Non, très bien Nintendo.
Mais c'est une des compagnies, c'est la number one qui fait le plus de thunes au Japon actuellement. C'est la plus grosse compagnie actuelle.
C'est pas parce qu'ils ont tout le monde. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Mais bon, bref.
Bref, mon sujet ce mois-ci, c'était pour les 35 ans de Mario. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Mario. Mario lui-même. Hein,
on ne parle pas de l'acteur de film pour adultes.
Non, pas Mario. Avec tout le matraquage qu'il y a eu autour de ça, je pense que vous avez entendu parler.
Absolument pas.
Mais du coup, pareil.
Quel connard de
frère. Mais c'est vrai.
Mario. Non, mais Mario, je sais, mais les 35 ans Mario, j'aurais aucune idée. Mec.
Et ben, du
mec,
coup, je vais t'expliquer.
J'ai regardé le reveal PS5, ça m'intéresse.
Bon. On en parlait tout à l'heure, si je te permets.
Bon, et ben, du coup, Mario, qui c'est? Et ben, c'est un plombier qui doit sauver une princesse.
C'est vrai, c'est une bonne définition.
Voilà. Non, je déconne. En vrai, c'est Mario qui m'a fait penser à ça, mais quand j'ai préparé ma rubrique. Je me suis dit, non, en fait, je veux pas parler de jeux vidéo parce que Francis va encore s'énerver.
C'est vrai.
Et du coup,
on s'en fout de Francis.
Non, on lui fait un bisou.
Et ben, du coup.
Bisou, mais je m'en fous quand même, quoi.
du coup, moi, je vais vous parler de Dagashiya.
Ok.
Et du coup, Dagashiya,
en japonais. Il fait ça, il fait des feintes que ça. Voilà. Il commence, il dit, ouais, je vais vous parler d'un truc qui saoule tout le monde. Non, qui saoule pas nécessairement tout le monde, mais.
Qui intéresse tout le monde et qui va saouler tout le monde.
Qui intéresse Fred. Évidemment, non. Je te retire le truc. Je t'enlève la cuillère de la bouche.
Là, j'aurais pu avoir, tu vois, un peu de bagou, quoi.
Mais non, mais le Dagashiya, en fait... ça m'a fait penser à ça, en fait.
Vieille technique de yoga.
Moi, ça m'a fait penser à qu'est-ce que je pourrais avoir comme mot japonais. Parce que l'idée, moi, de ma rubrique, c'est d'avoir un mot japonais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai comme mot? Et bien là, Dagashiya.
Et qu'est-ce que c'est, Dagashiya?
Et bien, voilà.
Oncle Ludo.
Et donc Dagashiya. Donc si on regarde les kanji, donc t'as da, donc qui est pauvre ou insignifiant, et t'as okashi, qui est le bonbon, la friandise, voilà. Et il y a le magasin.
Papa, tu nous achètes une friandise?
Comment on fait les bébés? Non, ça c'est plus les nuls, mais du coup, un Dagashiya, en gros, c'est un magasin où ils vendent des sucreries pas chères.
et Mario est allemand.
Ok. Rien à voir.
Fin du dossier.
Voilà.
C'est tout. Allez, bonne soirée.
Merci.
Putain, voilà. Merci les Patreons.
Okay, les mecs, ils vont titler leur podcast Mario 35 ans, ils vont te sortir ça, quoi. Ok.
Mais bon. Mais qu'est-ce qu'un dagashia, en vrai? Donc, moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un dagashia.
C'est un truc où on trouve des guns à air comprimé avec des billes.
On pourrait, mais non.
Moi, je sais, mais je vais laisser Ludo expliquer.
Bah, moi aussi.
Donc, je vais vous dire que ça a commencé pendant l'ère Meiji.
Ok. Qui donc, est donc de, c'est 19e, ouais, fin du 19e.
Ouais, voilà, c'est fin du 19e, c'est ça. Donc, c'est des petits magasins qui vendaient des glaces, des boissons et plein de snacks. Enfin, plein de petits snacks ou de okashi, justement.
Des petits senbei, des machins. Enfin, c'est voilà. Le vendeur de hot dog de Meiji, quoi, tu vois.
Voilà, pas cher. Et dont les fameux, dagashi. Parce que dagashi, c'est vraiment un mot pour ça. Donc, dagashiya, c'est le vendeur de dagashi.
Donc, dagashi, c'est la friandise un peu cheapos.
Voilà, que tu peux avoir pour 10 yens, 20 yens, etc.
T'as des exemples de oui, dagashi? Oui, et ben, tu
peux en trouver à peu près dans toutes les villes.
De moins en moins, en même temps.
Exactement.
Tu vas en parler, excuse-moi.
Malgré que ça se fasse un peu plus rare. Et en vrai, c'était très populaire avant que les combini ou les vending machines existent. Mais à partir du moment où ça a commencé à exister, ça commençait à être un peu de la concurrence et un peu moins.
Les combini, c'est quand à peu près années 60
Années 70. À partir des années 50, en fait, les dagashiya ont commencé à down. Ils ont eu une sorte de petit renouveau, en fait, entre guillemets. À partir des années 70-80 avec les bornes d'arcade, en fait, les premières bornes d'arcade.
Ils vendaient donc des dagashi dans les game centers.
Pas dans les game centers, c'est-à-dire ils eux-mêmes avaient pris dans leur dagashiya des, des petites penser, bornes d'arcade. Ça me fait
penser, inversement quoi.
Et les gens après l'école faisaient ça.
D'accord. Ça me fait penser, hein, je oublie de faire, un animé que j'ai batté il n'y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle High School Girl. Et du moment, il y a Hidaka, tiens, chez Hidaka, ça s'appelle, je crois.
C'est ça,
et
c'est
son,
ça.
Et voilà, son père, en fait, il a une petite épicerie, en gros, et pour amener des clients, en fait, il fout des bornes d'arcade sur le devant de son épicerie, en gros, et pour amener justement des clients dans son épicerie, quoi.
Voilà.
Ça fait penser à ça, quoi.
Mais en gros, un dagashiya, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où les gens, surtout les étudiants, en fait, les gaksei, en fait, plus que les étudiants.
Plus jeunes, je dirais.
Après l'école, ben, gaksei, hein, les petits.
Les écoliers.
Les écoliers, voilà. En français, plus écoliers, après l'école, aller en rentrant chez eux, se passer. Jouer un petit peu au jeu, manger 2-3 petits dagashi et hop, rentrer à la maison.
Un peu, je sais pas si toi t'as eu ça, mais moi j'avais une boulangerie, on appelait ça la boulangerie chez nous.
Avec les ventes de bonbons.
Et les ventes de bonbons à l'unité. Donc c'était en francs à l'époque, ouais. Là, je
10 centimes donne, de je donne francs, mon âge. Ouais.
Donc 10 centimes le croco, 20 centimes la bouteille de coca acidulée. Je disais, je veux 2 francs de ça. Un franc de
ça. Non, sauf que moi, c'est encore pire. Hein. Moi, j'habite à la Cambrousse. J'ai un boulanger qui est arrivé en camion. Et donc, voilà, il est arrivé en camion. Il avait du pain et des bonbons, quoi. Et donc, nous, il passait à, je sais plus quelle heure, je sais peut-être 10 heures, peut-être, que je me rappelle plus vraiment, quoi. Mais quand on est des gamins, on avait plus ou moins de l'argent de poche ou l'argent de la petite souris ou tout ça quand j'étais vraiment gamin.
Ouais.
Et voilà, nous, on attendait le boulanger en camion, justement, comme tu disais. Après, on avait le boulanger dans son camion avec son pain et ses bonbons, on achetait après, voilà, comme tu disais, 2 francs ci, 2 francs de ça, etc.
Donc c'était un petit peu l'équivalent japonais, sauf que eux, ils avaient en plus des jeux d'arcade.
Voilà. Ça, c'est la classe.
Et même avant les jeux d'arcade, ils avaient peut-être ce qu'on peut appeler les ancêtres de l'arcade, c'est les jeux un peu traditionnels, genre une sorte de flipper, des trucs comme ça, qui étaient installés.
Le truc avec la taupe.
Ouais, voilà.
Avec les,
ouais, par exemple.
Même au-delà de la taupe, genre les trucs, genre une sorte de pachinko, alors. Pas pachinko, mais genre une bille, tu vois, qui tombe en acier.
Il y en a encore à Asakusa.
Ouais, voilà.
Il y en a encore.
Tu vois bien les jeux dont je parle avec la bille, tu vois, qui le mettre dans le.
Et tu gagnes, tu gagnes un dagashi.
Voilà.
Tu gagnes un petit bonbon.
Ouais.
Tu gagnes un petit bonbon.
Un truc de merde. Hein.
Mais c'est juste un peu d'entertainment, en fait. D'amusement, en fait, à partir de ça. Et c'est un truc qui est très nostalgique. Mais
ça sent vraiment Showa, quoi.
C'est
tu parles de ça, t'as des images que j'ai pas connues, hein, mais
Je vois le côté nostalgique, ben, avec les vieilles enseignes, ben, les trucs.
L'âge d'or, c'est le Showa. C'est vraiment l'âge d'or, avant même que les combini commencent à vraiment prendre la place, que les vending machines commencent à venir, etc. C'est vraiment le moment où c'était l'âge d'or. Mais tout ça pour dire que à partir des années 80, cette popularité a décliné. Les petits ont fini par
manger par les gros.
Ben, ils ont commencé à fermer petit à petit, tout simplement. Et maintenant, c'est un truc qui a fermé et c'est dur.
Encore un petit peu à la campagne.
À la campagne, t'en as encore.
Mais c'est un peu. Ils jouent justement sur le côté rétro, je pense.
Ben, c'est un des trucs aussi qui arrive là-dessus, c'est que il y a ce côté un peu. Ils jouent sur la nostalgie. Sur et même moi, hein, même sans l'avoir connu à l'époque, même toi, je pense qu'il y a ce côté un peu nostalgique. Et je sais que à Tokyo, t'en as plus beaucoup.
Tu connais les Dagashiabar à Tokyo?
Il y en a?
Ouais, il y en a un à Ebisu. Je sais pas si ça existe encore, hein, ça fait des années. En gros, c'est un bar, quoi. Et en fait, bah, tu peux acheter tes dagashi. Mais c'est vraiment les prix de l'époque, hein. C'est 10 yens, 20 yens, 50 yens, tu prends tes trucs. Je suis même pas sûr, c'est pas gratos. Et en gros, ça fait partie du service, quoi.
Je sais pas si ça compte, hein. Moi, j'ai Itabashi, il y a un karaoké qui s'appelle Le Thème, quoi. Et pareil, tu. Vas-y, ferme ta gueule là. Ferme ta gueule. Et en fait, c'est 1100 yens Nomi Hodai. Donc Nomi Hodai, c'est tu bois ce que tu veux pendant une heure, tu payes 1100 yens et tu bois ce que tu veux au karaoké.
Notre premier sujet. Hein.
Et dans ce karaoké là, justement, t'as plein de. En fait, t'as une petite pièce où t'as plein de petits okashi, donc de plein de petites friandises. Donc ça peut aller du sucré au salé, comme au Japon, t'as des petits sembe. Tu vas avoir des petits amés, on appelle ça les bonbons à sucer, donc les bonbons en français, quoi, tu vois. Et en fait, voilà, des sucreries, tu peux avoir des sucreries ou des petites friandises, genre salées, des chips, des SMB, etc. Et donc, tu payes ton 1100 yens, ton une heure au karaoké de Nomi Hodai. Donc, tu vas au karaoké pendant une heure, tu bois ce que tu veux pendant une heure et c'est 1100 yens. Et tu as dans cette pièce-là, voilà,
c'est cool, ça.
Des petits okashi, machin, dans ta pièce, tu peux prendre, voilà. Tu es dans ta salle de karaoké, tu chantes, tu bois et tu as un petit creux où tu es un peu bourré, donc tu veux bouffer un peu, tu vas te chercher des
petits SMB. Hein.
Ça nourrit pas, mais on va dire que voilà, quand tu as un peu bu.
Non, mais l'intention est là.
Voilà, en tout cas, c'est gratos, c'est dans le service, on va dire, entre guillemets. Et voilà, tu as ta petite pièce de okashi, tu vois, dans le karaoké. Et,
ah, c'est cool ça, je voilà. Connais pas quoi.
Ouais, voilà. Et voilà. La dernière fois que j'ai retrouvé cette ambiance-là, c'est que quand je suis allé faire un petit raid avec un ami qui s'appelle Gaël. Pour faire du hard off et on s'est retrouvé dans un petit quartier.
Ah, faut expliquer hard off. Alors Book Off, qui est une chaîne de trucs qui te vendent des livres d'occasion. Hard off, ils vendent du hardware, donc des jeux vidéo.
Voilà. Et en allant vers là-bas, à un moment donné, on s'est retrouvé à marcher au coin d'une rue. On s'est retrouvé sur un petit dagashiya et c'était assez marrant parce que t'as, au détour de ce petit quartier, tu as ton dagashiya. Et à côté de ce dagashiya, tu as ton petit épicier de quartier. C'est un truc qu'on retrouve pas trop à côté, c'était vers Saitama. Épicerie de quartier qui vendait le truc. Et à côté de ça, tu avais un vendeur de tabac qui fait aussi vendeur de riz.
Ouais.
Ah,
sympa.
C'est
local, quoi.
C'est moulin. Les années 60, village, 70 et, au Japon, quoi.
Et je sais pas comment expliquer ça. C'est un truc, quand tu y vas, t'es en mode, mais oui, c'est trop bien. J'aimerais avoir ce genre de truc à côté de chez moi. Vraiment, c'est un peu la nostalgie.
Il y a un côté super rétro et puis hyper charmant en même temps, quoi. Ouais. T'as l'impression d'être dans le Japon d'il y a quelques années, quoi.
Ah, moi, je sais pas si ça marche. Moi, j'ai pas connu. Je sais que je reviens sur là où j'habite parce que voilà, Itabashi, dans la rue Yayan, un peu plus loin, quoi. Il y a un Okashiyasa, donc en fait, ils vendent des bonbons et en fait, pareil, sur la vitrine, ils vendent. En fait, sur un côté de la vitrine, en fait, t'as genre des ventes de pistolets d'air comprimé à billes. Et sur l'autre côté, en fait, de l'autre côté du magasin, ouais, c'est pas grand le machin, hein, mais. De côté du magasin, t'es genre des vieux jeux et tout, les trucs, tu bouges ta voiture avec le volant et que t'as un rouleau derrière qui fait la route en fait quoi. Mais vraiment genre l'apogée, le balbutiement des jeux d'arcade où t'as un rouleau qui fait la route et t'as un volant qui tourne la voiture qui est fixe en fait quoi sur ton.
Il parlait des 35 ans de Mario, mais Nintendo, bon avant ils faisaient des cartes à jouer, mais leur premier jeu d'arcade. C'est des trucs comme ça.
Et pour ça, il y a Odaiba, il y a. Putain, je sais plus où c'est, je crois que c'est.
À Odaiba,
il y a un putain de.
Justement, t'as un truc un peu dans ce genre-là.
Exactement,
avec
et ça, c'est vraiment. Mais en fait, j'étais plein de fois à Odaiba, et une fois, j'étais avec ma femme, machin, on s'arrête là juste par curiosité. Et j'étais plein de fois, je suis passé plein de fois devant ce truc, quoi. C'est dans Diver City ou je sais plus où.
C'est un autre étage où ils ont tous les Shonen Jump.
Ouais, en fait, c'est un gros mall, en fait, pour ceux qui connaissent pas Aqua City ou Diver City, je sais plus où c'est, mais c'est un grand mall, en fait, c'est un gros complexe de supermarché, en gros. Et je suis passé plein de fois devant. Et une fois, j'ai dit, vas-y, on s'arrête vite fait, je vois vite fait 2-3 flippers, machin. On s'arrête dedans, et en fait, c'est une. Je sais pas comment dire. C'est vraiment l'histoire de l'arcade en fait quoi. T'as des petits trucs comme je disais tout à l'heure, les voitures ou avec des rouleaux, tu tournes avec le volant, voiture fixe sur un bout de bois, jusqu'à des Virtua Cop ou des Outrun ou des trucs comme ça. Et je trouve ça super
sympa. La femme à trois jambes, tout ça.
Mais je trouve ça vraiment, en fait, t'as toute cette histoire en fait de, en gros, de, entre guillemets, du jeu vidéo qui est un peu représenté dans ce petit magasin qui est à Odaiba, et j'ai trouvé ça super sympa.
Faudra qu'on mette l'adresse pour les écouteurs.
Ouais, les écouteurs. Ben,
du coup, il y a cet endroit-là, et moi, je vais aller assez vite parce que là, j'entends la batterie qui me dit « Ouais, on va couper ». Et du coup…
Il va falloir acheter des piles.
Voilà. À Tokyo, il en reste à peu près une cinquantaine des Dagashiya. Ah, moi, il y en a un qui est vraiment connu, et je voudrais finir sur ça. C'est le Kamikawa Gucciya, qui est à Tokyo, qui a été fondé en 1781.
Ah ouais,
qui est l'un des plus anciens, en gros, qui est connu à Tokyo, et c'est pour ça qu'il joue là-dessus, et c'est pour ça qu'il continue à être ouvert. Et il a été passé par 113 générations. Donc, c'est pas loin du temple à Zochigaya, à Kishimojin, qui est à côté du Tori rouge
de quel arrondissement?
Zoli Gaya Kishimojin, c'est au Sanchome à Zojigaya.
Zojigaya, je vois où c'est.
Toshima.
À Toshimaku.
Toshimaku.
Okay. Toshimaku, okay. Okay.
C'est ça.
C'est un peu vers chez toi.
Et du coup, c'est un peu vers chez moi. Ouais.
Voilà, exactement. Bah, c'est à 13 côté, minutes ouais. de la station des Québécois.
Ouais, ok. C'est chemin, quoi. Okay.
Voilà. Et moi, je vais conclure là-dessus parce que vraiment, moi, j'entends vraiment des bips qui me disent que vous n'entendez pas. Ils disent c'est la fin. Donc, c'est court, mais je voulais parler de ça parce que je trouvais ça marrant et que c'est pas.
Et il manque la rubrique de l'invité, mec.
Mais.
Il faut acheter des piles, donc tu peux continuer ta rubrique après. Il faut juste qu'on achète des piles.
Non, mais ouais, mais autant clôturer sur ma rubrique et continuer sur ma rubrique.
Très bien.
Voilà. Voilà.
Ok, bah c'était cool.
Du coup, on part sur la dernière partie.
J'ai l'impression que tu as un petit peu du mal à t'exprimer, donc je vais lancer un petit peu. Donc, Fred.
Salut.
Ça va, Fred?
Ben, ça va.
Bon.
Ça va bien.
T'as
bien torché là.
Ouais, un peu torché.
Ouais.
C'est bien.
Ah, ouais.
C'est bien.
Ouais,
t'es chaud un petit peu?
Ouais, on va dire ça.
Alors nous, c'est notre stratégie. Hein. Les invités, on garde la rubrique de l'invité en dernier. On les fait boire. Et comme ça, t'as des gens qui sont un peu timides.
J'ai bu tout seul déjà, quoi. J'ai pas besoin de me faire boire.
Et puis on a bu avec toi, donc la stratégie se retourne un peu contre nous.
Ouais,
parce que
ça,
moi,
c'est
je
vrai,
commence
c'est
à être un peu ivre aussi. Hein.
Mais.
J'ai bu, mais debout d'être intoxiqué tout seul quand même.
Ah bon, alors attends, je vais t'aider un petit peu.
Ouais, je t'aide un poil.
Est-ce que j'ai un verre qui traîne?
Bah ton verre, je l'ai foutu. Je sais pas où tu l'as foutu parce que ça.
Mais moi non plus.
Parce que moi j'ai mon verre, il a son verre.
Je vais boire un petit goût.
Vas-y, à la bouteille, allez, vas-y.
Hop là. Il boit goulûment à la bouteille.
En plus, il est pas mal.
Non, il est pas mauvais. Hein. Je disais que j'étais une princesse au niveau du vin et c'est un bon vin.
Oh, mais merci, c'est gentil, ça me fait plaisir.
Alors, Fred, tu connais un petit peu le format, t'as écouté quelques épisodes.
Bien sûr, ouais.
Donc, on va te demander, t'es au Japon depuis combien de temps?
Ça va faire 10 ans, le 1er décembre, ça fera 10 ans.
Ah, eh bien, bon anniversaire. Bien chaud, presque, on va dire. Alors, comment tu t'es retrouvé ici?
Alors tu es d'où déjà?
Alors moi je suis d'Angoulême à la base.
D'accord.
Angoulême, donc la ville de la BD pour la plupart.
Ah mais oui, oui, ça, complètement. Hein. J'ai fait le festival.
Le festival, hein.
3-4 fois. Hein. Ah, ouais, ah j'adore.
Il y a des bons trucs quand même qui passent là-bas.
Très joli ville.
Je viens de là-bas. Ouais, c'est très vieux surtout quoi, quand tu y vis. C'est, quand
tu viens pour la BD, c'est cool. Ou les personnes?
Non, je parle à Chute, là. Je trouve une très jolie ville, architecturalement parlant. Mais ouais, après, les personnes, ouais, c'est très vieux et c'est très redneck quand même, je trouve. Hein.
Très bien.
Mais bon, quand tu vas sortir en ville, par exemple, tu vas à Angoulême, tu vas dans les bars un peu entre guillemets branchés, c'est super redneck quand même. Hein, je trouve.
Okay.
Moi, ouais. Même moi, quand j'étais gamin, c'est pas parce que je suis à Tokyo ou j'ai bougé un peu vite fait en France, mais même quand j'étais à Angoulême à l'époque, je trouvais ça super redneck. Quoi. Mais bon.
Redneck, dans le redneck, sens, je brûle des croix, j'attache des noirs derrière mon pick-up. Mecs, ils... ou...
comment expliquer ça? C'est des bouseux qui vont essayer de se la péter en gros. Quoi.
Ok.
Voilà.
Ouais, mais au moins, donc, t'as un festival qui fait que t'as un truc un peu international une fois par an. Quoi.
C'est ouais, ça, quoi.
Alors, tu sais surtout... que moi, au festival à BD d'Angoulême, j'ai découvert les Tortues Ninja à 12 ans. Et c'était les dessinateurs originaux du truc. Quand c'était pas. C'était pas connu du tout. Et c'est une BD noir et blanc, le gritty.
Ouais, c'est super crade en fait.
Enfin, c'est super avant l'animé, vraiment hardcore.
Ouais, c'est
vraiment, c'est du Revenger.
Et moi, j'avais trouvé ça tellement cool. J'avais ramené trop de merc, etc. J'étais trop content. Moi, j'étais un petit, quoi. Et bref, donc t'es à Angoulême.
D'Angoulême.
Donc tu fais. T'as ton lycée, enfin ta scolarité.
J'ai pas été jusqu'au lycée, mec. Moi j'ai fait mon collège, j'ai fait mon, mon BEPC, c'était à l'époque le truc après la troisième, quoi.
Ok.
Et en fait, moi.
Dans quelle spécialisation?
En BEPC, en fait, c'est qu'à la fin de la troisième, tu sais, tu passes ton diplôme de ton collège, en fait.
Truc d'école. Ouais, ouais.
Et en fait, moi à l'époque, quand j'étais à l'école, en fait, ça me gonflait vraiment d'être assis sur une chaise à écouter un mec.
Ce qui est un peu ce qui t'arrive aujourd'hui.
Ce qui arrive aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est quand même plus participatif que quand t'es en cours quand même.
C'est vrai, c'est vrai. J'espère.
En tout cas, tu peux plus s'exprimer quand même. Hein. Mais, en tout cas, ça me gonflait quand même pas mal au collège et je trouvais une issue en fait. J'essayais de chercher une issue.
Ok.
J'avais plein de trucs que j'avais en tête, mais bon, voilà, je viens d'une famille qui est pas très. Pas très modeste en fait, on va dire quoi. Et, j'avais pas trop grand choix quoi, j'avais plein de trucs que j'avais envie de faire mais que je pouvais pas parce que mes parents n'avaient pas forcément la thune et donc du coup je trouvais un truc pour moi pour m'émanciper moi-même et pas pour forcément passer 8 heures par jour derrière un bureau à écouter quelqu'un parler et donc j'ai choisi la cuisine, je ne sais même pas pourquoi maintenant en fait.
Okay.
Même maintenant je sais pas pourquoi je faisais la cuisine mais j'étais têtu à cette époque là, j'en ai parlé
que tu aimes bien manger.
J'ai bien mangé en fait.
C'est le moins pire peut-être à ce moment-là.
C'est juste peut-être parce que tous les dimanches, en fait, je viens d'une famille un peu, je suis de la campagne à Angoulême hein, quand même, et tous les dimanches, voilà, il y avait un peu le pot-au-feu du dimanche, ou les clafoutis du dimanche, ou les trucs comme ça, et j'aimais bien aider ma mère à faire la bouffe.
Okay.
Et c'est un truc que j'aimais bien faire à l'époque, quoi, et je pense que c'est pour ça que peut-être me suis orienté vers la cuisine.
Donc à l'époque, tu as quel âge?
J'avais 16 ans.
16 ans.
C'est 15 ans peut-être, même. J'étais à la fin du collège.
Et donc tu dis, la cuisine, on va tenter quoi.
En fait, j'étais vraiment, très irrégulier au collège. En fait, j'étais super bon dans ce qui m'intéressait et super mauvais dans ce qui ne m'intéressait pas.
On en connaît tellement.
Et les profs, ils me disaient, ouais, c'est quand je. À la fin, tu es un genre de conseiller d'orientation.
Ouais.
Et quand je disais, je voulais être en cuisine, et le mec, il faisait du gaspillage. Parce que t'as des capacités. Et moi, j'écoutais pas. Et j'en ai un peu rien à
brûler. Les capacités, tu les vois pas forcément quand t'es gamin. T'es en mode, mais nique ta mère, quoi. Genre, voilà, j'ai envie de faire ça, laisse-moi faire.
Exactement, c'est carrément ça. Et donc, du coup, je faisais la cuisine. Je ne sais même pas pourquoi à l'époque. Peut-être parce que, comme je disais tout à l'heure, j'avais bien aidé ma mère à faire la cuisine le dimanche, le pot-au-feu, les clafoutis et compagnie. Et j'ai choisi ça, j'étais tête de mule.
Et c'était un truc un peu plus concret, peut-être.
Ouais, et puis surtout, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que t'étais pas assis derrière une chaise, t'étais un peu plus actif, en fait, quoi.
Mmh. C'est ouais, ça que sortir de.
Sortir du, ouais, du truc un
peu. T'es amorphe, rien.
Voilà, faire, exactement. Quoi. J'étais le truc d'être un peu plus actif, ça me plaisait bien. Et d'ailleurs, je vais en parler justement, j'étais apprenti, c'est-à-dire que tu es une semaine à l'école, une semaine dans un restaurant, tu es obligé d'être dans le restaurant.
Okay.
Donc j'étais une semaine au restaurant, une semaine à l'école, à Angoulême,
okay.
Dans le restaurant, et tu travailles normalement comme un employé normal, okay. Pour que dalle. À l'époque, c'était au mois, je devais gagner peut-être 1600 francs.
Maintenant,
donc,
c'est
en euros, ça doit être 200 euros peut-être au mois.
Ah ouais, ça a augmenté depuis, c'est 400 euros les apprentis maintenant.
Mais maintenant, la première année, j'étais chez mes parents, ils m'ont acheté mon scooter pour me déplacer, moi j'ai acheté mon essence et tout ça après, okay. Mais en tout cas, les besoins vraiment primaires, c'était mes parents.
Mais j'étais apprenti donc dans un restaurant et le premier truc que j'ai vécu dans un restaurant, ça m'a marqué en fait dans ce restaurant, c'est le rush. Okay. Le rush, c'est-à-dire tu es dans un service et tu as des bons qui arrivent. Et hop, je veux ci, je veux ça. Les bombes, donc c'est quand les gens ils commandent, voilà, t'as un menu, t'as ton entrée, ton plat, ton dessert. Et,
non, c'est les commandes
arrive,
en fait.
C'est les commandes, voilà, c'est les commandes qui arrivent et ça arrive un peu comme ça. Bon, voilà, t'as un restaurant, t'as un menu et ça arrive un peu au hasard, quoi, tu vois.
Et t'as un coup de rush
à peu près. Un coup de rush et moi j'adorais ça en fait. Ce coup de rush en fait, quand t'as été pendant le service, où on te demande ça, ça, ça. Et là j'étais content, tu vois, de bouger mon cul et. Même limite d'être débordé en fait. Quoi, tu vois.
Un peu hyperactif quand c'était gamin, peut-être aussi.
Peut-être, ouais, je pense. Ouais. Je sais pas que j'ai pas été diagnostiqué.
Ah, c'est pas ce que je veux dire.
Mais ouais, j'étais super énergique en fait. Okay. Quoi. Et le premier truc, la première expérience que j'ai eu dans ce restaurant, c'était ça. Et ça que j'ai aimé en fait, c'est le rush quand t'es dans le service. C'est pas la mise en place quand tu prépares tes oignons ou machin. C'est vraiment le moment où t'es dans le service, où les gens ils commandent.
Et
tu dois sortir. Ouais, c'est la guerre et tu dois sortir ton truc jusqu'à les mecs, ils ont en plus. Le lunch, ils n'ont pas le temps, quoi. Tu vois, les mecs, ils ont eu une heure pour bouffer. Et t'es là, quoi. Tu vois, et ça, j'ai aimé ça. Mmh. Et c'est la première expérience que j'ai partagée avec mes parents. Et je lui ai dit, putain, en fait, je kiffe ça parce que c'est pas forcément à l'époque, c'est pas forcément faire des plats raffinés ou machin. Mais c'était le truc où putain, tu tapes dedans, quoi.
Ok.
Et ça, j'ai kiffé ça. J'ai kiffé ce truc.
Et donc, de là, qu'est-ce qui a fait que t'es venu au Japon, par exemple?
Attends, doucement. Il a 16 ans.
J'ai 16 ans. À l'époque, j'étais apprenti. J'ai eu mon BEP. J'ai travaillé dans multiples restaurants. Enfin, j'ai bougé à La Rochelle après. J'ai travaillé dans un restaurant à La Rochelle.
Donc, pas très loin d'Angoulême.
Pas très loin d'Angoulême, mais une ville super plaisante que je conseille à tout le monde. Okay, moi, si je m'installe un jour en France, ce sera là.
Je connais que le Grand Pavois.
Mais
mais du coup t'as fait du comment on appelle ça du j'ai oublié le mot mais bref c'est t'as fait de la saison en gros
moi j'étais dans les restaurants, j'ai eu mon BEP voilà à l'école en apprentissage, j'ai eu mon BEP à la fin et après j'étais employé, donc j'étais en gros commis.
Donc à quel âge?
18 ans. Okay. 18 ans, j'étais commis dans un restaurant à La Rochelle.
18 ans, commis cuisine.
Et du coup, tu fais pas de la saison, tu es vraiment dans un restaurant.
Je suis dans un restaurant, en fait, je suis dans un hôtel-restaurant, un hôtel 3 étoiles qui s'appelle Résidence de France, qui n'existe plus maintenant, mais où le prof, il ressemblait vachement, pas le prof, mais comment dire, le directeur ressemblait vachement à Le Pen. En fait, j'ai plein d'anecdotes.
Physiquement,
et même, mais même dans sa façon de parler, en fait, le mec, en fait.
Politique.
Bon, je crois, ouais. En fait,
avec la ressemblance, bon.
En fait, il y avait un peu package, en fait, quoi. Et, le mec, il me faisait, oui, je veux mes huîtres, vous voyez. Tu vois, il était comme ça. La façon de parler et tout. Et la gueule, un peu avec la. Tu sais, la. Comment dire, la mâchoire en avant. Pas l'œil de verre, mais la mâchoire en avant. La mâchoire du bas, un peu en avant, comme ça, tu sais, vous voyez. Et c'est pas très radiophonique, mais bon, je pense que tout le monde veut le percevoir.
Ouais, ouais, t'as fait.
Peut le percevoir, mais voilà. Donc, j'étais à Résidence de France, voilà, qui était un hôtel 3 étoiles à l'époque. Et donc,
mais qui était bien, qui était une bonne expérience.
Qui était une bonne expérience, voilà. J'ai bien vécu, j'ai rencontré la plupart de mes potes là-bas, des bons potes, mais que je peux considérer comme ma famille maintenant. Et après, un de ces bons potes a bougé à Lyon, et moi, je suis resté dans cet hôtel encore un an de plus.
À Lyon,
et le mec,
la
je voulais
famille,
bouger.
Quoi.
J'avais, en fait, moi, je suis un mec assez. Sentimental et quand j'ai des ruptures, j'aime bien tout plaquer et me barrer ailleurs.
Ok, reset quoi.
Reset et je zappe et je me barre ailleurs. Et okay. Ce jour, en fait, voilà, j'avais une copine à l'époque,
okay.
Elle m'a plaqué et reset, mon pote avec qui j'ai bossé à cette résidence de France, qui était à Lyon depuis un an, il me fait
donc,
ouais,
tu sais, je t'attends.
J'ai une coloc, on a une chambre de libre, si tu veux, tu viens à Lyon quand tu veux.
Et Lyon, la famille quoi.
Et Lyon.
Bon, ça suffit les Lyonnais là.
Et donc je suis allé à Lyon comme ça parce que rupture, parce que j'ai envie de tout plaquer, parce que voilà. Et
donc là
à Lyon.
Tu as 19.
J'ai 20 ans à peu près.
20 ans.
Ouais. Et puis pour le taf, Lyon, si tu bosses dans la métier
mec,
bouche, ça, il n'y a pas de souci.
Et le mec, il avait un taf pour moi, il avait la chambre pour moi dans la coloc. On était en plus place Toby Robatel qui est dans le premier arrondissement. C'était assez classe quand même quoi. On avait un bel appart.
Sur la presqu'île, t'es bien.
Voilà, on est un bel appart au sixième étage d'un bâtiment place Toby Robatel qui est. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, c'est assez classe quand même, quoi. C'est à côté de la place Zétéro, on est bien.
En gros, tu es sur le plein centre, sur ce qu'on appelle la presqu'île à Lyon, et c'est le
ça,
top.
Ouais.
Quoi.
On était là donc en coloc, quoi, dans un grand appart, et donc je vis ma vie à Lyon. Je fais son taf 6 mois parce qu'en fait, c'était un taf sur une péniche.
Okay.
Et qui c'est un navire inter pour ceux qui connaissent.
Je connais, mais genre Quai du Rhône du coup.
Mais ils faisaient les deux, mais moi,
bah, pour moi, c'est chez la Sun.
Bah, si, si. La Sun, t'en
as un. Le navigateur, il avait que deux. Enfin, il avait son Rhône.
Autant point.
T'as Ketson, mais les trucs les plus connus sont Kedurone. Hein. Franchement, Ketson. Bon, maintenant ça se démocratise, mais Kedurone c'est le mieux.
Très longtemps, je suis parti.
Moi, Kedurone, okay. Voilà.
Donc tu bosses sur la péniche un petit peu.
Péniche, vite fait, 6 mois. Après, je trouve ma voie, je trouve d'autres petits restaurants. En fait, quand t'es en cuisine, en fait, c'est. Enfin, moi, ma pensée à moi quand t'es en cuisine, c'est de faire plusieurs expériences. C'est-à-dire que tu peux autant travailler en traditionnel qu'en gastronomie, qu'en brasserie. Et moi, je cherchais ça, en fait. Je me cherchais, en gros, culinairement parlant, professionnellement parlant.
Bien sûr, c'est intéressant.
Et donc, j'essayais plein de trucs.
Donc, t'as fait plusieurs trucs.
J'ai fait plusieurs restaurants. Même à La Rochelle, j'ai travaillé dans ce restaurant semi-gastronomique. C'était un semi-gastro, donc c'est du traditionnel amélioré, on va dire.
OK.
Quand j'ai travaillé à la Naviguinter, donc à la péniche, c'était plus du traditionnel, on va dire. Et j'ai continué à chercher. J'ai fait de la brasserie, j'ai fait du... pareil,
Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es trouvé?
J'ai trouvé un restaurant qui s'appelait l'Hostel, qui était sur la Presqu'île, dans le deuxième arrondissement, sur place de l'hôpital, l'hôpital Dieu, l'hôtel Dieu.
À l'hôtel Dieu, qui est un monument historique d'ailleurs, qui est ouf. Quoi.
Mais... Moi j'étais, il y a une grande brasserie qui s'appelle le République en fait, et c'était juste à côté du République. Je pense que les Lyonnais, tout le monde connaît le République.
Ah ouais, c'est super connu.
Donc tout le monde connaît le République, et l'Hostel c'était à côté, et j'ai bossé là, et c'était sur Migastro, et j'ai kiffé être ici autant humainement parlant. Culinairement parlant, j'ai kiffé réussir. Alors, du coup, ici dans ce restaurant, j'ai servi plein de on va dire stars entre guillemets de gens connus.
Parce qu'il y avait name drop
à ce moment-là, c'était l'OL, donc j'imagine que c'était
déjà il y avait Olas et compagnie. Voilà. J'ai servi beaucoup Olas et l'équipe de Lyon qui a gagné beaucoup de championnat à l'époque. Et en fait, faut savoir que dans la rue de la République, qui est à côté donc de la place de l'Hôtel Dieu, il y a un cinéma pâté,
oui, c'est vrai.
Un gros cinéma pâté. Ouais.
Qui est juste à l'entrée de Bellecour, en fait.
Exactement, c'est ça. Et donc, le restaurant...
En face de la Fnac, non ?
Ouais, c'est juste à côté de la Fnac, quoi.
Et le restaurant où je travaillais, c'était là, une rue derrière, en fait, du pâté, en gros. Une petite rue qui était derrière le pâté.
Et il y avait beaucoup... Tu servais du pâté. pardon. Ignore-moi.
Et donc, du coup, il y avait beaucoup d'avant-premières avec les équipes du film et tout dans ce cinéma-là. Et donc, j'ai fait à manger à plein d'acteurs. Je sais pas, Marion Cotillard... comment s'appelle la meuf? Putain, j'ai oublié le nom, là j'ai un trou. La meuf dans Les Visiteurs.
Muriel Robin.
Non, pas l'autre.
Comment ça s'appelle?
Valérie Le Mercier. Le mec, en fait, ils ont fait un film tous les deux avec le mec qui est dans Matrix aussi. Lambert Wilson. C'était un truc un peu apocratique le film. Enfin bref, j'ai fait manger aussi à des politiques, genre le grand premier ministre à l'époque, comment il s'appelait là, le grand...
De Villepin,
j'ai fait manger avec Albert, avec Gad Elmaleh qui à chaque fois passait dans Lyon, c'était toujours à l'hostel, au restaurant où je bossais, Gad Elmaleh, j'ai beaucoup bouffé à Gad Elmaleh. J'ai bu un verre avec Bruno Solo et son pote de Caméra Café.
Je vois, putain, j'ai plus le nom.
J'ai un trou aussi, putain, j'ai du mal, hein, c'est la boisson. Enfin bref, en tout cas, j'ai bossé 3 ans là-bas. Et en fait, le truc qui m'a déclenché le Japon, on va en parler, ça vient de là. C'est à côté de l'Hostel, il y a un petit troquet qui s'appelait le Broc Café, qui est aussi assez connu aussi à Lyon. Et un jour, on était en panne de je sais plus quoi, et je vais dans ce Broc Café, je fais, ouais, je vais pas me dépanner un truc, dans la cuisine, et il y avait une petite japonaise ici. Alors à l'époque, je savais pas que c'était une japonaise, une petite asiate. Moi, j'avais fait le jaune, je disais tout à l'heure. Une petite asiate bien.
Déjà
bien.
À l'époque.
Ah, mais, toujours. Moi, depuis les films de Bruce Lee, quand j'avais 8 ans, je kiffais les petites chinoises qu'il y avait dans les films de Bruce Lee. C'est sa meuf qui l'a dans Big Boss, sa petite copine, elle est trop belle. Enfin bref, il y a un coup de foudre pour cette meuf-là à l'époque, quand j'avais 8 ans. je battais les films de Bruce Lee, j'étais fan des films de Bruce Lee. Et dans Big Boss, la petite copine qui l'a dans Big Boss, c'est une beauté, quoi. C'est une déesse.
Ok.
Et bref, je vais dans ce restaurant-là à l'époque et je vois cette meuf-là. Et ça fait vraiment comme dans les films à cette époque, le truc ralenti, tu sais.
En slow motion
et je vois cette meuf.
La meuf, elle a les cheveux qui bougent un peu comme ça là, tu vois.
Un peu, ouais, un peu dans le genre. Elle était trop belle. Et en fait, je la date et moi, en fait, elle était un peu.
Tu la date, genre comme ça, tu la vois dans le truc.
En fait, je la vois et tout, et je parle avec mon compte des copains quand même avec le resto d'à côté, le Broc Café, donc j'en parle, nanani, nanana. Et
t'es un peu aidé.
Fil en aiguille, ça se passe que je la date. Et on se date justement dans le Broc Café après mon service.
Ok.
dans le bar café, on boit un verre avec la meuf, Keiko, elle s'appelait.
Et là, tu te dis, putain, elle est japonaise.
Et en fait, à l'époque, vu que sa gueule qu'elle avait, je crois qu'elle était vietnamienne, parce qu'elle était un peu tan skin, quoi, tu vois, enfin, comment on dit, bronzée un peu, un peu petite, elle faisait 1m45, 35 kg, genre, tu vois, le truc, quoi, elle avait un petit gabarit. Ouais, dans ma tête, elle était vietnamienne dans ma tête, quoi. Elle était trop belle, elle était toute petite, comme j'aime. Et bref, et cette meuf-là, elle se trouve qu'elle était japonaise. On sort ensemble pendant 2 ans et demi, 3 ans.
Ah, quand
on habite ensemble, ouais. On habite ensemble, tout ça. Et un jour, elle me fait, ouais, je vais au Japon, machin. Et elle va au Japon, et je fais, bon, je te rejoins. Attends-moi, je fais mon visa. Et c'est ce que je fais. Putain, je fais tout en route.
Vraiment des histoires
comme ça. Working holiday à ce moment-là.
En fait, non, le truc, je raconte mon histoire. On était à Lyon, et donc il y avait au Japon, et je fais, je te rejoins. Et je quitte mon.
Elle était de Tokyo ?
Elle était de Tokyo, et elle habite à Ikaregaoka. Voilà.
T'as besoin de la haute son adresse.
Mais sur le bout de la haute de Seine.
Alors le Ichiome, non.
Mais enfin bref, voilà, c'est une Tokyo Hit, quoi. Et je retourne au Japon parce que voilà, je vais voir ma famille, mes amis, nanana. Et je fais, bon, bah attends-moi, je fais mon visa et machin. Et en fait, je travaille pour faire mon Working Holiday, comme tu disais tout à l'heure. Sur, moi, je rends mon appart à Lyon, je rentre chez mes parents, je travaille à Angoulême, ça me fait chier, mais bon, je le fais pour la bonne cause. Je suis chez mes parents, je travaille dans un restaurant de merde à Angoulême. Et je, voilà, j'économise, je vais en coloc après à La Rochelle entre temps pour, voilà. Et en fait, il se passe un truc que peut-être la France a oublié, mais il y a une grosse tornade qui est passée qui s'appelle Xintia. Et moi, j'étais inondé dans mon appartement, en fait. J'étais inondé à 1 mètre d'eau dans mon appart.
Tu étais chez tes parents?
J'étais en coloc, en fait, dans un duplex à Boucheleur.
C'est un truc qu'on oublie, mais c'est qu'en France, on a eu beaucoup d'inondations sur les dernières années, pour des tornades, trucs comme ça, surtout dans l'ouest de la France.
En fait. Et donc, j'étais un peu, entre guillemets, une victime de ça, de la tornade Xintia. il bouge son cul parce qu'il a mal au cul.
J'ai trop mal au cul, ça.
Et donc, bref, en fait, le truc, c'est que j'ai économisé de l'argent, et en plus d'économiser de l'argent, en fait, grâce à cette tempête Xintia, en fait, avant que Xintia, en fait, j'ai oublié, c'est que la meuf que je devais rejoindre, moi j'avais tous mes papiers de visa remplis. Ouais. Et 2 semaines avant que j'aille au consulat à Paris, parce que j'étais à Angoulême, donc bon, j'étais dépendais du consulat de Paris, elle me dit qu'elle est enceinte de pas de moi, d'un autre mec.
Ah merde! Ah putain!
Et donc je suis rentré en déprime pendant 2 ans.
Attends, elle était rentrée au Japon depuis combien de temps?
Depuis 6 mois, 8 mois. Quoi.
Donc et en moi, gros, elle t'a annoncé qu'elle t'avait trompé avec un autre.
Exactement,
gars,
et moi j'avais mon visa à 2 semaines près, À 2 semaines près, moi j'avais mon billet de train, j'avais tout. Mes papiers pour le visa, j'avais la thune, j'avais les papiers.
En fait, j'avais mon billet pour elle à la base.
Et j'y allais pour elle. Et j'avais mon billet de train pour le Paris, donc pour le consulat japonais. Pour mes jours de repos, en fait, je calais ça avec mes jours de repos. J'avais une vie, tout à fait. Et donc, j'avais mon billet de train à 2 semaines près. Et à 2 semaines près, elle me fait, ouais, je suis enceinte de pas de toi. Et
Fred, t'as quand même parlé pas mal de jeux vidéo depuis tout à l'heure. T'es quand même un peu intéressé par le Japon à la base aussi.
Carrément, ouais. Depuis gamin, quand même, le jeu vidéo, c'est maintenant. C'est une de mes passions, les animés. Mmh. Tout le monde, voilà, on est génération 4 Dorothée.
Est-ce qu'on peut dire que t'es un petit peu otak? C'est la question que je pose à tout
carrément,
le monde.
Ouais, carrément. Carrément, okay. Je pense.
Bien sûr, mais je pense que le sorte de coup de poignard de ta meuf qui te dit ça, genre, c'est genre.
Fait mal au cul,
En fait, je suis rentré en déprime pendant 2 ans où j'étais vraiment pas moi.
Donc, tu avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 27, 28 ans peut-être. Okay. 27 ans, 28 ans.
Ouais, donc, t'étais pas si jeune que ça non plus.
Pas si jeune que ça. Et après, donc pendant 2 ans, j'étais en grosse déprime, machin, quoi. Mmh.
Vraiment. Tu as encore des nouvelles de ton ex?
Je dis vraiment ou je la baise encore?
Non, mais c'est comme tu veux.
J'ai des nouvelles récemment, ouais.
Bon, tu la détestes, ça va, c'est du
à l'époque, ouais. Non, à l'époque, je la détestais vraiment. À l'époque, j'avais envie de l'égorger. Hein. Lui et son mec, sa famille, ses gosses, tout ça, quoi. Non, ça va. En fait, le truc, donc, je continue vite fait sur la lancée. Donc, du coup, 2 ans de déprime, nanani, je fais ma life, et puis finalement, j'essaie d'aller au Japon parce que Xintia, donc j'en viens, j'avais économisé de l'argent déjà à l'époque pour ça. Donc, j'annule mon billet d'avion pour le. Working Holiday, je fais mes 2 ans de déprime et puis bon, comme j'ai quand même de la thune de côté, Xintia, j'ai un peu falsifié les assurances, ça, j'ai quand même rassemblé pas mal de thunes, enfin on s'en fout. J'ai quand même pas mal de thunes avec ça et du coup j'ai décidé sur mon Working Holiday, je suis venu au Japon, elle m'a accueilli. Mon ex m'a accueilli au Japon.
Qui était marié.
Qui était marié avec des gamins qui m'a accueilli à Narita quand je suis arrivé.
Ah bah ouais, bon, non.
Donc,
bon, ça va, il y a quand même quelque chose à se faire pardonner.
Je pense, ouais.
Carrément, je pense, ouais.
Ouais,
bah,
mais moi, après, en fait le truc pourquoi je suis parti au Japon, c'est que la rupture s'est passée à 10 000 bornes. C'est-à-dire que moi, en fait, quoi, autant je l'ai mal pris, mais je l'ai mal pris, en fait, j'avais vraiment besoin de l'avoir. Autant que ça se finisse, autant qu'on se dise merde entre casieux, quoi.
Ok.
Et en fait, ça, c'est 50% de mon leitmotiv de pourquoi je suis venu au Japon.
C'est-à-dire,
c'est-à-dire que 50%, c'est la passion que j'ai eue pour le Japon par rapport aux jeux vidéo, aux animés que j'ai regardé tout en tant que gamin. Et les autres 50%, c'est que j'avais envie de la voir et de lui dire merde, en tout cas, Dieu. Quoi. Parce que les mails sur Gmail, parce qu'à l'époque, Internet, t'avais MSN, moi à l'époque, hein. À cet âge-là, tu avais MSN.
Il y avait le Minitel aussi, rappelle-toi.
Mais on n'était pas. C'était encore en plus vieux. Mais il y avait MSN, tu avais Gmail, il n'y avait pas tous ces trucs genre FaceTime ou Skype.
T'avais même pas
ou
Gmail, hein. C'était MSN et Hotmail.
Si,
hein,
si, t'avais Gmail quand même. Si,
t'avais Gmail, c'était en quelle année ça?
C'était avant que je parle. C'était en 2008, un truc dans le genre, 2008-2007.
Ah, ok, ouais, donc Gmail était là, ok. Mais moi, je pensais encore en
2008, ouais, mais
1963.
Non, mais non, tu me parles de. Tu me parles
de. Ouais, Fred,
mec. Fred a 73 ans. Ouais, tu parles de pour les écouteurs.
Non, non, mais 73
mec,
ans.
Mec, tu me parles de MSN. MSN, c'était avant Gmail. Hein. C'était...
Ouais, vraiment, il n'y avait pas 1000 options.
Il n'y avait pas Skype, voilà, il y avait 1000 options de. Comme de aujourd'hui, chat, FaceTime, Skype, Zoom,
WhatsApp,
tout ce que tu veux. Enfin, voilà. T'avais vraiment. T'étais assez limité.
Donc, attends, je reprends.
Ouais.
Donc, t'arrives. Vas-y.
Au Japon.
T'arrives au Japon.
En 2010, le 1er décembre 2010.
Le 1er décembre 2010, ouais. Donc tu arrives au Japon, elle t'accueille,
ouais.
Et donc elle est mariée.
Elle est mariée avec
un
gamin.
Français.
Non, avec déjà un japonais.
Mais alors comment.
Et son mari, il a rien dit.
Ah, elle l'a connue en France alors.
Non, elle l'a connue au Japon. En fait, c'est quand elle est revenue au Japon, elle s'est.
Pas 8 mois, elle s'est 9.
Hein?
Non, rien.
Non, quand elle est revenue au Japon, elle s'est fait encloquer quand elle est revenue au Japon.
Le temps immédiatement, quoi.
Quand moi, je bossais comme un gros connard pour faire mon visa, elle s'est fait engrosser pendant ce temps-là, quoi.
Bon, mais le mec, il a rien dit, il a pas moufté quand direct t'es arrivé.
Après, le mec, c'est il taffe, c'est commencé au Japon, le mec, il taffe, ouais, la meuf, elle a du temps libre, j'en sais rien, quoi. Après, je suis pas dans sa life, quoi. J'avoue que pour à cette époque-là, je...
Okay. Donc, 2010, t'es arrivé au Japon.
Ouais.
Cuisto. Plein d'expérience.
J'ai un taf que j'avais trouvé sur internet. Elle m'avance jusqu'à ma guest house que j'ai trouvé à l'époque. C'est elle qui me montre où c'est, machin.
Elle t'a aidé quand même.
Ouais, m'a aidé un peu. Mmh. Je pense que, comme disait un peu
la
Ludo,
culpabilité.
Et que le fait que je venais au Japon, en fait, comme je disais qu'elle venait au Japon, qu'elle me croyait pas, le fait que j'y sois, en fait, elle se sentait un peu, entre guillemets, pas responsable, mais un peu.
Un peu merdeuse.
Le cul merdeuse.
Ouais, voilà. Un peu merdeuse. Un peu ça.
Le cul un peu plein de merde, quoi. Non,
un peu. Donc, elle m'a filé quelques coups de main au début quand je suis arrivé, quand même, quoi. Faut pas le nier. Mmh. Et j'ai vécu pendant quasi un an dans une guest house. C'est super bien passé. Il y avait plein de gaijins qui ont vécu dans la guest house où c'était un peu merdique. Moi, pour très très honnête, j'ai vécu 11 mois dans cette guest house, c'était la fête quasi tous les jours. Hein. Quand je dis ça, vraiment, c'est vraiment quasi tous les jours, t'avais une teuf.
Mais c'est le bon truc et le mauvais truc aussi des guest house, en fait.
Moi, j'ai vécu comme un bon truc. Parce que j'avais un taf en baïto, je bossais la nuit.
Ça veut dire quelqu'un qui est dans une guest house, qui cherche un truc un peu sérieux, etc. C'est la fête tous les jours, il en peut plus, quoi. Et au bout d'un moment, il dit, ah non, les gars, j'ai envie que ça se calme.
Moi, franchement, j'étais dans le mood. Putain, je suis enfant au Japon et j'ai envie de m'éclater, en fait, quoi.
Toi, tu voulais venir ici depuis un petit moment, quand même.
Ouais, carrément. Tout, ouais. Carrément. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est que ma meuf, c'était 50% du leitmotiv, mais il y a les 50% autres, il y avait plein de trucs qui me motivaient. Hein. Je pense qu'on est tous de la génération Club Dorothée.
Ouais,
voilà, Secret of Mana, Chrono Trigger, Final Fantasy, enfin, tous ces jeux-là qui ont bercé notre enfance et notre adolescence et des animés.
C'est que moi je faisais des RPG japonais en japonais et à l'époque je comprenais pas.
Pareil.
Donc je faisais tous les trucs. Je essayais de parler à tous les NPC.
Et ça débloquait des trucs.
Ça débloquait des trucs, mais tu savais pas quoi.
Tu savais pas.
Mais ça les débloquait. Et donc j'ai fini des jeux. Mais oui, en aveugle.
Mec, check, parce que c'est pareil. Hein. En fait, dans l'histoire, dans ma jeunesse, j'ai eu un pote, mes frangins, qui sont un peu 6-7 ans plus vieux que moi, qui avait un pote qui était un peu richou et qui avait un peu toujours les nouvelles consoles, les nouveaux machins. Et il avait donc à l'époque, hein, la Super NES avec l'adaptateur pour jouer aux jeux US et japonais. Et donc, j'avais joué à Final Fantasy en japonais, comme toi, un peu à tâtons. J'avais même pas le RPG, je connaissais pas du tout.
À l'époque, ça me faisait chier parce qu'il fallait marcher, parler à des gens, je comprenais pas. À l'époque, t'étais plus dans le beat'em all ou les shoot'em up. À l'époque, dans les années 90 en Europe.
Quoi. Le type de jeu le plus actif, c'est
exactement.
Sûr.
Exactement. À l'époque, t'étais plus dans le beat'em all et les shoot'em up en Europe, quoi. Et l'RPG à l'époque, mais j'ai un peu comme toi, à tâtons, bref. Et donc, du coup, je suis arrivé au Japon en 2010. J'ai bossé dans des restaurants français un peu, voilà. J'ai tâtonné et un jour, je me suis dit, voilà, quitte à être au Japon. Autant bosser avec des Japonais, quoi. Enfin,
tu as tatouné. Je vais reprendre ce mot.
J'ai tatoué.
On va le garder pour, je pense, peut-être pour le titre. Quoi,
très sûr.
J'ai tatouné.
J'ai tatouné. Je me suis dit, si je suis au Japon et que je bosse avec des Français, ça. Autant rester en France, je me suis dit, en fait. Ouais, c'est tout con, mais...
Ce qui n'est pas faux.
Au bout de combien de temps?
Hein?
Au bout de combien de temps?
Bah, 11 mois, en fait. Le truc qui m'a foutu au pareil, un autre coup de pied au cul, c'est que la boîte pour laquelle je bossais, fermée, en fait, c'était un... Comment expliquer ça? C'était un laboratoire qui...
Hein? Pas de nom.
Pas de nom, mais c'était juste un laboratoire qui distribuait... En fait, il y avait plusieurs shops dans le Tokyo. Et moi, j'étais dans la cuisine de ces shops, en fait. Moi, je faisais la cuisine dedans. Et après, il y avait un livreur qui livrait dans les multiples shops qu'il avait au Tokyo. Donc, on appelle ça un laboratoire, un kojo en japonais.
Une usine en japonais.
Ben, c'est pas vraiment une usine parce que voilà, c'était un petit shop quand même. Hein. Il y avait 4 petits shops ou 5 à l'époque. Et, et en fait, le mec, il y a eu le Fukushima.
J'étais là...
Moi aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Ben ouais, j'étais là et il y a eu Fukushima et en fait, ben voilà, il était obligé de fermer des shops et donc de licencier entre guillemets, des gens.
Tu
et
faisais
moi.
Quoi le jour de Fukushima?
Le jour de Fukushima, j'étais au taf. Moi, ah non, pardon, je bossais la nuit moi. Donc le jour de Fukushima, quand ça tremblait, je dormais. Il était 2h de l'après-midi. Ou
non, c'était un vendredi.
Est-ce que ça t'a réveillé?
Oui, ça m'a réveillé. Moi, je bossais de nuit, donc en fait, j'ai bossé à 5h du mat. Ah, et donc je dormais et ça m'a réveillé. Oui, il y a eu un gros tremblement de terre. J'étais dans ma guest house et il y a un gros tremblement de terre. Et je me réveille, j'étais dans mon pieu. Et en fait, ma guest house, je me réveille, j'ouvre les yeux et en fait, je vois le tremblement. En fait, je sens le tremblement, je le vois. Et je vois le mur de se fissurer à côté de mon lit.
Ah putain.
Et je vois un truc, un fissurement se faire à côté de mon lit. Et je dis là, t'as la tête dans le cul, mec, tu te réveilles, il est 2h l'après-midi. Et tu dis, putain, faut que je me lève, faut que je me casse.
Pas, quoi.
Parce que je comprends pas, parce que, mais là, il se passe un truc de grave. Et j'arrivais pas à marcher, en fait. C'est le truc, c'est en fait, pour les écouteurs, quand t'es en France, on se rend pas compte ce que c'est un tremblement de terre. Un tremblement de terre, c'est pas un truc qui bouge de gauche à droite, c'est aléatoire. Et surtout, ce jour-là, ça peut bouger de n'importe quel sens. Et en fait, tu peux perdre ton équilibre. Assez facilement, ça bougeait assez fort.
Tu sais, moi, la première fois, j'ai... Encore une fois, je suis désolé, je saoule peut-être les gens, mais la première fois, j'ai vécu un tremblement de terre ici, et j'habitais pas ici encore. Et donc, je marche dans la rue, et d'un seul coup, je me casse la gueule, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, j'ai un problème à l'oreille interne. Comme je suis un petit peu hypochondriaque, je me suis dit, putain, c'est moi, ça y est, c'est sûr, je suis vieux, je suis foutu, ça. Et après, y a ma copine de l'époque qui me dit « Ouais, t'as senti le tremblement de terre ?» Je fais « Ah, c'est un tremblement de terre !» Et en fait, effectivement, ouais, ça, ouais. Tu sais pas, ça peut, comme tu dis exactement, ça peut te venir d'un côté ou d'un autre. Et en plus, à l'époque, tu te rappelles, je suis sûr, mais il y a eu le premier jour. Et après, ça a duré
pendant des semaines. Ouais.
T'as deux, trois semaines. Ouais. Et tu marches dans la rue et dans ce coup, boum!
Ouais, c'est ça, carrément. Mais ce jour-là, en fait, c'est ça, c'est que, juste pour les écouteurs, c'est-à-dire que le tremblement de terre, c'est pas habituel peut-être, mais moi non plus, c'est mon premier tremblement de terre au Japon, c'était Fukushima, quoi. C'est-à-dire que moi, pour moi, les tremblements de terre au Japon, c'était ça, quoi. C'était la base, quoi, tu vois, c'est le premier truc que tu
la
vis.
La base, c'est ça.
La base, c'est ça. Ah ouais, ça rigole pas au Japon quand même, tu te dis, quoi. ah ouais, je comprends, en fait, quoi.
Moi, les tremblements de terre au Japon, au début, ça me faisait marrer. Je disais, ouais, tremblements de terre, bon.
Mais moi, ça me fait encore marrer, c'est ça qui
m'arrête. Ouais, parce que toi, t'as pas vécu Fukushima.
Parce que j'ai pas vécu Fukushima. Et justement, tout le monde me dit ça. Et j'ai hâte de vivre.
Moi, j'ai plus hâte, moi. J'ai plus hâte du tout, quoi.
Moi, j'étais dans ma tour à Roppongi, mon pote. Et quand il y a la raffinerie de Chiba là, qui a pris feu, je me suis dit, ça y est, c'est fini.
The end of the world.
Ma vie, non, je me suis dit, ma vie est finie. Je vais crever ici. Cool. Enfin, pas cool, mais j'étais résolu, toi. Tu vois ce que j'ai. Et je me tape les 26 étages là, comme ça, avec la petite meuf avec qui je parle avant. Je dis, tu crois qu'on va mourir? Elle me dit, ouais, je sais pas, enfin bon, va savoir. Là, elle était japonaise. Elle me dit, ouais, non, c'est bon, t'inquiète.
Elle est traîne depuis qu'elle est gamine.
Moi, à l'époque, en fait, quoi, tu vois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était mon premier tremblement de terre au Japon. Et sur le coup, ça fait super peur. Et comme j'ai dit, j'ai mon mur qui a fissuré devant mes yeux. Ouais, j'ai essayé de me lever, je me suis cassé la gueule.
Non, j'imagine pas en fait.
Je me suis cassé la gueule en sortant de mon lit parce que ça bougeait dans tous les sens. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça bouge pas que de gauche à droite, genre comme on peut s'imaginer, mais ça bouge dans des sens aléatoires. Et tu sais pas quel équilibre prendre. Et je me suis cassé la gueule, j'ai même pas réussi à sortir de ma chambre avant que ça se calme. Pour vous dire, alors, c'est pas seulement parce que j'avais la tête dans le cul, mais c'est parce que ça bouge tellement dans tous les sens.
Non, mais même
Peu des deux, ouais.
Un petit peu des deux, mais je pense que...
T'étais à 3 grammes encore, tu peux nous le dire.
Non, je bossais, mec, donc c'est pas
mon,
ça.
Mon micro-ondes s'est suicidé, tu vois.
Comment
mon micro-ondes, tu vois, t'as un frigo, imagine un frigo, ouais. Un micro-ondes. Le micro-ondes est posé dessus, tu vois.
Ouais, comme beaucoup de gens en font.
Au Japon ou peut-être
même
ailleurs,
dans le monde. Hein,
bon. Le micro-ondes, il a sauté.
Il a fait « c'en est fini pour moi ».
Avec les secousses, et je parle pas du style de musique de la Martinique. Je parle des vraies secousses, quoi. Non, vraiment, non.
Enfin, non, mais vraiment, ce jour-là, c'était...
Ah, mon Dieu. Ouais. Moi, je me suis dit, le monde est... Enfin, moi, en fait, quand j'ai évacué le truc et ça, je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais claquer. Je vais claquer. Bon, très bien, c'est pas grave. Ouais, bisous à mes parents. J'ai signé pour être ici. Je fais le truc. Je fais le truc jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça. Et après, donc, après, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien. Donc, je me suis dit, je vais à Shibuya.
Putain, c'est la rubrique de l'invité, c'est lui qui parle.
Ah, ouais, ça va. Vas-y, parle pas.
Vas-y.
Non, et je suis allé à Tatsuichi, normal.
Normal, ouais, après le volontaire. En fait, j'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire qu'après le volontaire, en fait, ok, une fois que ça s'est calmé, j'ai pu enfin sortir de ma chambre, je sors de la guest house, et j'étais entre un sentiment de peur et d'excitation, en fait. Quoi. Ce que je veux dire, c'est mon premier très beau volontaire. Quoi.
Exactement.
J'ai survécu.
Moi, je me suis dit, ouais, les gens, ils ont survécu à la mort, là, ils vont avoir une pulsion de vie. Il faut que j'aille à Shibuya, peut-être que je vais choper une meuf.
Est-ce que t'as baisé?
Non. Il n'y avait que des gajines qui regardaient...
qui voulaient baiser.
Non, pas du tout.
CBS.
Hein. Ouais, ils regardaient la chaîne d'info, etc. Voilà. Et tout le monde était traumatisé, mon pote.
Alors moi, le truc de Fukushima, c'est-à-dire qu'il y a eu tremblement de terre. Mm-hmm. Ce jour-là, en plus, à la guest house, on avait une soirée vodka. On avait une polonaise à la guest house qui devait amener la vodka et on avait une soirée vodka. Et donc bref, moi j'étais un peu finalement, après l'événement passé, j'étais un peu excité par le truc, putain, mon premier tremblement de terre quoi, tu vois, j'étais un peu excité. Et donc du coup, hop, torchage de vodka, et puis il y a un connard dans la soirée qui décide d'allumer la télé, et là un guest house, qui allume, je sais plus si c'est CBS ou un truc dans le genre, un peu une chaîne internationale.
Très bien.
Et là en fait, c'est là où je découvre en fait l'ampleur du truc quoi, c'est-à-dire qu'avant ça,
Moi, c'était juste
le fun en fait, quoi. Tu vois, j'ai survécu un gros tremblement de terre et voilà. Bah, et après, je découvre le truc de la centrale. Et là
avec ça m'a les vagues et aussi.
Non,
et
là, ça m'a fait flipper. Pas dit.
Moi, ça m'a fait flipper.
Je sais pas si c'est toi, c'est le vendredi.
Mais lui, il est CBS, quoi. Donc, non, c'est intéressant. Enfin, donc,
j'avais mon pote qui travaille qui est journaliste. Enfin,
ouais, c'est le jour même, hein, je te le dis. Hein.
Et moi, il m'a dit vendredi soir, genre, j'avais pas de nouvelles, rien. Nouvelle, de toute façon, Facebook, t'es mort. Tous les trucs, t'es mort. Le seul truc qui marchait était Twitter.
D'ailleurs, ça a été un gros truc. Tout le monde disait que Twitter
Line a existé à cause de ça. Bon. Et le lendemain, mon pote journaliste qui bosse avec la NHK, ça m'a dit casse-toi. Casse-toi maintenant. Parce que là, tu vois, le gouvernement japonais va faire un gros mensonge. Et vous allez tous vous faire bouffer dans un Tchernobyl, mais en mode plus, quoi. Et là, je fais, putain, non, je crois pas.
Tout le monde est à Kyoto, d'ailleurs.
J'ai pas cru. Ouais, j'ai cru. Le lundi, j'étais à Kyoto. Lundi, j'étais dans le Kansai.
Tout le monde était à Kyoto, au cas où.
Moi, j'étais à Kobe, hein, perso.
Ben voilà. Ouais.
Moi,
tout le monde m'a dit.
Tu te rappelles quand c'était Kyoto, quoi.
Tout le monde m'a dit on était à Kyoto. C'était comme si on était à Kyoto. C'est comme si Kyoto c'était Tokyo. En fait. Tu voyais tous les gens que tu connaissais à Tokyo.
J'étais à Osaka parce que je préfère Osaka parce que Osaka est la meilleure ville du Japon. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord.
Disclaimer.
Je vous retourne. Voilà. J'étais à Osaka, comme une fleur, et là je tombe sur une bande
de Gaijin, de je sais pas, de tous les pays et ça. Elles disent ouais, non, vas-y, comment on fait, hein? Et hop, on a tous pris un dortoir ensemble. Et on était tous ensemble. La vérité, il y avait des Australiens, il y avait des Belges, il y avait des Mexicains, il y avait tout le monde, quoi. Et après, le soir d'après, c'est un petit peu plus organisé, quoi. Mais ouais, non, pardon, excuse-moi, je te vole la vedette, frère.
Mais non, il n'y a pas de vedette à parler, c'est juste que tu racontes ton expérience par rapport à Fukushima, chacun a la sienne, je pense. Hein.
Mais du coup, toi, après Fukushima, justement, parce que t'es arrivé, c'était ta première expérience,
qu'est-ce que t'as fait, Fukushima, en fait
parce que beaucoup de gens se sont barrés, enfin, on fait « ouais, bon, je me casse ».
En fait, à l'époque, le truc, c'est que dans la boîte où je travaillais, donc le labo, on retourne là, le labo où je travaillais, en fait, je travaillais de nuit, et le fait qu'il y a eu Fukushima, ça a eu un peu de chance pour moi, parce que tous les mecs qui travaillaient le jour, ils sont barrés, en fait, c'était des Philippins, ou je sais pas quoi.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont flippé,
ils sont tous barrés, en fait, quoi. Même dans ma guest house, qui était toujours blindée, on était que trois, vraiment. Trois chambres, il y avait trois chambres sur peut-être... Il y avait quoi, peut-être une vingtaine, trentaine de chambres peut-être, quoi, dans la guest house où j'étais, et on était que trois chambres de...
Même pas que les Philippins, je pense que c'est beaucoup de gens.
Tout le monde, même à Shibuya, quand t'allais à Shibuya à l'époque, t'avais personne, t'as parlé japonais, hein. T'avais personne. Maintenant, tu vas à Shibuya, t'as que des gaijin, mais à l'époque t'avais pas un gaijin à Shibuya, quoi. Pendant 2-3 ans...
C'est qu'ils l'ont eu mauvaise à cause de ça,
parce que les gaijin, voilà, ils sont tous barrés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que Fukushima, il y a eu...
On les appelait les flyjin.
Ouais, c'est ça, ouais.
Tu te rappelles ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Je m'en rappelle. Et en fait, à l'époque, moi, en fait, le truc, c'est que ça faisait 3 mois que j'étais au Japon. Et tout le monde en France me disait, ouais, vas-y, rentre, machin. Ah, c'est,
Mais en France, on avait une information. Moi, je voulais venir au Japon cette année-là. Il y a eu ça, j'ai fait, bon, je repousse, parce que tout le monde me disait, non, vas-y pas, quoi.
Et moi, tout le monde me disait de rentrer et tout ça. Je me suis dit, Joseph, vas-y, c'est 3 mois que je vais là, ok. Non, mais il y a le gouvernement français qui envoie un avion gratos, machin. Je fais, ouais, mais bon, après, moi, j'ai pas tout pour retourner. Enfin, vous êtes gentil, mais en plus, ça fait 3 mois que je suis là, Joseph, tout le monde. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, à un moment, il y a eu un petit moment dans les news. En gros, on dit, ouais, peut-être que ça va exploser la réaction, la centrale nucléaire a peut-être explosé, quoi, tu vois. Donc à ce moment-là, je me suis dit, du coup, je vais aller à Kobe, quoi, tu vois. Pendant une petite semaine, je vais m'éloigner et puis on verra ce qui se passe. Et je suis resté une semaine à Kobe. Bon, il s'est passé que, voilà, c'est ce qui s'est passé, tout le monde le sait. C'est pas safe, mais en tout cas, ça n'a pas explosé. Et je suis retourné sur Tokyo, j'ai retrouvé mon taf et j'ai fait un taf de jour, du coup, parce qu'avant, j'étais de nuit, du coup, quoi. J'ai bossé à 5h du match, j'ai commencé à 9h. 9h, 10h le soir, je sais plus, mais je finissais.
Non, c'était mieux pour toi.
Et c'était mieux pour moi, et j'ai pu commencer à peu, entre guillemets, à vivre, à vraiment faire des fêtes et tout ça, machin. Et donc, j'ai rencontré ma femme, qui est maintenant ma femme.
Comment tu l'as rencontrée, Lulu ?
Dans une soirée de la guest house, Sakura House, pour le nommer, qui faisait à Kyobukuro à l'époque, et c'est une soirée française. Donc,
soirée internationale.
Internationale partie, et là, c'était axé sur les Français. Et le pire, c'est que cette journée-là, ce jour-là, j'avais fêté à Donf la veille à Roppongi. C'est la première fois que j'étais à Roppongi. Et ça n'avait pas plu d'ailleurs. Et la première fois que j'étais à Roppongi, j'avais fêté jusqu'à peut-être, je sais plus, 4-5 heures du mat. Et on s'était réveillé dans l'après-midi ou début de soirée. Et moi, j'avais en tête cette soirée-là, quoi, la soirée France-Franco-Japonaise. Et j'étais avec mes potes de Legasos et on était là tous à la tête dans le cul à 5h, 6h du soir et on se disait ouais on n'y va pas et je fais vas-y on y va et toujours à Osef quoi, enfin tu vois.
Comme quoi.
Et du coup j'ai rencontré ma femme là-dedans, voilà. Et,
du coup j'aimerais clôturer sur ça parce que la batterie me dit merci, au revoir quoi. Donc on va clôturer là-dessus et on va continuer après.
Fred, tu nous disais, donc tu étais au Japon, tu as rencontré la personne qui est maintenant ta femme dans une soirée française.
Ouais, franco-japonaise, ouais.
Ok. Et donc là, c'était il y a combien de temps? C'était il y a.
Il y a 10 ans. Ouais, 8-9 ans, 9 ans, un truc comme ça, quoi.
Ok, donc tu l'as rencontré un an après.
Quelques mois en fait après que je suis allé au Japon. Après, j'ai fait l'erreur de noob de la foutre en cloque.
Ok.
Après, être arrivé au Japon.
Erreur
de noob. Non, mais c'est ça. Hein, je pense qu'il y en a plein qui sont rentrés dans ce piège en fait. Quand tu es au Japon, tu rencontres une japonaise, ça a l'air cool au début. Et, Et comme tu as l'habitude que les meufs elles prennent la pilule en France, tu fais comme en France et finalement c'est pas pareil qu'en France quoi.
Non.
Bon voilà, on en est là et tu te retrouves avec une meuf en cloque. Et, donc voilà, je me suis marié avec elle.
Tu voulais pas avoir une famille avec elle à l'époque?
Bah non, parce qu'à l'époque je la connaissais pas tant que ça. Quoi. Je veux dire, j'ai, okay. j'ai connu des meufs, genre ma meuf Keiko, j'ai connu plus et que j'avais envie d'avoir des mots avec, alors qu'elle, à l'époque, non, je la connaissais pas tant que ça quoi.
Parce que maintenant t'es quand même content?
Je suis très content d'avoir ma fille.
Bon. Ah, donc t'as une fille.
J'ai une fille et je kiffe ma fille. Et
Alors, pour les écouteurs, il nous a parlé de sa fille pendant à peu près 8 heures. on a les photos, elle est en princesse, elle est en machin, etc. Et toi, ouais, il est vraiment.
Je suis love de ma fille.
C'est le cliché du papa, papa gaga.
Je suis trop gaga, quoi. Je kiffe ma fille, c'est clair, quoi. Et voilà, après, pourquoi le Japon? Parce que voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est Génération Club Dorothée, voilà, Super NES, tout ça. Enfin, j'étais élevé aux jeux vidéo, aux animés. Et c'était quand même toujours été un rêve pour moi quand j'étais gamin. Et j'ai plein de rêves, hein. Tout le monde a plein de rêves. Moi, j'ai toujours voulu être dans un groupe où je voulais être astronaute, où je voulais être machin.
Tu veux être astronaute?
Ouais, même maintenant, quoi, j'adore l'astrophysique et la physique quantique. Quoi. Moi, je kiffe okay. ça. Hein. Moi, je me lis des livres sur la physique quantique, sur l'astrophysique. Je regarde des vidéos sur la physique quantique, sur l'astrophysique, j'adore ça.
Tu aurais été un bon candidat pour la secte à Oum.
Ouais, ça se peut, mais j'adore ça.
Hein. Clairement.
Stephen Hawking, pour moi, c'est un de mes idoles. Quoi. Donc, ouais, pour ceux qui savent génial, qui c'est, voilà, c'est un de mes idoles, Einstein aussi.
Dans un sens, tu as quand même réalisé un de tes rêves.
Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que malgré la multitude de rêves que j'avais, en fait, j'en ai réalisé un. Et en fait, dans les métiers que je pouvais choisir, si je continuais en fait l'école principale, on va dire, c'est faire des langues en fait. Et ce que je voulais faire, c'est des langues asiatiques. Et de par mon métier, en fait, ce que je veux dire en fait aux écouteurs, c'est de dire que moi, j'ai juste un putain de BEP de cuisine de merde, quoi. Mmh. Et de par mon putain de BEP de cuisine de merde, je parle japonais, quoi. Alors je parle japonais, alors ok, je peux pas parler d'astrophysique et de physique quantique avec un japonais. De toute façon, ils s'en foutent.
Peu de japonais peuvent aussi.
Mais en tout cas, mais toujours est-il que je peux, voilà, je travaille dans une boîte japonaise, je parle avec des japonais, j'ai un japonais qui est assez modeste, je peux dire. Je peux très bien parler japonais, je pense, quoi, je me démerde bien, juste avec un BEP cuisine.
Mais voilà. Comment t'as appris du coup en fait?
Alors comment j'ai appris avec ma femme donc qui parle qui baragouine on va dire l'anglais et qui parle pas du tout français. Quand je dis baragouine anglais c'est vraiment baragouiné. Hein. Ouais. Après avec le taf aussi parce que comme je disais tout à l'heure en fait c'est ce que je me suis dit au bout d'un moment, si t'es au Japon c'est bosser avec des japonais et si tu bosses avec des français ça sert à rien d'être au Japon.
Ça, c'est un donc, bon message.
Donc je me suis boosté à bosser dans une boîte japonaise, je travaille dans des boîtes de mariage donc pour les écouteurs. C'est comme un traiteur, mais à domicile.
Oui. Mais cuisine japonaise.
Cuisine française.
Question, alors, donc tu as beaucoup appris plus par rapport à ton taf ou par rapport à ta femme?
Les deux, c'est vraiment deux japonais différents, quoi. C'est-à-dire que le japonais avec ma femme, c'est plus des trucs habituels, genre Genki, tu veux manger, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, les trucs de base. Alors que le japonais au taf, tu parles donc forcément plus professionnellement et plus de la vie.
Est-ce que c'est pas plus des mots français justement dans ton taf?
Parce que dans mon taf, il y a des mots.
La cuisine et même en japonais, il y a plein de
mots. Il y en a, mais après, c'est ça là où j'allais en venir. C'est-à-dire que professionnellement parlant, oui, tu apprends des trucs, par exemple, Busugili ou machin qui veut dire émincer par exemple. Enfin, tu as des trucs, des mots professionnels. Mais après, tu parles plus de ta vie en général. Genre, j'étais voir des potes, j'en sais rien. Tu parles. Mais c'est. Oui.
Est-ce que. Moi, j'ai l'exemple de, par exemple, un peu Ludo, il y a longtemps. Il parlait japonais uniquement avec sa femme. Et je peux te le dire maintenant, mec. Mais...
Il parlait comme une meuf.
Ouais.
Voilà. Je pense que ça m'est arrivé. Je m'en rends pas compte, peut-être. Mais je pense que ça m'est arrivé. Je pense que pendant un moment, ouais, t'as une grande influence avec qui t'es. Enfin, quand t'as des pays que tu connais pas, en fait, que tu essaies d'apprendre la langue, ouais, t'essaies de copier, en fait, quoi, tu vois.
C'est
exactement ça. Alors, du coup, ouais, peut-être pendant un temps, j'avais peut-être un japonais féminin, entre guillemets, quoi.
C'est pas une affirmation, c'est juste une question.
Non, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que, ouais, ça m'est arrivé. Je pense que j'ai eu cette période où j'ai peut-être eu un... Au lieu de dire beaucoup, je disais watashi beaucoup, ce genre de truc.
Ça passe, hein. Mais disons que pour les...
Soda. Ça dépend en fait de la tonation que tu me dis. Soda. Soda.
Faire une voix un peu de l'eau.
C'est ce que je te disais, c'est l'intonation que tu me dis.
Mais parce que on m'a posé la question et c'est vrai que beaucoup de
de personnes qui ne sont pas japonais, japonaises, enfin surtout japonais, ils apprennent avec leur meuf. Et leur meuf, genre jamais elle les corrige, etc. Et donc, tu parles avec le mec et tu as l'impression de parler avec une lycéenne, quoi. Et en japonais, il y a un truc vraiment genré.
Dans ta façon de parler, ouais.
Je pense que pendant une période, je parlais comme une meuf, hein, je pense.
Ouais, plus qu'en français, en fait. En français.
Ah oui, complètement.
Tu vas parler genré, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste, ça existe pas vraiment.
Non, ça existe pas.
En japonais, c'est clairement, t'as un.
C'est défini, genre, quoi. C'est,
Moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui, au début, m'acceptait comme j'étais et trouvait ça mignon. Et maintenant, j'ai l'impression que ça la saoule de plus en plus et de plus en plus, elle me corrige.
Ah, c'est bien.
Ah ouais, et moi j'adore. Enfin, j'adore.
Non, moi après, voilà, je suis en cuisine. Je suis en cuisine, donc j'ai appris beaucoup, voilà, par le métier aussi. Hein. Il n'y a et pas aussi, que ma femme, quoi. Moi, j'ai travaillé, donc, comme je disais tout à l'heure, dans une boîte japonaise, donc.
T'apprends d'autres. Et même tu discutes avec d'autres gens, en fait.
Voilà, même sans parler professionnellement parlant, genre couper des oignons, on n'en sait rien, mais tu parles de tout et de rien aussi. Hein. C'est des collègues de boulot, donc tu parles de tout et de rien. Donc j'ai appris aussi par ma femme, bien sûr, mais aussi par mes collègues de boulot aussi, quoi. Et je suis sorti aussi, comme tout le monde, à Kabukicho, ou j'en sais rien, tu rencontres des gens et tu t'imprègnes un peu.
Moi, je suis pas parti à Kabukicho.
Tu t'imprègnes un peu.
Qu'est-ce que c'est cette histoire-là?
Ça n'existe pas, Kabukicho.
Hop, 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 là.
Et tu t'imprègnes un peu de la culture, machin. Quoi.
Fred, on a vraiment plus de batterie. Est-ce que tu peux donner un mot pour nos écouteurs à la fin? Les personnes qui ont peut-être envie de venir ici ou peut-être pas, ou qui sont curieuses.
Moi, c'est pour ceux qui ont envie d'aller. Enfin, moi, j'ai vécu ça et j'avais envie de venir ici, mais enfin, faut te laver de tous tes préjugés que tu as sur le Japon.
Okay.
C'est-à-dire que voilà, tu peux avoir des préjugés sur le Japon par rapport à ce que tu as été à la Japan Expo ou les mangas que tu as regardé ou j'en sais rien.
Non, mais c'est vrai. C'est culotte.
Non, mais beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça.
C'est pas un préjugé, c'est une assumption. Enfin, comment on dit en français?
C'est un préjugé.
C'est un préjugé.
Assumption, c'est pas un préjugé, c'est pas négatif.
C'est vraiment une image.
En français, préjugé, c'est très négatif. Assumption, c'est une expectation. Comment on dit en français? Putain!
Enfin bref, en tout cas, tu penses que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça.
Une attente. Tu as une attente.
En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste si tu veux venir au Japon et que tu es français et que tu es passionné par le Japon, c'est te laver de tout ce que tu as dans la tête de ce que tu connais du Japon. C'est comme Bruce Lee, en fait, quoi. Quand il disait que les arts martiaux, en fait, t'es qu'un verre d'eau et il faut remplir ton verre pour le remplir à moitié vide, ben, c'est un peu ça. En fait, faut vider ton verre et le remplir quand t'es là. C'est tout, quoi. Voilà.
Tu peux expliquer un petit peu
C'est-à-dire que tout ce que tu crois connaître sur le Japon quand tu es en France, il faut que tu l'oublies. Quand tu viens au Japon, il faut que tu oublies tout ce que tu crois connaître sur le Japon. Il faut que tu te vides de tout ça, il ne faut pas te faire genre je suis le Cador, je sais, j'ai regardé Naruto ou j'en sais rien. Non, il faut oublier tout ça. Tu oublies que tu étais à la Japan Expo, tu oublies que tu es fan de Naruto, tu oublies que j'en sais rien. Tu oublies tout ça et tu viens vierge en fait. Il faut venir comme un papier vierge, comme une feuille blanche, même si tu crois connaître. Tu oublies tout ce que tu connais et tu viens comme une feuille blanche ici et tu imprègnes en fait. Tu te laisses écrire sur toi en fait. Quoi.
J'ai une dernière question. Ouais. Cette rumeur que quoi, tu ressembles à Fred Durst, est-ce vrai ou.
Non, c'est carrément faux quoi. C'est carrément faux. Ouais, j'écoutais du nu metal quand j'étais gamin, mais ça s'arrête là.
Enfin, on
n'en a pas parlé, tu m'as dit qu'on en parlerait de Fred Durst, mais.
On parlerait si t'as envie d'en parler.
Fred Durst, non. Ouais, j'ai aimé Limp Bizkit à une époque, je l'avoue, hein, quand j'avais 19-20 ans. Bon. Quand j'avais 19-20 ans, l'album.
Nookie Brakstuff,
je kiffe ce son. Mmh. Même aujourd'hui, hein, je peux le chanter au karaoké si vous voulez, il n'y a pas de problème.
Allez, bon, ce sera la prochaine partie de l'épisode.
Brakstuff au karaoké, mais non, mais après.
Il y a au karaoké.
Brakstuff, il y a au karaoké.
Ah ouais. Putain.
Voilà, non, mais après, ouais, j'avoue, hein, j'ai eu cette époque, j'avais 19-20 ans, j'écoutais du New Metal, Watch Up, Lemo, Limp Bizkit, toutes ces conneries.
Et c'était pour tout taquiner.
Mais voilà, après, ça m'a orienté vers d'autres trucs meilleurs. Donc c'est ça l'évolution.
Bon, voilà. Sur ces bonnes paroles.
Sur ces bonnes paroles.
Putain, on est à 7 ou 8. On n'a pas fait le bingo.
Je me suis contenu. On va arrêter là.
Il y a un autre truc que je voudrais conseiller aussi aux écouteurs.
Vas-y.
C'est juste que les japonaises sont juste super bonnes.
Ok.
Moi je suis Voilà,
encore une fois, c'est un avis subjectif.
C'est subjectif, voilà. Mais tu me dis que tu me dis, voilà, c'est mon avis. Les japonaises sont vraiment super mignonnes.
Ça dépend, regarde, tu vas avoir une meuf.
Non, en fait, il y a vraiment un truc. Moi, je parlais vraiment avec les potes de France. T'as une moyenne française et t'as une moyenne japonaise. La moyenne japonaise est vraiment supérieure à la moyenne française.
Je suis pas sûr.
Les meufs futsu au Japon sont quand même vraiment plus mignonnes que les meufs futsu en France.
Je dirais après, que bon, y a
c'est vraiment préjugé et sexy.
Beaucoup mieux dans le, quand tu la vois dans, de dehors en fait.
Mais le problème c'est que le problème, en fait, on va dire, ouais, tu me dis ça arrange beaucoup mieux, ils vont prendre ça comme genre elle se maquille vachement. Non, elle se maquille justement. Elle s'habille justement.
Elle s'habille, elle se maquille de façon. Elle optimise en fait. Elles font de l'optimisation.
Ouais, c'est pas surplus. Hein. C'est pas du surplus. Ah, genre.
C'est que la société japonaise est beaucoup plus sexiste.
Moi aussi.
Et donc les femmes ont besoin beaucoup plus de.
Elles sont beaucoup plus féminines en
ressembler
fait.
À des meufs.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Mais des meufs, mais dans les yeux des hommes.
Voilà, donc c'est pas modèles là, des, qu'on leur a donné. Ouais, c'est ça aussi. Il ouais. y a une sorte de problème aussi.
Après, moi, ça me plaît. Alors ça. Après, ça fait peut-être quelques mois, quelqu'un de moi de sexy, j'en sais rien. Hein, comment
non, c'est
après,
pas. Mais, c'est pas
en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Moi, la féminité au Japon, c'est un truc qui me.
On a bien compris parce que tu sifflais. Non,
j'avais pas jusqu'à siffler quand même. Je faisais des petits clins d'œil, des coucou, mais je sifflais pas.
Il ne sifflait pas. On est d'accord. C'est vrai qu'il n'a pas sifflé. Mais en parole, il faisait des grands gestes.
Oui, et c'était mignon. J'ai l'impression d'avoir 15 ans.
Ah, ça va, c'était
pas ouais, ça m'a remis dans ma jeunesse.
Je sais pas, grâce à les meufs. Enfin, je fais un coucou, elles me répondent, elles répondent pas, peu importe.
Non, c'est vrai. Il n'y a pas eu de mademoiselle dans votre numéro de téléphone. On est assis, super loin. Elles passent.
Je fais un coucou, elles me répondent, c'est cool, elles me répondent pas, c'est
voilà,
voilà. Voilà. Sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on serait pas bien
9. On est bien là.
On est à 9.
On est bien là.
Eh bien, on va passer à la dernière rubrique, qu'on aime tous, qui est la rubrique des
patates. What's up? Oh, c'est pas what's up, j'ai l'impression.
Bon, c'est la dernière partie. C'est on veut remercier les gens qui nous soutiennent.
Je pense qu'on devrait mettre ça au début, Ludo. Je sais pas ce que t'en penses.
Bon. Ouais, hein. Le début c'est bien.
Hein ouais, tu fais le montage, tu mets ça au début.
Ok. Ça sera au début. Mais c'était à la fin. Vous le saurez maintenant. Bref. Gros soutien des gens parce que mine de rien en fait, les gens qui nous soutiennent en nous écoutant etc c'est cool. Mais ceux qui nous soutiennent avec de l'argent,
c'est mieux.
Celui
parce que maintenant on est. On n'a plus qu'un seul.
Alors peut-être qu'on
est. On veut pas faire du shaming, mais bon.
Non, peut-être qu'on est trop des escrocs. C'est pas grave. Mais bon, on a jamais menti sur ce qu'on faisait. Voilà, on fait le truc qu'on fait. Moi, je voudrais vraiment dire un truc, c'est que on fait des trucs avec tous les gens de Tokyo. C'est-à-dire que on va avoir des ingénieurs qui font de la chimie. Incroyable.
Et casse-toi avec ta zig de merde là, putain. En plus, c'est vraiment de la musique de merde en plus, quoi. J'ai limite envie de me lever, quoi. Mais non.
Alors, très bien. Donc voilà, on a plus que toi, Franck. Donc, c'est pas grave. Honnêtement, enfin, nous on fait ça. On n'avait pas de follow, enfin, on n'avait personne avant. On continuera à le faire quand même après. Mais on apprécie beaucoup ton soutien. Donc merci à toi. Et
Fred ne va pas casser la gueule au mec là. C'est limite hein.
Ouais parce qu'ils écoutent du rap et Fred il est pas trop rap quoi.
Gonfle quoi, c'est même pas du rap quoi, c'est de la grosse merde quoi, c'est sérieux quoi.
Ah c'est du rap de maintenant.
C'est du rap mais du grodeur, t'appelles ça du rap toi sérieux quoi. Putain ouais. t'as même pas de race quoi.
Ouais.
Ça, c'est un autre débat. Mais
on n'est pas d'accord avec Fred sur la musique. Voilà. ça, c'est sûr. En tout cas, le merci Godard, c'est Franck pas à toi. Voilà. Nous, on va continuer de toute façon. Ouais. On est des fois un petit peu irrégulier, mais on va continuer avec Ludo. On continue.
Ouais, on essaie d'être régulier. Par l'été où c'est un peu compliqué. Mais...
Tout le monde pareil. Donc moi, j'ai eu une gamine il y a quelques temps. Ça fait maintenant presque un an. Ludo va être papa dans pas très longtemps.
J'aurai du temps pour faire du montage.
Ouais, je suis pas sûr.
Pas sûr.
Échanger des couches.
Pas sûr.
Mais voilà, on vous aime les écouteurs et on fait des gros bisous.
Timo Taiga, what a kabai.